Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir. Bonsoir Internet. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Bonsoir.
Internet.
Oui, Internet, bonsoir. On est avec Mathias Jambon. Hello Mathias.
Salut.
Ça va ou quoi?
Ça fait pas le V dans le sens. Ok, c'est là.
C'est, à chaque fois que j'essaye de montrer un truc dans mon setup, c'est vraiment garder une poule et essayer de faire une équation. Quoi. Je suis là. Regarde, là, non,
c'est
là.
Le retour est inversé. Du coup, sur,
ouais.
Sur ça, on sait pas où faire le.
C'est pas du tout ma capacité personnelle à me repérer dans l'espace qui me fait défaut. Alors, est-ce que vous nous entendez bien le chat? Est-ce que les voix sont équilibrées? Des fois, il paraît que je silencie les hommes. Des fois, c'est moi-même que j'auto-silencie parce que je ne sais pas régler un volume. Donc. Dites-moi, on va faire un petit tour de coucou. Coucou Justin qui est first, bravo Justin. Coucou Ezoc, coucou Steel Marty, coucou Madame Volovitz, French Fry, Zmud. J'adore vos hâtes, vraiment c'est ma passion. Hello Stinian, hello Vince, hello Skazam. Mathias parle un peu loin du micro ou bien il est pas assez fort. Je t'ai mis à fond,
je fais
donc
des tests.
On est au max. Bonsoir Caracol, bonsoir CK12.
Et bonsoir d'ailleurs.
Oui, bonsoir à tout le monde. Il y a Madame Volovitz qui demande... Il n'y avait pas Stewie, Mimi l'a-t-elle craqué pour le beau viking barbu et désagréable de la team Madson? On va en parler, mais peut-être plus sur le barbu désagréable que sur Madson lui-même. Et elle nous dit aussi, mettez vos bas de contention, ça va décoller. Tout à fait. On est ready, t'as mis tes petites chaussettes de contention?
Alors, rigole, mais j'en ai.
En même temps, t'es une personne trentenaire extrêmement vieille que je connais.
Non, et surtout, alors à une époque pré-Covid, je faisais des vols long courrier, comme on dit. Donc 12 heures d'avion en classe éco de merde, les genoux dans la tête, etc. Mm-hmm. Et je sais plus qui m'avait engueulé. Si j'ai une copine qui est médecin, qui m'a dit tu vas acheter des bas de contention, tu vas pas faire un AVC dans l'avion, je vais pas te perdre et tout. Voilà. La trentaine, c'est un délire.
Waouh, ne vieillissez pas, la vieillesse est un naufrage. Ou mettez vos chaussettes de contention et c'est pas grave. Regardez Karl et Franck, est-ce qu'ils vivent pas leur meilleure vie? Ils vivent un peu leur meilleure vie. Bonsoir Wool, bonsoir Tapir et bonsoir Mister Melik qui pose la question à 1000 euros. Bonsoir, Fabien n'a pas survécu à la kill list. C'est une question à 1000 euros déjà parce qu'elle va me permettre de te présenter et de dire ce que tu fais là et aussi parce que c'est pas Fabien, c'est Fabrice. Et je sais pas si c'est
j'adore cette vanne.
Mais c'est hyper récurrent que les gens le pauvre l'appellent Fabien Laurent alors qu'il s'appelle Fabrice Florent.
J'aime trop, je suis trop content d'être venu.
Du coup, je sais pas si c'est fait exprès, mais je vais clipper ce moment et lui envoyer et il va être tellement saoulé, ça va être très drôle. Voilà. N'appelez pas Fabrice Fabien car il s'appelle Fabrice. Mais quand les gens l'appellent Fabien, je suis désolée de dire que ça me fait toujours un petit peu rire, quoi.
Et moi donc.
Du coup, Fabien, Fabrice est actuellement en vacances, bien mérité. Du coup, pendant deux débriefs de succession, celui-là et le prochain, vous aurez un ou une invitée spéciale. Cette semaine, c'est Mathias qui est avec moi et que je vais vous présenter, qui va se présenter comme un grand. Et la semaine prochaine, ce sera Alix Martino. Alix Martino de 4 quarts d'heure, Alix Martino de Acast, de Game of Reroll. Une personne délicieuse qui est très 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 hypée par succession. Mathias, les viewers les plus fidèles de la chaîne t'ont peut-être déjà aperçu, puisque tu es venu. Il y a quelques semaines, parler de The Last of Us.
C'est vrai, c'était super.
C'était bien. Souvenez-vous quand on avait Pedro Pascal et des zombies et des émotions toutes les semaines au lieu d'avoir des gens très riches qui se parlent très mal.
Et qui n'ont pas d'émotions.
Mais si, ils en ont trop. Ils en ont moins. Alors, je suis désolée, c'est toutes les émotions des masculins dans cet épisode, c'est vraiment la fête, quoi. Waouh, les concours de beats partout. À part être, du coup, un invité maintenant régulier de ma chaîne, et merci beaucoup, et un de mes amis les plus sériphiles, qui es-tu, Mathias ?
Eh bien, moi, je suis Mathias.
C'est vrai.
C'est vrai. Je connais Mimi depuis très très longtemps.
C'est vrai.
À une époque, j'écrivais. J'ai fait un livre un jour, une fois.
Oui. Et j'ai dans ma bibliothèque. Je l'ai même, je crois, en deux exemplaires, ton livre.
C'est beau. Et je raconte ça, tu sais, comme un peu genre tu trébuches. Genre, j'ai fait un livre un jour.
Comme si t'avais pas charbonné comme
pendant 10 ans.
Comme un maboule pour faire un livre et te faire éditer.
N'ayez pas de vocation. Vraiment, c'est. Oula.
Mais tu as réussi.
J'ai réussi avec perte et fracas.
Est-ce que parler du fait que parfois on atteint son rêve et on se rend compte qu'on sait pas quoi foutre de sa vie, c'est pertinent pour parler de Succession saison 4?
En vrai, c'est un vrai sujet, dans la mesure où il m'arrive exactement ce que j'avais peur qu'il m'arrive, parce que peut-être pendant 10 ans j'avais cette obsession. J'étais un petit peu le Kendall Roy germano-pratin.
C'est une édition française.
et en fait, j'ai...
Kendall Roy germano-pratin, mais respecte-moi, putain.
Et en fait, tu fais un livre, et ça, mon éditeur m'avait prévenu, il m'a dit, tu sais, ça changera pas ta vie.
Oui.
Un jour.
Ni financièrement.
Non,
ni pour pécho.
Il m'a dit,
il m'a dit,
tout ça, c'est fini. Ça arrivait avant qu'on invente la télé et compagnie. Il me dit, tu vas faire un livre,
ouais,
ta mère.
Pas Jules Verne, frère.
Ouais. Il m'a dit, ta mère sera fière, avec un peu de chance, ton ex pensera à toi parce qu'elle tombera dessus.
C'est dur, mais juste. Waouh!
Ouais, voilà. Et il m'a dit, mais juste, t'attends pas à grand chose. Et effectivement, tu t'attends pas à grand chose. Tu touches un chèque, t'es content. Tu fais un peu les tournées libraires, c'est cool.
Est-ce que ta mère était fière?
Ma mère était très fière. Ma mère était très, très fière.
Est-ce que ton ex a pensé à toi?
Eh bien, en l'occurrence, oui, puisque j'ai appris que son père l'avait acheté.
Alors, connaissant le sujet, donc, Objet trouvé, on peut le dire quand même, on l'a pas dit, le titre de ton roman, Objet trouvé,
vrai.
Qui est toujours disponible, de Mathias Jean-Montpuyer. Aux éditions Anne Carrière. Et ça commence à faire un petit moment que tu l'as sorti, mais c'était un tel ride dans ta vie. Maintenant, t'en
c'est
parles
vrai.
En mode, j'ai trébuché, j'ai fait un livre, mais en tant que ton ami, j'ai quand même pas mal suivi cette Zumba. Le pitch, c'est un homme est retrouvé dans un appartement. Il y a une femme morte.
C'est un drame sentimental sur fond de sadomasochisme. Et c'est un podcast Succession, c'est pas un podcast sur mon livre, mais juste pour finir l'anecdote, c'est ça qui t'intéresse.
C'est un très bon pitch.
Quand ma mère a lu le livre, elle a fini par me demander si j'avais expérimenté plusieurs des pratiques dont je parle dans le livre.
Est-ce qu'elle veut la réponse à cette question? Est-ce qu'en tant que mère, on veut la réponse à cette question? Je ne sais pas.
Elle voulait savoir. Je lui ai répondu. La réponse était non. J'ai fait des recherches comme un connard. Interviewer des gens.
Ouais, t'as pas fait. Il y a quand même des recherches que t'as fait parce que tu connais des gens, parce que bon.
Passons.
Ce qui appartient à la vie privée reste privé.
Exactement. Mais donc mon vrai travail est peut-être un peu plus proche de Succession, c'est que maintenant je suis acheteur de séries en animation, c'est-à-dire que je travaille pour une plateforme de streaming très connue. Et mon boulot, c'est de trouver et de produire et d'acheter des séries. Et donc, je commence, c'est tout neuf, je peux pas trop en parler pour l'instant, j'espère plus tard.
Ça fait un moment que t'es dans le milieu de l'animation, mais ce job de acquérir des séries, c'est nouveau.
Yes, et du coup, potentiellement, le reste de mon année, ça va vraiment être genre être le connard qui lit des scripts et qui dit non, là non.
Tu vois, qui met un peu... peut-être tu vas passer à côté du succession de l'animation, tu vois.
Ou à l'inverse, peut-être que je vais le trouver. Mais
j'espère.
Mais c'est assez cool d'être le mec dont on parle dans les films, le mec qui donne des notes. Genre, tu sais, t'es en réunion avec des gens et tu dis votre truc, j'aime bien, mais il faudrait changer ça ou ça ou ça. Et les gens en face, comme ils ont besoin de ta thune, ils sont obligés de dire pas de problème. Genre.
Bah, c'est presque un plot point dans cet épisode, puisqu'ils ont leur histoire de film à re-shooter et ils disent OK, il faut qu'on change le troisième arc, mais on est déjà over budget et tout. J'étais là, OK. J'écoute un peu des podcasts sur le business d'Hollywood. Je connais un
peu.
Mais
du coup, oui, techniquement.
Est-ce que c'est à cause de toi le retard du dernier SNK, demande Justin.
Alors,
SNK, c'est l'attaque des titans.
C'est l'attaque des
pour
titans.
Pour les moins weeb d'entre
alors,
eux.
Non, ce n'est absolument pas ma faute, car je ne travaille pas dans les équipes production, ni dans les équipes acquisition. Et ne souhaitant pas me faire virer, je ne commenterai pas sur cette histoire.
Bien sûr.
Mais sachez que je subis les retards animes autant que la commu, puisque je les découvre en tant que.
Bah, toi aussi, t'as envie de mater l'attaque des titans, finalement.
Exactement.
Et on avait une autre question brûlante de Steel Marty. Alors, ça soulage vraiment les chaussettes de contention en avion en dehors de limiter les risques?
En vrai, ouais, t'as les jambes un peu moins lourdes quand tu sors de l'avion. Après, moi, on m'avait toujours conseillé déjà dans l'avion d'enlever les chaussures, très important, parce qu'en fait, les pieds gonflent à cause de la pression de la cabine. Et donc, du coup, si t'as des chaussures trop serrées que tes pieds gonflent, tu te défonces les pieds. Et effectivement, t'as les jambes un petit peu moins lourdes quand tu sors de l'avion et t'es pas mort aussi.
Et voilà, Logan Roy. Carl, Franck, statistiquement, il y en a deux qui s'en sortent mieux, voilà. Et il y en a deux qui avaient porté leurs chaussettes de contention, pas parce qu'ils étaient pas en train d'essayer de choper leur assistante, Merci Louveline pour le sub, merci beaucoup, n'hésitez pas à sub à la chaîne. On est en train de gagner des subs pour que je puisse m'acheter du matos pour vous faire des petits live cuisine, sachant que je viens de me commander grâce à une story sponsor Instagram, donc je suis une victime, un carnet de recettes personnelles où je vais écrire mes recettes à moi, et genre je me suis dit un jour j'en ferai un livre, et j'étais là, oh my god, et j'étais là, mais il faut que j'en fasse des vidéos comme ça, je vais devenir une star de la cuisine sur internet, et après je ferai un livre, mais là j'en suis au point où j'ai pas de micro pour faire des live cuisine. Donc on va commencer par ce qui est commençable, n'hésitez pas à sub à la chaîne si vous voulez un jour acheter mon livre de recettes. C'est le premier pas vers le livre de recettes de Mimi dans votre cuisine. C'est quoi ton rapport à succession ?
Alors, j'adore ça, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Oh.
Ça me rappelle de l'époque de la saison 1. En fait, j'aime bien me tenir au courant de ce que les Américains regardent.
Oui, de ce que les snobs américains
regardent. Ouais, de ce que les snobs américains regardent. Regardez Yellow Jackets, Le sang de la veine. Et tout le monde disait ouais Succession c'est incroyable, c'est trop bien, c'était saison 1, les gens regardaient pas encore trop, et je me dis bon je vais me lancer, et vraiment les 4 premiers épisodes ça a été un enfer. Je crois que j'ai regardé l'épisode 1, j'ai pas compris. L'épisode 2 c'est sur mon téléphone.
Est-ce que c'est parce qu'ils sont riches et désagréables?
Ils sont riches et désagréables, et surtout après c'est difficile 4 ans après de dire etc, mais le feeling que j'avais c'est je comprends pas de quoi ça parle.
Et ah je, oui et bah c'est quoi l'histoire?
Ouais, je
à part
comprends
la
pas de quoi ça parle et pourquoi ça m'intéresse, qui est un peu, qui est moins un truc dans mon job que je dis beaucoup en fait, que ce soit en marketing ou en machin. Moi mes juniors, je leur dis ok, mais pourquoi c'est marrant, pourquoi ça m'intéresse, c'est de trouver, et vraiment très difficile. Et je sais pas pourquoi il y a un truc qui a commencé à cliquer à partir de l'épisode 4. J'ai commencé à être dedans, j'ai fini saison 1, je fais c'est une dinguerie cette histoire.
C'est une dinguerie cette histoire.
Le gars il a pris la vague,
il est tombé dans la flaque.
Et du coup le temps que je rattrape saison 1, on était dans la saison 2. J'ai commencé à regarder en même temps que tout le monde, et moi j'adore la culture des récaps. Ce qu'on est en train de faire là, moi,
merci,
c'est
ça
le
me touche
feu.
Moi aussi. On en fait pas en France, on en fait peu.
On en fait très peu, et du coup moi je bouffais les récaps podcast US, et en fait j'aime bien être dans la conversation, dans le theory crafting, dans l'analyse, parce qu'en fait je suis pas toujours le plus malin. Il y a des trucs qui me passent au-dessus de la tête, et je suis content de voir. Et vraiment pour moi c'est.
Tu es sur Reddit.
J'y suis sur Reddit.
On est sur Reddit, bien sûr.
Et voilà, moi j'adore le theory crafting, j'adore la conversation, et je trouve qu'en plus c'est une série qui provoque en conversation, parce que même si ça se passe chez des énormes sacs à merde, ils sont tous plus cons les uns que les autres, ça parle quand même de trucs finalement très humains, qui sont bouh, mon papa est pas fier de moi, qui est une conversation que tu peux avoir avec tous tes proches dans la vraie vie, sauf que là c'est des gens très riches et désagréables.
Tout à fait.
Bref, j'adore cette série.
Beaucoup de pognon.
Et moi, j'avais prévu une vanne sur le fait que je succède à Fabrice Florent, qui est aussi lié au
à Fabien.
À Fabien, exactement.
Ce qui serait un move de Logan de t'appeler par le mauvais prénom volontairement. Tu
exactement.
Sais comment
et en plus, vraiment, le truc succession, c'est que quand tu faisais tes récaps Last of Us, je dis ouais, je peux pas faire le récap succession avec toi. Et tu m'as dit non, je peux pas, malheureusement, c'est réservé à Fabien. Et j'étais
et
là.
Ça t'a fait un move de Kendall Roy dans ton
ah ouais.
Cœur. T'étais
alors là,
là
j'étais
Will
là. Genre. Et du coup, là, c'est vraiment, c'est mon Kendall moment ce soir, tu vois.
Est-ce que c'est mieux que faire un livre?
C'est pas loin. C'est vraiment.
Ta mère sera peut-être un peu moins fière de toi pour le coup. Je suis pas sûre qu'elle l'a.
Non, mais alors ma mère déjà, elle comprend pas le concept des séries. C'est-à-dire qu'en fait, s'il faut regarder.
Ah,
plus...
comme mon père. Oh,
ma mère, c'est impossible. Tu sais, je lui file mon Netflix, je lui file mon Prime, je lui dis c'est gratuit, regarde. En plus, elle se fait chier.
Bon
elle est à la retraite et tout. Elle me dit bah non, si ça suit, c'est chiant et tout. Elle regarde des films. Voilà.
Écoute, bah, comme mon père, sauf qu'il regarde peu de films. Par contre, ma mère, elle s'est tapée tout Lost et tout. Elle a fait des séries quand même exigeantes.
Le sang.
Elle est allée au-delà de la saison Voyage temporel de Lost, alors qu'elle aime pas du tout la littérature de genre et tout. Bravo Amina, bravo ouais. Pour tes goûts en série.
Mais c'était la grande force de Lost, c'était de faire croire aux gens que c'était pas un truc paranormal pendant 5 saisons et ensuite ils sont baisés. Parce qu'ils
oui,
sont...
mais il y avait quand même la fumée noire saison 1, épisode 1. Quoi.
Oui, mais moi je me rappelle à l'époque, il y a plein de gens qui pensaient qu'il y avait une explication normale. T'sais. Moi j'étais là, genre, c'est tellement
fermé. Ils lui ont mis des bruits métalliques. Et je pense que du coup tu peux te dire, ah c'est une machine, tu
ouais,
vois.
C'est un peu le. Bah, c'est un peu ce qui se passe, désolé, à chaque fois je hijack le truc, mais c'est un peu ce qui se passe sur Yellow Jackets. Genre les gens me disent.
Fais la propagande de Yellow Jackets, je ne m'y suis toujours pas mise.
Et en fait, dans Yellow Jackets, il y a un truc, en fait c'est un peu mystique et. On est saison 2 et on n'est pas sûr de s'il y a du paranormal ou pas.
Mmh, ça, j'aime bien quand on est pas
et
sûr.
Moi, j'ai envie de croire que non. Je suis team non. Mais s'il y en a, je prends quand même.
Okay.
J'ai un nouveau truc pour Yellow Jacket depuis la dernière fois. Dans la saison 2, il y a un ship entre Elijah Wood et Christina Ricci.
Alors,
voilà.
Elijah Wood, à savoir...
Frodon
Sacké. Et Christina Ricci, c'est l'original Mercredi Adams. Pas la
exactement.
Nouvelle de Netflix, du coup. c'est quelque chose que je veux voir personnellement. Donc, voilà. Ça marche très bien.
Un excellent ship.
Et il y a, alors je sais pas s'il y a toujours dans la saison 2, ne le dis pas parce que peut-être son perso meurt, mais en tout cas dans la saison 1, il y a Melanie Kinsey qu'on a vu dans The Last of Us et qui est une actrice vachement cool. Alors c'est très méchant, mais je vois pourquoi tu dis ça et je sais que tu le dis pas méchamment, mais sur le chat, il y a Madame Wolowitz qui a dit Mathias Jambon, notre Greg. Ce qui est une référence au fait que tu prends la place de Fabrice parce que moi je pense que Greg y gagne à la fin. Mais c'est dur de dire d'un invité, il est chez moi, c'est mon ami. C'est vraiment dur très de dur. Dire de lui.
C'est vraiment ici, dans cette maison, je fais le signe de la maison là, hors cadre.
In this house.
On déteste Greg.
All my homies hate Greg, y compris Mathias. Je pense que le premier truc qu'on s'envoie tous les lundis, c'est fucking Greg.
Mais en vrai, il y a un truc, c'est que Greg, on est arrivé au stand où quand il entre dans le champ. Et que je sais qu'il va pas, je fais pas un bruit, mais je suis là genre, oh putain, les 20 prochaines secondes, elles vont être horribles.
Quoi, Justin, vous êtes trop méchant avec Greg, mais n'importe quoi, c'est le pire. Justin, ok, essaye de défendre Greg en attendant. On va faire le générique et le petit point spoiler, puisque on est officiellement parti pour le débrief.
Ah, fallait pas spoiler. C'est pas passé loin, tu m'as pas dit.
Bah, on avait, non, mais en vrai, après, si t'écoutes Succession, saison 4, épisode 5, débrief, et que t'es là, oh non, il y a des trucs de l'épisode 5, je suis là, franchement, internet quand même, c'est marqué dessus. Mais dans le doute, je fais toujours un petit point spoiler après le générique.
Mais comment ça, Greg, il fait pas de la peine? C'est vraiment, c'est... Ok, on verra.
On arrive, générique.
On l'apprécie, c'est encore notre problème.
Du coup, pour défendre Greg, il me fait de la peine surtout. J'avais cette haine avec Tom, maintenant Greg a rejoint ma hate team. Bah oui, tout à fait, c'est plutôt logique. Greg, c'est le meilleur, mais vous êtes là sur mon chat et vous dites des dingueries en fait.
C'est quoi le quad squad?
Le quad squad. On n'est pas dans le quad squad ici, da fuck finalement. Ok.
Non.
Mini point spoiler comme d'habitude. Bon, oh, merci beaucoup. Alors, j'ai mélangé deux infos. Bonsoir Léa et merci beaucoup Justin pour le sub qui nous approche plus près de la cuisine et je sais que ça te tient à cœur. Merci Justin. Donc, petit point spoiler, on va vous raconter tout ce qui s'est passé dans Succession jusqu'à maintenant, à savoir l'épisode 5 de la saison 4 compris, qui s'intitule Kill List et qui emmène nos aventuriers de l'extrême en Norvège pour négocier le deal avec Madsen, qui a toujours prévu de racheter Waystar. Et ou ATN, et ou tout Waystar, et ou rien du tout, pour une somme allant de beaucoup d'argent à rien du tout, selon sa version. On va en causer, en vous déroulant l'épisode tranquillement. On va pas vous spoiler la suite, car on ne la
connaît pas,
tout simplement. Ok. Est-ce que t'as kiffé revoir Kendall Roy avec du hip-hop dans une bagnole, tout comme dans l'épisode 1 de la saison 1?
Alors, j'adore, parce que vraiment, moi j'ai vraiment eu une période de... je suis blanc, mais j'écoute du rap, et c'est mon identité. Et le truc,
comme tu dis, une période, genre, pour moi, t'as vraiment écouté, genre, du Linkin Park toute ta vie, tu vois?
Non, il y a eu une période où, en fait, j'étais le token white guy d'un groupe de producteurs de rap noir à Paris. Ça a duré un an, et c'était
ouais,
incroyable.
Pourquoi je l'invite, en vrai?
C'était vraiment, j'étais vraiment, j'allais être...
Tu étais le quota.
J'allais dire, j'étais le Eminem du 11e, mais c'était un peu le...
Attends.
Et en vrai, du coup, je comprends cette énergie de Babtou, Kendall qui écoute du rap, let's go. En plus, vraiment, un de mes mèmes préférés, c'est lui, bras croisés avec ses écouteurs dans la saison 2. Oh, vraiment, c'est une réacte.
C'est un très bon mème. Ouais,
oh là là.
Alors, j'étais ravie aussi de revoir Kendall écouter du rap et... J'ai peut-être un album de Nekfeu ou deux dans mon Spotify, voilà, laissez-moi tranquille. Mais c'est pas trop ce que j'écouterais pour me hyper avant une grosse négo, je pense. Comme je suis une meuf, j'écouterais Taylor Swift, je crois. J'écouterais genre Shake It Off ou Pink, parce que je suis extrêmement une meuf blanche. Donc l'un dans l'autre, on se retrouve.
Moi, je pense que Kendall, il écoute Kanye.
Mais de fou. Et qu'il est un peu dans la team... Déjà, il l'appelle Ye. Et il est un peu dans la team, ça reste un génie, tu vois, un génie incompris. Est-ce que t'es content de voir Kendall PDG, du coup, tu n'étais pas là pour les débriefs précédents, puisque tu as dû tuer Fabrice pour venir ici. Est-ce que t'es content de toute cette arc jusqu'ici, et de voir Kendall enfin CEO de Waystar?
Alors, oui et non. Alors, oui, parce qu'en vrai, on est quand même dans une tragédie grecque, hein, dans cette série, grosso modo, et donc... le meilleur moyen d'assassiner quelqu'un, c'est lui donner ce qu'il veut, et donc il va découvrir que voilà, c'est compliqué. Mais moi, vraiment la dernière seconde de l'épisode de la semaine dernière, où il prend une espèce de sourire de sac à merde après avoir fait un énorme coup de chien.
Plan, bah on l'a regardé ensemble. Moi, j'avais déjà vu l'épisode, toi non, mais on l'a regardé ensemble la semaine dernière, et t'as eu un fou rire sur ce dernier plan.
Ah là là. Et en fait, parce que il y a ce truc, c'est qu'on oublie la saison 1 où Kendall avait encore un peu de pouvoir et que c'était vraiment déjà un très mauvais manager et un énorme sac à merde.
Il faut jamais qu'il ait confiance en lui.
Ouais.
Jamais.
Et là, tu vois la prise de confiance en une demi-seconde. Et donc, du coup, bah, je suis content pour lui parce qu'il va voir ce que ça fait et machin que ça. Mais en fait, ça ressort tous ses pires défauts. En fait, c'est un mec, il va mieux quand il est en dep, paradoxalement.
Faut le calmer un peu, quoi. Quand il feels himself, il fait n'importe quoi. Ah, et en plus, il est désagréable avec les gens.
C'est vrai.
Donc, Kendall PDG, calme-toi. Je pense que le verdict, c'est calme-toi. Et on voit que, bah, après, il va être calmé assez vite dans cet épisode, quoi.
Désolé d'être un peu le Logan Roy de cette conversation, mais Kendall n'est pas prêt à être PDG. C'est quand même fondamentalement toute l'histoire de cette série, c'est Logan ne sait pas à qui filer sa boîte parce que c'est tous des tocards. Et du coup, Kendall, il récupère la boîte, mais ça en fait pas un bon PDG.
Bah, il a pas eu le cours de management entre deux, et il y a un moment dans cet épisode où ils disent « Bah, Shiv, on a fait plutôt du bon boulot », et elle est là « Ça fait un jour !» Et même bah, dans l'avion à l'aller, quand Kendall il est là « On va se battre contre des ogres !» et qu'elle lui dit « Tu lis des documents. »«
Tu lis des papiers. » »«
Vraiment, tu lis des PDF. Détends-toi sur l'ampleur de ce que t'es en train
de
faire. »
Très bonne punchline.
Incroyable que des gens ont lu comme « Ah bah c'est bien la preuve que Shiv elle comprend rien au business, elle comprend pas l'importance de ce qu'ils sont en train de faire et tout, il parle parce qu'à ce moment-là il parle de ce fameux film qui va revenir dans l'intrigue qui est hors budget de déjà un quart de milliard de dollars, donc 250 millions d'euros, et il y a des gens qui l'ont pris comme c'est la preuve qu'elle y connaît rien à leur travail parce que c'est hyper important de lire ses PDF. Moi j'étais plutôt dans la team ouais, rouleur dessus un peu. Surtout
ouais, non mais c'est vraiment... c'est la self-importance, désolé, j'ai pas le mot en français, mais en fait, ils sont vraiment persuadés d'être hot shit, quoi, d'être vraiment.
D'être la crème de la crème. Et d'être plus malins qu'ils ne sont, pour le coup.
Oui,
une
oui.
Une forme d'outrecuidance.
C'est vrai.
C'est peut-être le mot qu'on cherchait.
Et mais surtout Kendall, parce que bon, je pense qu'on en reparlera, mais Roman, il passe comme l'épisode à dire tu veux pas qu'on implique Shiv, tu veux pas qu'on lui demande son avis, tu veux pas que. En fait, Kendall, il est en power trip, quoi, il est en espèce de montée.
Oui, et en même temps, s'il se modèle sur Logan, qui est, je pense, ce qu'il essaye de faire au travers de cet épisode et au travers de Succession, et le drame de sa vie, c'est qu'il n'y arrive pas, et qu'il n'arrive pas non plus à vouloir faire autre chose qu'être son père, bah, Logan, il régnait tout seul, tu vois. Il n'avait pas vraiment, même Frank, épisode 1, Logan, il vire Frank sans sommation, alors qu'on comprend au fil des saisons que c'est vraiment ce qui peut-être est le plus proche de son bras droit, mais personne n'est indispensable dans le business et dans la vie de Logan Roy, et je pense que du coup, Kendall, bah ouais, il s'en bat vraiment la race d'intégrer Shiv. Surtout que lui, il a déjà trahi Roman à la fin de l'épisode précédent. Immédiatement. C'est la première décision de business qu'il a fait, c'est trahir son frère.
Et alors, désolé, du coup, j'avance, mais il y a cette réplique qui est très bien à la toute fin, quand il y a Madson qui leur dit « Je préférais négocier avec votre père ».
Oui.
Et donc, du coup, ce que ça dit en creux, c'est « Vous n'êtes pas aussi fort que lui, vous n'êtes pas aussi malin, et c'est pas... »
Vous n'êtes pas des gens sérieux.
Ouais.
Et je pense qu'il a raison, parce que lui, alors on ne connaît pas sa vie à Madson, mais j'ai l'impression que ce que la série nous dit, c'est qu'il y a cette idée de « self-made », avec tous les guillemets autour... milliardaire, un peu à la Elon Musk, mais en tout cas quelqu'un qui n'est pas forcément né dans une famille milliardaire comme Kendall, Roman et Shiv qui, bah, encore une fois, pensent qu'ils méritent cette boîte parce qu'ils sont nés, quoi.
Ouais, c'est le concept de legacy, quoi, c'est ton héritage, etc. Alors que Madson, a priori, il s'est construit, il n'y a personne au-dessus de lui, il n'y a pas Madson paternel, ou en tout cas, s'il est là, il a...
Ah bah, il parle de son daron dans cet épisode. Clairement, son daron, il est plus là, mais je pense pas que c'est son daron qui avait monté sa boîte, parce qu'ils ont l'air de le traiter comme un Logan et pas comme un Kendall, tu vois. D'ailleurs, en parlant d'intégrer Shiv, la scène d'après, donc c'est Kendall qui arrive chez Waystar Royco, qui tombe sur Roman qui est déjà là, ce que j'ai trouvé intéressant, et Roman qui est relativement à l'aise, tu vois, il est dans un canapé avec sa propre équipe, et en fait, je trouve, pour moi, c'est un power move de Roman qui lui rappelle, genre, moi, je travaille déjà là, tu vois. Toi, ça fait plusieurs mois que t'es banni.
Il y a ça, effectivement. Roman, il a l'expérience de, parce qu'il a déjà bossé là. Alors, ok, on n'a pas vu que c'était un super manager l'année dernière avec l'histoire du test de la fusée, etc., mais.
Qui d'ailleurs est revenu dans l'actualité cette semaine avec l'explosion de la fusée SpaceX.
Un marketing devenu fou.
Est-ce que ça va s'arrêter le marketing viral pour Succession?
Mais il y a ce truc, c'est qu'on peut pas reprocher à Roman de bosser et de vouloir bosser. Parce qu'il y a ce truc de Kendall, tu vois que fondamentalement, faire le travail, il s'en fout. Genre, tu vois, faire le dirty work, prendre des décisions.
Oui, les aspects chiants.
Ou même les aspects tout court. En fait, il veut juste être chef pour être chef.
J'ai l'impression que prendre des décisions, il aime bien. Mais en fait, il aime bien le moment où il prend la décision dingo, parce qu'il se dit, je suis trop malin, je joue aux échecs en 8 dimensions. Mais effectivement, faire la suite, ça a pas l'air de le passionner, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il rate toujours avant d'y arriver. Donc les frères sont déjà là et Shiv les rejoint assez vite en même temps que en gros on a une arrivée de Carl, Frank, Jerry, Hugo et Shiv qui arrive et il y a une petite discussion avec Frank comme quoi elle a pas été mise dans une boucle de mail et Frank lui dit mais si t'es dans la boucle et elle dit non tu me l'as pas envoyé, envoie-le moi. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer déjà que bah comme officiellement elle est pas dans la boîte, en fait elle est déjà pas dans les bails, peu importe ce que ses frères lui ont promis, quand bien même ils tiendraient leur promesse, ce qui est pas le cas, hein, on le sait. Les autres de la boîte, ils ont aucun intérêt à mettre Shiv dans les boucles, quoi.
Non, personne n'a d'intérêt à mettre Shiv dans les boucles. Il y a que Roman qui a l'air d'être un peu, pas inquiet, mais intéressé par sa présence à elle, là-dedans, puisque fondamentalement, Roman, il a un sens de la famille. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux. Moi, j'ai vachement suivi ça. Le fait que c'était le seul qui était gentil à l'enterrement de Logan, Kerry. Avec Kerry. Et c'était le seul qui avait un fond de compassion pour elle. Et une des analyses que j'avais lues, c'est que Roman, il a quand même des sentiments, qu'il a besoin de process. C'est ce qu'on voit aussi dans cet épisode. Mm-hmm. C'est un mec dont les sentiments débordent. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant sur son perso cette année.
Oui, c'est qu'il n'arrive plus à contenir tout ça et qu'il montre des facettes humaines. Oui. Pour moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où pour moi, la tragédie de Roman, ça a toujours été... Dans mon cœur, c'est le plus gentil des trois de base.
Ouais.
C'est le plus doux, c'est le plus empathique. Mais c'est aussi celui qui... C'est le seul où on a confirmation qu'il a été maltraité physiquement.
Ouais. Lui, il est flingué.
Potentiellement sexuellement. Il y a quand même ce sous-entendu qui plane comme ça depuis plusieurs saisons. Je pense qu'on n'aura jamais la réponse définitive, mais il y a cette idée, quoi. Et bah, du coup, il a été complètement empêché d'exprimer son émotivité et sa sensibilité. Mais ça veut pas dire qu'elle a disparu. C'est juste qu'il sait pas quoi en foutre.
Ouais, et même l'année dernière avec Madson, ils avaient une relation amicale en fait, fondamentalement assez proche. Enfin, ils faisaient des soirées ensemble. Il y a un moment où tu les shippais presque à moitié.
À cause de la scène où ils vont aux toilettes ensemble.
Oui.
Mais écoute, il y a de nouveau une scène pipi dans cet épisode. Hein,
c'est vrai.
Il y a un long read du New Yorker, je crois, je vais retrouver sur le rôle de l'urine dans Succession. C'est sorti il y a un moment, mais qui du coup est ressorti parce que c'est visiblement toujours un sujet, puisque rappelons que la première scène qu'on voit de Logan Roy dans la saison 1, c'est lui qui se lève et qui urine dans un placard chez lui, ou sur une moquette en tout cas, pour nous dire qu'il n'est pas dans son état normal et plus tard il fait une attaque. Donc, et puis il y a beaucoup de... Il pisse dans le bureau de Kendall à un moment et tout, c'est abus de l'endo. Louise nous dit « Roman, c'est celui que je détestais le plus au début. Que se passe-t-il? Je reste traumatisée par le premier épisode où il propose 1 million au gosse de ses domestiques. C'est le pire moment. » C'est peut-être le moment de parler de cette interview de Kieran Culkin,
oui,
qui en dit un peu plus sur le perso de Roman.
C'est ça. Alors moi, c'est un truc que je trouve intéressant dans les séries, c'est que t'as beau tout avoir prévu, tes personnages, ils évoluent quand même au fil de l'eau. Et donc notamment dans l'épisode 1 de Succession, dans le pilote, Roman est accompagné d'une femme et d'un enfant. Et dans l'interview,
il a une alliance.
Ouais. Et dans l'interview que Kieran Culkin donne, c'est que dans la première version du pilote, il a une femme et un enfant.
Mais il dit c'est ma copine et elle a un enfant. Pas fait un enfant ensemble.
Oui, mais au début si.
Ça a été retravaillé
En gros, c'est ça. Quand ils ont fait le pilote, il avait une femme et un enfant, et ensuite le showrunner a dit. En fait, peut-être que c'est pas super intéressant. C'était plus intéressant si on sait pas. Et du coup, c'est devenu une copine à lui qui a un môme que du coup tu revois jamais, qui a été évacué parce que il trouve que c'est plus intéressant déjà pour explorer la sexualité du personnage, etc. Et ça montre aussi que c'est pas parce que t'as décidé un truc au début de la série que c'est vrai pour tout le temps. Et c'est aussi pour ça que j'aime. Tu vois qu'on est dans la 4e saison. On est au moment où les scénaristes ils tiennent leur personnage. Les acteurs tiennent leur personnage aussi. Par exemple, on va reparler de pipi. Mais dans cette même interview, Kieran Culkin dit qu'il y a eu plusieurs prises de la scène avec Madson où Madson il fait pipi. Et dans une des prises, il voulait lui faire pipi à côté pour faire le concours de bique littéralement. Mm-hmm. Et là, Kieran s'est dit, il peut pas pisser devant les gens parce que ça a été établi dans la saison d'avant, donc je peux pas faire ça. Donc en fait, même les acteurs eux-mêmes, ils tiennent leur personnage d'une manière différente et plus profonde. Et là, je pense, tu vois, on est vraiment dans la version, la forme finale de Roman au final. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment...
Oui, et il dit aussi que c'est Kieran Culkin, l'acteur, qui a suggéré que Roman aille voir le corps de son père, normalement.
Oui.
Parce que donc c'est le seul dans l'épisode 3 qui va dans l'avion voir le corps. Et Kendall le regarde de loin et Shiv est déjà parti. Et il dit que dans le scénario de base, Roman il disait un truc genre « je peux pas faire ça, je peux pas le voir » et il partait. Et c'est Kieran qui a dit « je pense qu'il a besoin de le voir en fait, je pense que dans ma tête il a besoin de le voir » et lui ont dit « vas-y on fait une prise, on le teste » et au final ils ont gardé ça. Donc c'est cool, effectivement, d'avoir des acteurs et actrices qui maîtrisent aussi bien peut-être leurs personnages que les scénaristes et qui peuvent y apporter du coup des dimensions supplémentaires. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, Kieran Culkin confirme aussi que l'orientation sexuelle de Roman n'est pas définie.
C'est
sa sexualité
clair.
Est, comme on le sait, compliquée à minima. Il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, il y a de l'homoérotisme à minima dans sa relation avec Madson, dans sa relation avec Mencken, qu'on va sûrement bientôt revoir, j'ai trop hâte. On n'aura peut-être jamais de réponse définitive, mais ni les scénaristes ni l'acteur n'ont mis le doigt dessus, parce qu'en fait, je pense que c'est confus pour Roman. Roman lui-même, il ne sait pas ce qui se passe.
Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un des seuls personnages qui a des storylines sexuelles dans cette série. Parce que les appétits sexuels de Archie, il y a un peu une scène avec Tom la saison dernière, mais elle est plus plot qu'autre chose. Mais dans la saison 1, il y a toute l'histoire de Roman avec sa copine qui n'arrive pas à bander. Ensuite, dans la saison d'après, t'as Roman et Jerry. En fait, c'est vraiment...
La dick pic, n'oublie pas, on vit avec.
Et je pense que c'est aussi ce qui le rend humain, au final, d'avoir ces relations plus ou moins sexuelles, plus ou moins compliquées, là où tous les autres, concrètement, même Connor, qui sort quand même avec une trophy wife, l'aspect sexuel n'est pas évoqué du tout. Alors que pour Roman, c'est vraiment, pour moi, c'est constitutif de son perso. C'est un mec qui a des névroses, qui a aussi des névroses de cul, alors peu importe son orientation.
Et tout le monde le sait, en plus. Tout le monde lui en parle.
Ouais.
Ça a l'air d'être hyper public comme info.
C'est ça, même Logan disait dégénéré.
Après, il a envoyé une deep pic à son
oui,
père.
Oui.
Je comprends que son père, il soit là. Déjà, il a l'air de pas trop comprendre le concept de dick pic. C'est un homme de 85 ans. Et aussi, il envoie Jerry. Donc, il est là. Attends, pourquoi? T'imagines? T'es là, t'as 85 ans, t'as fait un gosse, il a, je sais pas quoi, 40 ans peut-être, 30, un peu moins, 35, ouais. 36, Kieran Culkin, et il t'envoie par erreur la dick pic qu'il voulait envoyer à ta directrice juridique de 58 ans qui est là dans la pièce en réunion avec toi, et t'es là, mais je comprends pour le coup, je ne dis pas que Logan Roy est un bon père, mais je comprends la surprise, je comprends ce côté genre, qu'est-ce qui se passe, gamin?
Et en même temps, Jerry...
Bah, Jerry can get it. Jerry can get it de fou, mais bien sûr, et moi je trouve Frank, il est hyper beau.
Franchement, ouais.
Je trouve qu'il a du charme de fou.
Il y a un charme de grand-père swagué.
Ouais, de tonton un peu, daddy plus, mais daddy bien. Voilà, à toutes celles et ceux qui disent que les chauves ne peuvent pas être désirables.
Et moi, alors attends, parce que si on est sur les confessions gériatriques, dans la scène du sauna, il y a Hugo torse nu, et je me dis, il a des épaules, le gars.
Mais après, tu love Hugo aussi. Genre, t'adores Hugo, tu m'as dit.
Mais en fait, j'aime bien l'acteur à cause de Demain à la Une. Du coup, je suis flingué.
C'est une série que les moins de 20 ans ou les gens comme moi de 31 ans ne peuvent pas connaître. Vraiment, j'ai jamais vu Demain à la Une de ma vie.
C'était sur M6 et c'était diffusé en boucle. Et il y avait Fisher Stevens, l'acteur qui joue Hugo. Et il y avait...
Kyle Chandler.
Coach Taylor. Et cette série. Mais en plus, c'est un truc avec un chat qui apporte le journal. Enfin, je sais pas, c'est très mimique.
Ah bah, j'ai très envie de regarder Demain à la Une. Oui, c'est Mimicor, mais bon, c'est aussi une série des années 80, quoi.
Qui s'appelle Early Edition en anglais, j'ai découvert. Voilà.
Ce qui marche aussi. Du coup, Fisher Stevens, Hugo.
Hugo, torse nu, désolé, il y a un truc de type CrossFit qui se joue, je sais pas.
Un truc de type CrossFit qui se joue, mais t'as. Bon, peu sûr qu'il va régulièrement au CrossFit.
Tu m'as invité pour les punchlines, non?
Tout à fait. Très
bien.
Il dit dans cet épisode qu'il prend beaucoup au brunch parce qu'il a un métabolisme très rapide, parce qu'il est sharp. Donc, et il dit ça à un champion olympique, presque champion olympique, ce qui est légèrement audacieux.
Et qui est un peu l'autre concours de beat de cet épisode, fondamentalement.
Oui, de fou. Alors, on va en parler parce que l'actrice qui joue Jerry, elle a donné une interview qui m'a trop énervée. Juste avant ça, Justin dit « J'aime bien Hugo parce que l'acteur joue le méchant dans le film Hackers
alors ça,
de
facts.
1995. »
Facts.
Estinian dit « J'ai 29 ans et j'adorais Demain à la Une. » Très bien.
On est
désolé.
Là. On est là.
On est ensemble. Et Madame Volovitz, arrête de me causer des problèmes. Les chauves ne peuvent pas être désirables sale soirée pour Fabien Laurent. J'ai dit pour les gens qui pensent que c'est faux. J'ai pas dit. Après, si on sort de son contexte en mode ATN Fox News, y a pas. Donc, l'interview on fait le déroulé de l'épisode dans le désordre, mais c'est pas grave. L'interview que l'actrice qui joue Jerry a donnée dans un des podcasts que j'écoute, c'était chez Still Watching, chez Vanity Fair, c'est que, en fait, on comprend un peu mieux pourquoi l'épisode s'appelle Kill List quand on le sait, il y avait tout un autre arc à cet épisode qui a été tourné et coupé au montage, qui était la bagarre entre l'équipe en costard de Waystar et leurs homologues suédois,
ouais.
Pour voir qui garderait... En gros, ce qui se passe, c'est... Si on mélange les deux boîtes, il y a plein de jobs en double. La directrice des communications, par exemple, la direction juridique, etc. Donc, qui on garde et qui on sort dans les deux équipes, sachant que l'équipe Waystar est globalement plus âgée et a l'air un peu plus déconnectée peut-être du monde wokiste que les Suédois. Et apparemment, il y avait toute une intrigue qui a été tournée où notamment, en gros, ils avaient des activités pour s'affronter. Il n'y avait pas que le brunch. Et la meuf qui joue Jerry, elle a dit qu'ils ont coupé une scène où ils partaient cueillir des champignons et où ils devaient trouver des champignons. Et le plot, c'est qu'il y en avait qui étaient toxiques et d'autres non, donc fallait cueillir les bons. Et que elle s'en sortait. Et pareil, c'est un truc qu'elle a inventé pour son personnage. Et que elle s'en sortait en échangeant le panier de champignons qu'elle avait cueilli avec celui d'une Suédoise en mode, elle, c'est sûr qu'elle a eu les bons. Et du coup, elle triche, tu vois. Elle est là-bas, Jerry, c'est comme ça qu'elle s'en sort. Des fois, elle triche. Ils ont coupé une scène de cueillette de champignons avec Jerry.
Je suis extrêmement malheureux.
Release The Mushroom Cut.
Le bolet cut.
Le girol cut en Norvège, là, putain. Hein. Donc j'ai trop le seum. Et en plus des champignons, ça aurait été trop cool de voir ce Hunger Games entre les... Moi, j'adore... Enfin, t'imagines Karl et Frank qui essayent de se battre contre des Suédois.
Bah non, mais ça qui est bien, c'est que Karl et Frank, ils en ont rien à battre dans la scène du sauna. C'est vraiment, eux, ils ont dit, on s'en fout. Et
ça... Eux, ils sont le parachute doré, là, ils sont dans le baudrier, ils ont mis les mousquetons, ils attendent le go, ils sont ready to go, acheter des îles.
Mais ils ont, c'est eux qui ont tout compris.
C'est en vrai, oui, je pense que c'est eux qui ont tout compris. Il est temps de récolter ce qu'ils ont semé. What the fuck, ça dit dans le chat. Bah ouais, j'avais le seum. Et en vrai, l'actrice, elle avait un peu le seum aussi, parce qu'elle disait, en fait, Jerry, elle a des super scènes qui... Mais un peu en mode... Bah après, évidemment, je pense qu'elle a le seum pour sa carrière et pour le fait qu'elle ait pas pu montrer sa performance, mais elle est aussi en mode, j'ai un peu le seum pour Jerry, parce que, du coup, toute cette scène à la fin, où elle est hyper... Enfin, où, du coup, bah, tous les hommes, ils perdent leur job et pas les femmes, c'est un peu aussi grâce à Jerry, parce que, bah, pendant toutes les épreuves avec les Suédois, elle s'en est bien sortie et tout, et au final, on le voit pas, on la voit juste être contente, quoi. Ce qui est bon. À la fin, il y a la victoire, donc ça va. Ok, on va essayer de reprendre un petit peu le fil de l'épisode. On prend l'avion, ok, on n'est pas encore en Norvège. On prend l'avion, il y a plusieurs petites, plus ou moins petites choses qui se passent dans cet avion. Déjà, il y a les fameuses chaussettes de compression, on en a parlé. Et effectivement, c'est une référence directe à la mort de Logan, du coup, ouais. Qui, a priori, ne les avait pas mises puisqu'il voulait être beau pour Kerry et a fait une embolie pulmonaire. Donc, lien direct, chaussettes de compression, embolie pulmonaire dans un avion. Alors... C'est peut-être pas une chance 100% de risque, mais
oui.
C'est pas anodin. Du coup, on voit Karl et Frank qui ont décidé de ne pas prendre ce risque et qui étaient en même temps dans l'avion quand il est mort, donc ça se comprend. Il y a un moment où Roman, quand il s'installe, il regarde par-dessus son épaule la salle de bain de l'avion, du coup, où son père est mort. Je l'avais pas vu à la première vision, mais je l'ai vu en faisant le récap et j'étais là...
Ils sont forts.
Oh non. Et un truc un peu plus gros qui arrive, mais qui au final on oublie presque tellement il se déroule de choses dans cet épisode, c'est que Shiv, elle arrive en disant, vous avez vu, c'est bizarre, il y a des articles qui parlent en mal de papa.
Oui.
Alors que, bah,
qu'on avait
selon
dit que...
la version officielle de Roman et Kendall, on a dit qu'on fait de la com positive sur papa. Et j'étais là, ok, il s'est vraiment fait cramer vite, quoi.
Ben c'est en 24 heures, c'est le lendemain, quoi. C'est vraiment
oui,
le.
Parce que chaque épisode est un jour.
Ouais, ouais. C'est le lendemain. Oui, oui, bah, de toute façon, c'était sûr que ça se voyait vite. Moi, c'est vraiment, ça, encore une fois, vraiment, c'est le Kendall 8 épisode, cette semaine, mais la réaction de Kendall de, oh, mais c'est inadmissible, on va regarder, et machin, etc.
Il appelle Hugo, ce connard. Il appelle Hugo, il lui dit, oui. Hugo, les gens qui disent des méchancetés sur papa, tu me les butes.
C'est
okay
pas bien. Et Hugo, il fait, ouais, chef, pas de problème.
C'est vraiment direct. En vrai, c'est devenu vite Logan, hein. Ça, il est à l'aise quand même. Hein.
Ouais, mais Logan, il fait pas peur, quoi. Enfin, désolé.
Non, il fait pas peur.
Il a pas de présence.
Ben, il est un peu mou et un peu droupi. Tu sais, c'est l'âne triste dans Winnie l'ourson, là. Comment il s'appelle? L'âne dépressif.
Porcinet? Non.
Non.
Je confonds.
Porcinet, c'est le cochon.
Oui, c'est
coup.
Le cochon.
Vous voyez l'âne dépressif qui est hyper ouais. triste là. Bah, c'est un peu Kendall Rock. Aussi. Oh, du coup, ouais, il fait pas très très peur, surtout face à un Madson, mais même face à un Karl. Tu vois, je suis là, Après, je mise sur Karl, mais je mise sur Karl forcément toute la vie. J'étais En fait, je pensais un peu que Roman, elle est plus tiquée, parce que Roman, pour le coup, il était dans la pièce où Hugo et Carolina ont proposé les deux options, et il devrait reconnaître, en fait, c'est l'option 2 qui se passe. Et après, j'essaye de me rappeler que c'était littéralement hier, et que bah, son père était quand même fondamentalement un gros connard réac de droite.
Oui.
Qui a des articles négatifs. Peut-être c'est normal.
Et puis Roman, il y a peut-être plus la tête dans le deal aussi à ce moment-là. Là où Shib, c'est pas qu'elle a que ça à faire, mais qu'elle est...
Elle a pas les PDF. Hein. Voilà, elle est pas dans la boucle de mail, donc elle peut pas lire les PDF importants.
Elle a le temps d'être sur Google News, quoi.
Oui. Et de voir des gens qui trashent son daron. C'est bourriqué, merci. C'est bourriqué,
yes, bourriqué
l'âme dépressif. C'est sûr que Logan n'avait pas la vibe baby girl de Kendall. Est-ce que t'es dans la team Kendall Roy baby girl?
Non.
Non, moi non plus.
Ah, c'est vraiment... Mais c'est ça que j'adore chez Kendall, parce que même quand il est bien sapé, il dégage rien, quoi. Il a aucun drip, c'est vraiment...
Aucun flow. En parlant de sap, il y a beaucoup de gens, notamment sur Reddit et sur Instagram, qui analysent la mode dans Succession, ouais. À la fois parce que c'est marrant de voir le prix que les fringues coûtent. Genre le manteau bigou de Shiv, ouais, à la fin de l'épisode, il coûte 2000 balles, je crois, en neuf. Et parce que c'est aussi des choix qui disent des choses stylistiquement. Et là, il y a beaucoup de gens habillés en marron dans cet épisode. Et le marron, c'est la couleur de Kendall. Et en fait, tous les gens qui avant s'habillaient en bleu marine comme Logan, maintenant ils s'habillent en marron. Shiv, elle est en marron. Il y a beaucoup des Tom, il est un peu en marron. Il y a beaucoup des assistants, enfin des Karl Frank, etc., qui sont dans des couleurs moins sombres que d'habitude et qui sont plus dans la Kendall Roy énergie.
Mais tu vois, c'est pour ça que je suis content d'être là, parce que toi, tu bosses ton sujet.
Bah alors, je le ferais même si je faisais pas de débrief. Tout ça, c'est support à ma nerderie. C'est une façon de la justifier envers moi. J'écoute autant de podcasts sur Succession quand j'en fais pas. Mais maintenant, j'en fais un, donc je me dis, ça s'appelle faire des recherches, en fait. Okay. Je suis journaliste quand même à la base, donc voilà. Dans l'avion, on a aussi donc la mention du film qui est au-delà du budget, on en a parlé, ça reviendra, et l'équipe Waystar qui s'inquiète pour leur poste. Peut-être micro-mention, il y a deux gars, les gens ont peut-être un peu oublié qui c'est. Il y a Ravenhead qui est là, qui est le fameux présentateur d'extrême droite.
Ouais. J'ai pas tilté qu'il était là, tu vois, j'ai même pas.
Bah, j'ai tilté parce que dans l'épisode précédent à la veillée de Logan, il dit à Kendall, quand Kendall arrive dans l'appartement, il lui dit mes condoléances, et c'était sous-titré Ravenhead. Donc j'étais là, ah ouais, ok, il a un nom assez reconnaissable, Ravenhead, donc j'avais tilté, ok, il est toujours là, et il est assez haut placé, donc c'est un présentateur d'ATN que Tom avait interrogé parce qu'il était soupçonné d'être un peu nazi, et
ah oui, je me rappelle ça
avait défini qu'il est vraiment nazi, puisqu'il a lu Mein Kampf plusieurs fois, ce à quoi Tom avait répondu « Ah, t'as pas tout compris la première fois !» et qui parle de Hitler en l'appelant H, juste H, tu vois, mais genre comme son pote.
Tu sais qu'il y a un bail en cours comme ça aux US où il y a un sénateur qui a une copie de Mein Kampf dédicacée chez lui. Et qui
le dédicacé, il est chaud.
Et qui dit ouais, c'est un cadeau, c'est une œuvre historique et tout. Et c'est vraiment.
Ah, mais oui, c'est le mec de la Cour suprême, là, qui est afro-américain, là.
Ouais. T'imagines, t'es la Cour suprême, t'es afro-américain, t'as Mein Kampf dédicacé chez toi, c'est un flex.
C'est dur.
C'est incroyable.
Dur, et le gars dans Succession avait aussi une chaîne qui avait le même nom que la chaîne de Hitler. Il était là, non mais c'était l'année de cette initiale ou quoi, bref. Ce gars-là est là, et il y a aussi un mec qui s'appelle, alors pas Hugo, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est dans Born on the Floor. C'est un des miskins qui court après les saucisses dans la saison 2 du coup. Donc voilà, en fait on a pas mal de persos qui gravitent autour de Logan, qu'on a un peu moins vu, mais qui sont quand même là, en train d'essayer de gratter les miettes de ses funérailles finalement. Et ils font partie de ceux qui se font virer à la fin, donc ça n'a pas duré. Merci beaucoup, Tammy Schmich, pour le sub. C'est très gentil. Kendall perd ses moyens et son sang-froid parce qu'il a attendu toute sa vie d'être à sa place. Ça a trop d'importance à ses yeux. Du coup, il s'auto-sabote à chaque fois, nous dit Bitsy Blue.
Ben ouais, il a pas... Oh, je peux faire sortir une phrase de LinkedIn de droite.
Vas-y.
C'est la chance, c'est opportunité plus préparation.
Waouh.
Et
j'ai envie de commettre un acte de violence physique.
Tu peux liker.
Mais je veux pas faire bannir de Twitch.
Et pour le coup, c'est littéralement ça, c'est que Kendall, il a passé toute sa vie à essayer de provoquer l'opportunité, genre je veux être là, je veux être là, je veux être là, mais à aucun moment il s'est préparé à qu'est-ce qui se passe au moment où il a pas été patron, il a pas.
Bon, cela dit quand même, c'est le seul où on sait qu'il a fait le parcours un petit peu classique, il a fait commerce, il a fait des années à Shanghai, il a bossé pour Waystar Royco pendant longtemps, et la saison 1 s'ouvre sur pourquoi il écoute du rap dans la voiture, c'est parce qu'il pense que c'est le jour où il va devenir PDG, jusqu'à parce qu'il a acheté Voltaire et tout, enfin il y a quand même un truc de en vrai c'est celui qui a le plus d'expérience dans le business, plus que Roman qui a décidé de se mettre à bosser il y a pas très longtemps,
mais
plus que Shiv qui a bossé en com politique.
Mais le truc c'est que Kendall on l'a pas vu bosser dans la série.
Non, très peu.
Très peu.
Bah après je suis assez d'accord avec ton analyse de c'est pas qu'il sait pas faire, c'est qu'il s'en bat la race de le faire, vraiment ça l'intéresse
pas. Ouais, peut-être
pas,
que
quoi.
C'est ça aussi.
Et je pense que c'est pas des gens qui ont été élevés à des fois même s'il y a des trucs que t'aimes pas faire, il faut les faire. Je pense que c'était pas leur éducation principale. On arrive en Norvège. Toi qui, je le sais, a un amour pour la montagne, la rando, le brouillard,
et
les
Norvège.
Cascades, les torrents, les pays scandinaves, les forêts, les sapins, tout ça, le ciel gris. À quel niveau t'as kiffé en termes de stonk?
Alors, moi, je suis en giga stonk parce que j'ai eu la chance d'aller en Norvège il y a 2 ans, bientôt 3 ans.
De très belles photos à retrouver sur le compte Instagram de Mathias que je vous mets dans le chat.
Yes, je vous conseille la Norvège parce que c'est ouf. Alors, par contre, il faut avoir beaucoup d'argent. Moi, mon astuce sur le moment, c'est que j'étais en dep post-rupture et que j'ai décidé que mon livret A, j'en avais rien à battre.
T'as claqué ton livret A pour aller déprimer en Norvège, mais t'es tellement un auteur, mais j'en peux plus.
Non, mais disons qu'en fait, j'étais surtout en mode Jurassic Park, genre, je regarde pas combien ça coûte. Je découvrirai à la fin.
Ouais, mais c'est quand même un délire de bourgeois.
Ah non, mais
ne pas regarder combien ça coûte.
Bah non, mais en gros, je me suis mis dans la sauce, j'ai mangé des pâtes pendant 3 mois derrière, tu vois.
Ah non, mais quitte à être déprimé, aller déprimer en Norvège.
Et la Norvège, c'est sublime. Et comme un énorme Connard, je suis allé regarder où est-ce que c'était tourné.
Oui, évidemment.
Dans quel fjord ? Alors, c'est plus au nord de là où je suis allé, mais les pays...
Ah ouais, non, c'est pas mes fjords à moi.
C'est un peu... Mais c'est sublime, les décors, ils sont trop bien. Et moi, c'est aussi un truc que j'aime dans cette série, c'est cette espèce de flex de... Comme tout le story arc en Italie.
Ah ouais, la Toscane, là.
Tu vois, oh là là, et...
Quand ils prennent... l'hélicoptère pour aller traverser le lac de Côme pour prendre un bateau pour aller chez Madsen et qu'ils le font deux fois. J'étais là, non mais non seulement les persos ils le font deux fois, mais la série elle le fait deux fois quoi.
Et en fait c'est ça que je trouve en plus super intéressant parce qu'il y a clairement une intention. Bon, en dehors du fait de forcer les Roy à venir le lendemain de la mort de leur père, bon, il y a tout ça, mais aussi ce truc c'est qu'en fait toute cette série pourrait se passer en salle de réunion 2 au 5e étage de chez Waystar.
Ils pourraient faire des visios, hein.
Ouais, ils pourraient faire des visios. Et donc du coup c'est clairement un choix conscient de réaliser, de mise en scène. En fait, c'est pas juste flex pour flex, c'est vraiment... Je trouve que ça donne une immensité. En fait, ça donne un souffle épique à un truc qui fondamentalement l'est pas trop, parce qu'en fait,
bah, c'est... des gens qui font des OPA et qui vendent des
parts. Et en plus, même
c'est potentiellement très chiant.
C'est potentiellement très chiant. Et surtout, le truc, c'est que la négo, c'est un chiffre. En fait, ils passent une heure à sortir un chiffre, mais en haut d'une fucking montagne avec la neige derrière, le téléphérique laisse tomber.
Franchement, quand en plus du téléphérique, Madsen y part en hélico, j'étais là, les gars, vous avez un budget hélico en plus, c'est trop. Et vous avez un budget pour filmer l'hélico. Et faut quand même l'emmener en haut de cette foutue montagne où, à mon avis, bah, c'est galère d'emmener du matos pour filmer Succession là-bas. Il tourne à la pellicule. Tu peux redire le truc sur la pellicule que tu m'as dit la dernière fois.
Ok.
Il m'a dit hors antenne, alors... mais vous méritez.
Alors, Succession, la patte graphique est super intéressante, c'est que c'est tourné en pellicule, donc en pellicule Kodak. Ça, c'est, il y a d'autres trucs qui sont tournés en pellicule, notamment Euphoria saison 2 est tourné en diapositive. Mais du coup, Succession est tourné en pellicule et j'avais lu une interview du directeur de la photo qui racontait.
Tu es toi-même un petit peu, tu touches en photo.
Ça me plaît, ça m'intéresse. Et il faut savoir que, en gros, les pellicules, elles ont une balance des blancs. C'est-à-dire que tu as des pellicules qui sont, donc elles sont daylight, qui sont faites pour utiliser la lumière du soleil. Et tu as des pellicules qui sont faites pour tourner la nuit, qui sont du coup tungstène, et qui sont en fait plus bleues et qui compensent les lampes qui sont jaunes. C'est comme ça qu'on faisait dans l'ancien temps, quand on n'avait pas le numérique. Tu tournes la journée, tu tournes avec
l'ancien temps.
Non, mais c'est littéralement ça. En gros, le jour, tu tournes avec la 250D. Et le soir, tu tournes avec la 250T, voilà, pour avoir une balance des blancs
cohérente. Vous l'avez chez vous.
Et donc, du coup, sur Succession, ce qu'ils ont décidé de faire, ces petits clowns, ils tournent tout Succession avec une pellicule tungstène, alors que ça se passe deux jours.
Donc avec celle de la nuit.
Avec celle de la nuit. Du coup, qu'est-ce que ça change ? En fait, les pellicules tungstène, elles sont plus bleues que les pellicules jour, puisqu'elles sont là pour compenser la lumière jaune. Et donc, c'est ce qui donne un aspect très froid à la série. Et ça se voit notamment sur toutes ces scènes en Norvège où le bleu du ciel est presque gris, tout est très terne. Et en fait, ça, c'est un rendu qu'ils arrivent à avoir en ayant vraiment la mauvaise pellicule concrètement pour faire ça. Donc du coup, ça devient un choix artistique.
Mais exprès.
Et c'est un truc aussi que vous regardez, c'est qu'il y a peu de contrastes en Succession, notamment les noirs sont pas noirs. Les noirs, ils sont un peu grisâtres, un peu délavés. Et du coup, il y a vraiment...
Par rapport à Riverdale, par exemple.
Ouais.
Une autre série sur laquelle tu pourrais faire des débriefs, mais moi non.
Ouais,
qui est très, très pétante en termes de couleurs. C'est beaucoup plus terne.
Et du coup, cette interview, j'ai trouvé fascinante parce que le mec s'est dit, en fait, comment est-ce que je vais faire un choix artistique qui va compléter les autres choix artistiques qui sont faits. Et donc, je trouve le choix de la tungstène est très intéressant.
Oui, ça va bien avec cette idée, sans vouloir extrapoler de fou, mais pour les personnages, tout est fade et tout est neutre, ouais, parce qu'ils ont tout, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui les excite et beaucoup de leur mécanisme de défense, c'est d'avoir l'air blasé. C'est juste, même dans cet épisode, par exemple, le bon truc à faire quand t'arrives au meilleur brunch norvégien de ta vie, de luxe, c'est de pas le manger, tu vois. Genre, t'es pas censé être excité ou désirer des choses, et eux, ils sont tous blasés, finalement.
Et si vous voulez faire un truc marrant, allez sur l'Instagram de Succession, parce qu'il y a les photos de l'épisode, et en fait, alors... il y a un photographe plateau, c'est le nom du métier, où en gros, quand tu tournes une série, il y a un mec qui est là pour prendre des photos pour la promotion.
Donc, okay.
Il est photographe plateau.
Okay.
Et du coup, il y a une photo de la séquence avec les deux frères.
Mais attends, tu sais quoi, on va pouvoir aller voir ensemble.
Ouais.
On va faire ça, parce qu'on est sur Twitch quand même, donc je veux dire, on est capable de faire ça. Je vais ouvrir l'Instagram de Succession et je vais essayer de vous montrer ça en direct, c'est ça ?
Ouais,
pas
c'est
ça. Succession, c'est facile. Je vais changer de scène. Alors, ça va être un peu compliqué, ok, mais on va y arriver. Je fais ça, je fais ça, je fais...
Je suis trop impressionné.
Oui.
Oh,
Ok, et maintenant je vais devoir vous resizer cette merde. Non, en vous fait, avez le reste de ma vie à côté, lisez
c'est,
pas
c'est
mes DM,
merci.
Une
photo.
Ouais, je vous le mets à peu près là, on va voir.
Ouais, scroll, c'est ce post-là. Okay. Avance.
Est-ce
et là en fait, c'est le post. Ça, c'est des photos qui sont faites en numérique, donc t'as les vraies couleurs. Les verts, ils sont vraiment pétants.
Ah oui, et du coup,
voilà.
C'est plus.
Et si tu avances et
l'épisode.
Tu vois, regarde cette séquence-là, si vous regardez le même plan dans la série, les noirs, ils sont pas noirs comme ça, le ciel, il est magenta, le bleu, il est vraiment plus grisâtre. Donc ça, c'est les couleurs de la vraie vie. Et si vous comparez avec la photo de Succession, je pense que c'est un bon shot.
Ok, voilà. Donc, pour le podcast, je mets le lien dans la description.
Si vous êtes des gros nerds de photographie et justement de comment est-ce que les choix de couleurs, les choix de contraste peuvent influer sur une ambiance, une sensation, voilà, bah, je trouve ça fascinant.
Grave. Merci beaucoup pour cette anecdote, vraiment quel talent. Et oui, Arzel dans le chat dit « Il tourne en pellicule ». Ouais, moi je l'ai appris pour à l'épisode 3, La mort de Logan. Ils ont expliqué qu'il y a toute une prise de l'épisode qu'ils ont faite en continu, où du coup t'as un truc genre 27 minutes de les gamins qui se cherchent, qui apprennent la nouvelle et tout, donc cette idée de « ça s'arrête jamais », qu'ils ressentent, on la ressent aussi. Et ils expliquaient que comme ils tournent en pellicule, ils ont dû planquer des pellicules à différents endroits du décor parce que fallait recharger, fallait remettre de la pellicule dans la machine, quoi. Ce qui est vraiment genre... Vous compliquez la vie. Mais c'est ça qui fait... C'est comme tu dis, on pourrait aussi tourner dans des salles de réunion avec des conférences call, mais est-ce qu'on n'est pas ravis d'être dans les fjords norvégiens? Bien sûr qu'on l'est. Il y avait quelqu'un sur le chat qui disait... Oui, il y a French Fry qui dit « Ça m'a fait rire, les plans drones, c'est toutes les routes les plus instagrammables de Norvège. »
La première route où ils font le zigzag, là,
yes.
Ça, c'est un
avec
shot à photo.
Avec la cascade derrière et tout.
Évidemment, parce que quand je suis en Norvège, j'ai fait top 10 destinations pour prendre des photos de connards. C'était dedans. Alors, c'était pas sur ma route, donc j'ai pas pu y aller.
J'espère que photosdeconnards.fr existe vraiment, tu vois. Sinon, t'as peut-être une idée de business pour le week-end.
Alors, non, alors pour le coup, il y a une application qui existe qui s'appelle Spotter et que je vous conseille. C'est une application... où en gros, tu mets le plan de la ville où t'es, Paris, etc. Et en fait, ça te montre les spots où il y a des bons endroits pour faire des photos. Mmh. Et donc, par exemple, tu vois, genre, mettons, tu vas à la Défense et tu vas avoir plein de points qui te montrent les bons endroits à photo. Et en fait, c'est des exemples. Et ils utilisent la géolocalisation de Instagram. Et donc, en gros,
Ah oui, c'est genre, c'est là où les gens ont pris.
Ouais, c'est là où les gens ont pris.
Comme sur YouTube, moment le plus revisionné où t'es
c'est
là. Ça doit être le moment.
Et donc, du coup, si tu cherches un spot pour faire un beau portrait de ton cum ou de ta meuf, ou d'aller faire un photoshoot et machin, tout spotter.
Ou de ton chien.
Voilà, bref. Donc, oui, ça existe des trucs pour les bons spots photos de connards. C'est vraiment littéralement.
Mais ça ne s'appelle pas photos de connards. Donc, tu vois, c'est un peu moins self-conscious.
C'est un peu moins self-conscious.
Et en même temps, faites les photos que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vince dit très intéressante cette petite parenthèse pellicule, c'est très vrai. Et hello, le monstre du balcon, à qui on n'avait pas dit bonjour. Bonjour le monstre du balcon, ne viens pas me chercher cette nuit s'il te plaît. Pour dernier petit point, où est-ce qu'on tourne, c'est très beau. Si ça vous a dit quelque chose, c'est parce que c'est le même lieu et le même bâtiment que dans le film Ex Machina, qui est un très bon film avec Oscar Isaac et Domhnall Gleeson interroge la singularité et quand les robots ressemblent trop aux humains, etc.
Et le patriarcat.
Et c'est un huis clos assez angoissant chez un mec qui a inventé un robot humanoïde qui se passe dans la même maison avec vue
alors,
sur la forêt et les tours norvégiens.
Ah, j'ai checké, c'est un hôtel.
J'ai vu sur Reddit qu'on voit une chaise dans la petite cabane de Kendall dont il se plaint parce qu'elle est trop petite. La chaise, devine combien elle coûte.
C'est quoi, c'est 2000 balles, 3000 balles on est...
18 000 dollars. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous, comme disait l'autre? 18 000 dollars. Bah, c'est une chaise de designer et tout. Il y a une carafe sur la table. Il y a une carafe avec deux verres d'eau. Voilà, ça coûte 1 000 dollars, la carafe avec les deux.
Alors qu'en plus, la Norvège, on n'est pas loin d'IKEA, quoi.
Il n'y a pas d'IKEA en plus. Bonsoir, Guépard Solide, qui dit bonsoir, Mimi, bonsoir, Mathias. Bonsoir, le chat. Je vous passe juste le bonsoir et j'attendrai le podcast. Très bien.
D'ailleurs, si on parle de Norvège et de spot à photo, je rebondis sur French Fry. Il y a une rando en Norvège qui s'appelle Trolltunga, qui en fait
le chemin des trolls.
C'est un truc qui est très connu parce qu'en fait, il y a un caillou qui avance au bord du vide, et en fait, c'est une photo instagrammable que tout le monde fait. Et en fait, la dinguerie, c'est que ce qui te montre jamais, c'est que t'as une file d'attente de gens qui attendent chacun pour faire la photo.
Je vais chercher sur Google pour qu'on voit à quoi ça ressemble.
Trolltunga, tu vas le trouver, Norvège, Trolltunga.
Ok, donc ça, c'est le fameux caillou.
Et ça, c'est le caillou, et ça, c'est la photo.
Attends, je vais voir si les gens, ils le voient bien, pas trop. Hop.
Ça, c'est
le caillou.
Ça, c'est la photo. D'ailleurs, si tu regardes Google Images, j'ai que cette photo en 250 000 exemplaires.
Oui, bah oui, de fou, hein.
Et en fait, là, ça a l'air d'être l'immensité, une dinguerie et tout. En fait, ce qu'on te montre pas, c'est qu'à gauche du caillou, il y a un chemin et t'as 50 personnes qui patientent.
Je vais voir si je peux chercher justement le...
Et je sais pas, fait line, tu ouais. vois. Ouais.
Ah oui, bah oui, voilà. D'accord. Et rien que là.
Et donc vraiment, et c'est vraiment, celle-là, elle est incroyable. Magie, la petite
celle-ci.
Là. Ouais.
Voilà, bon. On n'est pas. Là, par exemple, c'est moins Instagrammable ce moment. Attendez, je vous le mets en. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé un truc qu'il fallait pas que je bouge. Ah non! C'est bon. Ah non, c'est bon, c'était un truc invisible.
Ouais, voilà, ça, c'est la réalité de Trotunga.
Yes.
C'est vraiment...
Bon. Et Instagram versus reality, littéralement.
Et
quoi.
Le truc, c'est que comme c'est un caillou au-dessus du vide, littéralement, il y a un plan que tu peux faire. Tu peux pas,
bah oui.
Tu vois, tu peux pas faire une photo qui a jamais été faite de Trotunga.
Non, c'est la seule bonne photo à faire de Trotunga. En parlant de monter en haut de quelque chose, on a donc un petit téléphérique adorable. Ouf. Pour monter up top, en haut de la montagne, puisque donc l'équipe se sépare en arrivant. On a... Rom, Shiv et Kendall et Carly, Frank et Jerry qui montent voir Madson. Le reste des exécutifs, donc Hugo, Tom, etc., sont invités au brunch. On en a parlé, on en reparlera. Est-ce que déjà t'as kiffé le téléphérique? Et donc c'est le moment où dans ce téléphérique il y a deux choses importantes qui se passent. Il y a Connor qui les appelle
ouais.
pour gérer les dispositions funéraires de leur père et franchement ça les broute, donc c'est quand même un sujet. Et il y a Kendall qui dit ok, pour tous les gens comme Mimi qui comprennent rien au business, voilà ce que vous devez comprendre. 144. Au-dessus, c'est bien. En dessous, c'est pas bien. Le reste des négos, vous en occupez pas. J'étais là, merci. Je sais pas qui a mis une pancarte, enfin une petite ardoise dans ce téléphérique, mais merci. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène et de ce qui s'y raconte?
Alors, bah, c'est extrêmement drôle parce que c'est un sujet que j'ai au travail sans dévoiler mon travail. Mais par exemple, en ce moment, on a une négociation en cours où il y a un chiffre. Et moi, j'aime pas le chiffre qu'il y a.
Okay.
Et du coup, moi, je dis, moi, le chiffre qui me va, c'est à partir de temps. Si mm-hmm. c'est au-dessus, ça me va pas. Si c'est en dessous, ça me va. Et c'est vraiment... C'est ça la vraie vie des gens
oui,
qui font de négo,
une...
tu vois.
Enfin, en fait, à la fin, c'est de la thune, quoi.
C'est ça. À la fin, at the end of the day, c'est de la thunasse. C'est bien parce qu'en plus, je trouve que ça explique bien aux spectateurs c'est quoi l'enjeu. Ça réduit l'enjeu à un chiffre et à un truc très binaire, oui, non. Je trouve que ça fonctionne bien en tant que setup. Je sais pas trop quoi penser de la storyline Connor et de leur père en kilt. Parce que d'un côté...
De Marcia qui voudrait que leur père soit enterré en kilt, ce qui est un power move. Qui personnellement me plaît beaucoup. J'aurais aimé que, ouais. que Logan soit enterré en kilt, mais ça ne va pas être le cas, visiblement.
Et je vois bien que la scène, elle est là pour nous dire ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils ont déjà enterré leur père. Et qu'il n'y a que Connor. Et en même temps, ça renvoie aussi Connor au fait qu'il ne sert à rien, parce que fondamentalement, eux, ils sont là en train de vendre la boîte familiale pour 144 milliards de je ne sais pas quoi.
Mm-hmm.
Et à côté de là, Connor, sa storyline, c'est waouh, comment est-ce qu'on habille mon daron pour son. Enfin, il est vraiment out of the loop.
Et en même temps, c'est le seul qui. Enfin, il vient de perdre son père, il a acheté l'appartement où son père a vécu, et il est en train de prendre les dispositions funéraires pour son père, tu vois. Je suis là, bah, c'est le seul qui a un moment normal pour faire son deuil, en fait. Les autres, on voit qu'ils. Ils en ont pas l'occasion. Et ça finit par leur causer des tours assez sérieux dans leur choix de se focaliser sur le business. Pour moi, Connor, c'est toujours celui qui a la façon la plus saine de gérer la mort de son père. Et
ouais.
je peux pas m'empêcher de lire ça avec son discours du karaoké de « En fait, j'ai accepté que vous m'aimez pas. Que juste, il y a pas d'amour dans cette famille. » Et du coup, il est là, il lui parle mal, il dit « Écoute, je veux juste carte blanche.
Ouais. »
Ok, c'est tout. Et en fait, il essaye même pas de savoir c'est quoi les deals, tu vois.
Non,
il veut juste sa thune.
Ouais.
Il veut sa thune, quand même. Mm-hmm. Mais... Il n'insiste pas tant. Et c'est quand même l'occasion d'avoir cette réplique de Connor qui dit « J'ai dû annuler une salle à Cleveland pleine de blancs prolétaires pour m'occuper de ça, donc on va quand même s'en occuper. »
Ok.
Au cas où on oublierait un petit peu qu'il est de droite. Alors, il y a French Fry qui demande « Au fait, en parlant de chiffres, on est d'accord que c'est des milliards. » Alors non, c'est le prix par share.
Oui, c'est le prix par action.
Négocie. Donc c'est 144 $ par action de Waystar Royco. Qui est le bon prix en dessous duquel ils veulent pas descendre. Sachant que, évidemment, chacune des personnes impliquées possède beaucoup d'actions de la boîte, donc va gagner beaucoup d'argent.
Rappelons que cet énorme tocard d'Elon Musk a racheté Twitter en faisant une vanne sur le prix de l'action,
parce que, oui.
Qui était de 42 $, parce que ça fait 420. Et c'est
oui,
le hashish.
420, c'est le cannabis, vous savez.
Voilà,
si vous savez
et donc
pas,
du coup, littéralement, Elon Musk a payé 42 $ par action Twitter, alors que l'action se pétait la gueule.
Oui.
Parce qu'il trouvait... Et c'est la même chose, pourquoi est-ce que la roquette de SpaceX, elle a décollé le 20 avril, parce que c'est le 420.
Je suis fatiguée que cet homme existe. Alors, apparemment, Madson, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, est pas mal modelé sur Elon Musk, et Madson, je le trouve tout à fait... Enfin, un sup, bien sûr, c'est la pire personne. Enfin, c'est tous les pires personnes. Mais il a quand même l'air plus fréquentable qu'Elon Musk. Et je dis ça d'un mec qui a visiblement envoyé des briques de son sang à sa dircom. Donc, succession, ça permet aussi de revoir un petit peu ces critères moraux, tu vois. Ah oui, et il y a Madame Wolowitz qui dit, et Willa qui encourage Connor, c'est un dos aussi, les laisse pas se moquer de toi. C'est très vrai, c'est sa seule réplique de l'épisode. Et j'ai vu plein de gens dire, oh, y a pas Willa dans cet épisode, elle dit rien et tout. J'étais là, attendez, cet effacement, cette silenciation
de Willa.
C'est
que j'avais pas tilté.
Et si elle lui
genre je le découvre dans ce podcast.
Mais c'est pour ça qu'on est là dans les podcasts féministes. Quand Connor est au téléphone avec eux, Willa elle se penche vers lui et elle lui dit tu les laisses pas te marcher dessus.
Ça me dit vaguement un truc. Mais
elle
j'ai
est
pas...
vraiment en 100% team Connor en tout cas elle est.
Moi désolé j'étais sur le deal moi hein, vraiment Willa.
Mais toi t'étais là enterrez-le en pyjama je m'en fous. Là on est en train de négo des milliards.
Là on fait le deal.
Et donc, bah, quelqu'un disait, ok, donc, ah oui, c'est Steel Marty qui disait, ok, comme la négo pour Pierce c'était en milliards, du coup, on pensait, donc non, on n'est pas sur 144 milliards pour Waystar contre 10 milliards pour Pierce, ce qui serait quand même un ordre de grandeur beaucoup, mais on est sur $144, la chair, l'action Waystar, idéalement, je sais pas combien ça fait en tout, bah oui, mais les gamins ont dit que si la vente se passait, ils auraient environ 3 milliards, pardon. Ouais. Et qu'ensuite, ils devaient trouver les 7 autres pour Pierce.
Après, ça se...
Donc, a priori,
ça fait beaucoup
ça
d'argent.
Fait 1 milliard par gamin, plus Frank, Carl, Jerry, etc., qui ont probablement de la thune, plus Logan qui imaginait avoir de la thune. C'est beaucoup de milliards. C'est plus que Pierce, mais c'est pas 144 milliards non plus. Voilà. Même si, en vrai, moi, entre 15 milliards et 144 milliards, je suis là, pff, si vous voulez. Enfin, vraiment, ça n'a plus le sens, au bout d'un moment. J'en étais où ?
Tu en étais à le brunch.
Oui, tout à fait. Oui, bah alors on a parlé un petit peu du piège du brunch. Est-ce que tu veux revenir dessus ? Est-ce que t'as kiffé ? T'es comment en brunch ? Quand t'es... Ok. T'es en rendez-vous pro, il y a un buffet.
Oh
tu fais quoi ? Parce que d'un côté, vrai, t'aimes manger. Je
vraiment, putain, je suis un gourmand, c'est un enfer.
De l'autre, tu sais que...
C'est quoi ? Je me rappelle d'une réunion que j'ai fait et justement, bah, c'est pour une conversation où on parle en millions d'euros, pour le coup. Et il y avait des petits croissants au milieu de la pièce et personne touchait les croissants. Et du coup, et moi, j'avais vraiment très envie de manger les croissants, mais comme personne n'y allait et que je suis pas le boss, j'ai pas mangé les croissants. Mais j'y ai pensé tout le long.
Je comprends. Je pense que...
Voilà mon rapport au brunch pendant les...
Bah, tu vois, t'as raison, t'as fait comme Tom. Tom, il dit, vous avez perdu, il vous engraisse avant de vous assassiner. Et tous les gens qui mangent bien au brunch, je pense, n'ont plus travaillé à la fin. Donc écoutez, c'est malheureusement, pour l'instant, 2 exemples sur 2. Est-ce que la négo, ça a marché ? Est-ce que le fait de ne pas avoir mangé de croissant, est-ce que la négo s'est passée comme vous le souhaitiez ?
Leur chiffre est trop haut pour l'instant, je veux qu'ils baissent le chiffre.
Ah, c'est en cours, là ? Ouais. Ok, c'est la fameuse négo en cours. On espère que grâce à ta privation de croissant, ça va aller. Moi, généralement, ma technique, c'est que je suis la première à aller manger un truc. Parce que genre, tout le monde se regarde, tout le monde regarde le buffet ouais. Et tout. Moi, je dis, vas-y, bats la race, je vais manger un truc. Et après, je mange plus trop. Parce que généralement, quand tu manges un truc, c'est bon. Et après, t'as envie d'en manger plein. Et je suis là, attention. Je vais être la meuf qui ouvre la voie, mais je vais pas être la pique-assiette. Donc, je mange un truc. Après, je m'éloigne du buffet pendant genre 20 minutes par principe. Et après, je reviens, il reste plus rien. Je suis vraiment la miskine du buffet. Mais comme ça, je passe pas ma soirée à parler aux gens avec la bouche pleine et des miettes de petits fours sur les doigts, quoi.
Et est-ce que t'as un métabolisme rapide?
Pas du tout. Non plus. Clément, tu tombes directement dans mon cul. Donc, non, évidemment que j'ai pas un métabolisme rapide. Contrairement à Hugo, qui... Bon, alors on peut le dire, malgré son appétit, est plutôt mince,
oui.
Plutôt svelte. Donc, il
et des pecs,
manger.
Revoyez la scène, désolé. Les pecs de Hugo.
Non, on va pas mettre la scène, après je vais me faire bannir de Twitch pour nudité de Fisher Stevens en 2023, on est où ? C'est aussi l'occasion, cette scène, de voir pour la première fois un personnage qui va être un peu important cet épisode, qui est la fameuse DIRCOM de Madson, qui s'appelle Eba, qui est une jeune femme qui se retrouve face à Carolina, qui est un peu du coup son homologue chez White Star, et du coup bah on voit ces
merci
deux,
le chat, merci le sang.
Quoi ? Ah, le chat te dit... Ah, Malaka dit, j'ai revu la scène avant, je suis d'accord avec Mathias et Hugo. Eh bien, très bien, ok. Bravo. Bah non, mais bravo Fisher Stevens pour toute son œuvre et ses pectoraux. Je pensais pas dire cette phrase avant, mais d'accord. Donc oui, et on voit pour la première fois Eba qui va finir par être... par capillarité, un personnage un petit peu important de cet épisode. Et ensuite, du coup, Roman et Kendall et Shiv, etc., arrivent au sommet avec Madson qui a son anorak, là, avec sa capuche et tout, de personne folle. Et je trouve qu'il commence direct avec un power move de connard parce que c'est sa boîte qui ont dit « on veut que vous veniez avec tout le monde ». Genre au début de l'épisode, ils disent « bah ils nous ont envoyé un mail, ils veulent que tout le monde vienne ». Et ils arrivent avec tout le monde et Madson, il est là « bah alors, les puceaux, on vient avec tout le monde ! » Mais c'est toi qui les as invités !
Bah oui, mais ça fonctionne.
Ça fonctionne de fou. Du coup, ils sont là, non, on peut te parler sans les amis de papa, ça va.
Et qui au final est une bonne strat, parce que comme les deux ils sont trop glandus, si jamais il y avait eu Franck dans la pièce, tu vois, est-ce que ça serait passé pareil?
Ou Karl, qui vraiment a en tête son bonus de fin d'année à chaque seconde que Dieu fait, je pense que ça ne serait pas exactement passé comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette première négo, Roman Kendall Madsen?
Alors, je vois que tu as noté Abdo.
Oui, parce que...
Et ça, c'est un truc que j'ai pas tilté, mais que j'ai lu dans d'autres récaps, et je trouvais ça intéressant. Et
Toi, t'étais là sur les pectoraux de Fisher Stevens, t'étais solo avec, du coup, Malaka dans le chat. Voilà, vous êtes deux. Par contre, le réseau d'Internet a bien vu les abdos d'Alexander Skarsgård. Oui, c'est un plaisir sans cesse renouvelé, quoi.
En fait, non. Alors, parce que j'ai lu des analyses comme quoi c'était un power move. Le mec, il enlève son pull. Et en fait, dans l'enlevage de pull, il montre un peu ses abdos. Et il y a un peu ce truc de... On est quand même... sur des gens qui sont globalement tous un peu incelish et de
incelish de incel, bon, qui en tout cas sont pas très dans les canons de beauté, c'est pas des mâles alpha physiquement.
Ouais, et du coup j'ai lu des analyses comme quoi le fait que Madsen il flash ses abdos, ça les renvoie au fait que qu'il est l'alpha male de cette pièce.
Ouais, je suis d'accord, en fait tout ce qu'il fait c'est un power move, parce que il les fait monter jusqu'à lui. On voit qu'il les fait monter par le chemin lent, alors que lui, évidemment, il a son propre hélico. Il se moque d'eux d'avoir amené les gars qu'il leur a dit d'amener. Et en fait, Shiv, le premier truc qu'elle dit quand il s'en va, c'est « Je déteste son délire de bro, là, de masculinité, son délire de gars. » Et en fait, c'est vraiment un délire de gars. Donc, je sais pas si consciemment, il s'est dit « Attends, je vais bien enlever mon haut pour leur montrer mes abdos et tout. »
Bah, en tout cas, c'est filmé,
en tout
tu
cas,
vois.
Il les met dans... Oui, et en plus, il est un peu en hauteur par rapport à eux. Il est sur son terrain.
Parce que,
lui,
mine
vois.
De rien, tu vois, il monte ses abdos. Une demi-heure après, il sort sa bite, littéralement. Il y a des trucs de masculinité
ça
qui
va,
se
Roman,
jouent.
Roman, il l'avait déjà vu. Puisqu'il lui avait donné son propre téléphone sur lequel
c'est
il
vrai.
Once again, le rôle de l'urine dans Succession.
Mais du coup, oui, est-ce que ce plan abdo, c'est un power move scénaristique ou est-ce que c'est juste du cheesecake, je sais pas trop. Mais
est-ce que c'est juste pour le plaisir du public, demande Malaka.
Eh ben, je sais pas. Moi, j'ai.
Je pense pas.
Moi, j'ai kiffé. À titre personnel.
Ah oui.
La kiffance était là.
Oui, oui, oui.
Mais sinon, ouais, cette première phase de négo, concrètement, il leur roule dessus. Hein, il est un peu là, en train de dire, vous êtes des tocards. Faut qu'on avance.
Mais je trouve qu'ils ont pas l'air très préparés, surtout. Et alors certes, ils ont eu que 24 heures depuis qu'ils sont PDG, leur père est mort et tout, hein, mais ils ont pas l'air très préparés à cette négociation. Les vieux de la vieille, Karl et Franck, leur ont donné des petits conseils, notamment, ah bah Logan, il ouvrait avec une vanne et tout, ils font pas trop ça. Et on dirait qu'ils sont pas vraiment ready à, ils pourraient vouloir, parce que du coup, ce qui se passe, c'est que Madsen leur dit, je veux changer le deal et récupérer ATN, donc la chaîne de droite, alors qu'à la base, le deal, c'était votre père à la garde.
Ouais.
Et on dirait qu'ils ont jamais pensé à cette éventualité. Je suis là, bah, quand même, enfin.
Ah non, moi je comprends, parce que eux
oui,
ils.
Oui, ça peut arriver, quoi.
Eux, ils arrivent en se disant, le deal, il est fait, ils ont qu'à close le. En fait, pour moi, c'est une tactique de Madsen pour les désarçonner, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu changes les termes du deal, tu changes aussi le chiffre.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est plus d'argent.
Oui, en même temps, voilà.
Donc, si on est sur 144, au-dessus, c'est bien, il leur dit 182. C'est plus. C'est
ouais, mais du coup, ça les force à réfléchir à ce qu'ils en pensent vite.
Et à ce qu'ils veulent vraiment.
Ouais.
Et du coup, bah, c'est ce qui va créer l'opposition Kendall-Roman-Shiv dans cet épisode. C'est, il y en a qui sont team, on va faire ce que papa aurait voulu. Et il y en a qui sont team, on va faire ce que moi je veux. Et ça donne pas forcément la même chose à la fin. Et je pense que personne n'était très préparé à l'issue de tout ça. Mais je trouve, il y a, enfin, moi, j'ai quand même... Alors, il y a Grosso Merdo qui dit dans le chat, c'est clair, les CEO bro, les CEO bro sont comme des lapins dans les phares. Et Beats et Bloomy qui rappellent la violence quand Madsen se moque d'eux quand ils parlent en même temps. Et rien que ça, tu vois, le fait qu'ils se parlent dessus et tout, je suis là, mais vous avez pas défini entre vous, genre, qui fait quoi sans être dans un truc manichéen?
Bah non, parce qu'ils sont co-CEO...
Ouais, mais ils sont incapables de se parler et de dire, bon, bah, toi, tu vas faire le mec qui veut le deal et moi, je vais faire le mec qui veut
ouais,
pas
ouais,
le
non,
deal.
Ouais, non, mais ça,
ils
je suis d'accord.
Juste genre, Ou alors même, toi, tu parles d'argent et moi, je parle de culture, tu vois, par exemple. Ils sont juste à se marcher dessus, quoi.
Bah, il y a ça, et puis il y a le fait que Kendall, c'est comme le mec qui bafouille dès qu'il faut décider un truc, tu vois. Et là, genre, ah, peut-être, il faut, maybe we should. Tu sais, il fait des phrases à l'américaine où il y a beaucoup de mots, mais il y a rien à la fin.
Oui, j'adore, c'est vraiment genre, de la margarine étalée très fin. Ça a pas de goût.
Ouais,
rien.
C'est vraiment là où je pense que Roman est un plus incisif. Et tu vois, lui, il serait allé sur le deal, mais du coup, ils sont là tous les deux. Et puis, effectivement, il leur coupe la parole, donc il les empêche de réfléchir et les empêche de parler.
Mais eux deux, ils se coupent la parole. Il y a ce moment horrible où Kendall il parle, Roman il dit ça t'embête si je te coupe, et Kendall il fait bah ouais, mais tu l'as déjà fait donc vas-y. Et je suis là, J'ai l'impression, c'est comme une dispute de couple. T'as un couple qui se dispute devant toi, et toi, t'es là. J'ai pas envie d'être présent, et je suis là, mais vous êtes nuls, quoi, genre.
Bah oui, c'est ça, parce qu'en plus, ça envoie pas une image de front unifié. Tout ce que bah ça non. dit à l'autre, c'est vous êtes des tocards, quoi.
Bah ouais, et quand j'étais rédac chef adjointe chez MAD, et que donc j'étais adjointe d'une rédac chef, un des premiers trucs que j'ai appris, c'est évidemment, sauf s'il y a une vraie opposition personnelle à une décision qui est prise, il faut toujours faire front uni, il faut toujours avoir l'air aligné, quitte à ensuite on se met dans une salle de réunion et on débat, ou avant on a dû débattre et faire des compromis et on n'est pas ravi de ce qu'on fait. Enfin, parfois bah, t'es obligé de faire des compromis dans la vie, c'est normal, y compris dans la vie pro, mais tu peux pas arriver et pas être d'accord devant ton équipe, parce que ton équipe elle va juste être là, déjà décidez-vous.
Ouais.
Et là on n'est pas dans c'est leur équipe, on est dans c'est leur adversaire dans la négo, et en même temps ils leur proposent plus d'argent et de les débarrasser d'un truc qui certes tenait à cœur à leur père, mais au final, bah, eux, ils sont... Enfin, Kendall, on l'a pas vu beaucoup attaché à Etienne.
Bah oui, et puis il y a deux épisodes, ils voulaient monter leur propre network, tu vois. Ils étaient déjà en train de penser à autre chose.
The 100 t'as kiffé ? Est-ce que tu crois à l'avenir de The 100 ?
Moi, je m'abonne. Moi, je sub.
T'avais mis un peu de sous dans le Kickstarter. T'étais early.
Dans le Kiki Starter de Roman, pardon.
Waouh. Micro détail que j'ai noté dans cette scène, quand ils arrivent dans la... Donc, ils traversent cette pièce où Madson les emmène, juste avant qu'ils montent ses abdos. Et il y a évidemment un immense buffet scandinave auquel personne ne touche, parce que c'est des gens ouais. qui savent que... Attendez, c'est très prolétaire d'avoir faim. Et juste en passant, Kieran Culkin, donc Roman, il trempe son doigt dans le pot de caviar. Genre vraiment tout son vieux wad, là. Et il le goûte vaguement, et il l'époussette en mode « Ah non, j'aime pas ça, je suis là... » Déjà, je suis sûre que c'est une impro. Genre vraiment, je suis à 100% sûre que c'est une impro de Kieran Culkin, et je trouve que c'est... Juste comme juste avant, on a eu la scène du brunch, c'est vraiment une façon de montrer ton rapport au désir des choses matérielles va être hyper important et pertinent dans est-ce que tu vas réussir ou pas dans cet épisode, quoi.
Et j'aime bien parce que, en vrai, concrètement, ça salope le pot pour tout le monde, tu vois.
Mais oui, c'est ça.
C'est ça. C'est,
il a mis ses vieux doigts dans le pot de confiture.
Et du coup, personne ne peut plus en manger parce qu'il y a la vieille graisse des doigts de...
Mais en même temps, c'est que les gens nuls qui en auraient mangé, puisque les gens cool, ils n'ont pas besoin de manger le buffet.
Bah, ils sont pas là pour
donc,
ça.
Ça va. Non, ils sont pas là pour ça.
Ils sont là pour dire les termes.
Mais ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour quoi, Kendall et Roman ? Genre, vraiment, ils veulent quoi ? En fait, en arrivant, c'est bah, difficile à savoir, quoi.
C'est tout le problème. Et du coup, moi, c'est un peu une question que je me suis posée pendant cet épisode, c'est... bah, du coup, j'avance un peu, mais ils vont décider... ils décident que garder ATN, c'est important pour eux.
Mm-hmm.
Mais est-ce que... C'est pas juste que Kendall, qui est quand même globalement un gros coq, hein, est-ce que c'est pas... En gros, soudainement, ils veulent Etienne parce que Madson le veut. Et qu'en gros, et que du coup, c'est pas on y tient, on a des projets ou machin, etc. C'est on veut faire chier l'autre.
Ouais, pour moi, c'est un tout comme ils ont acheté Pierce parce que Lord Aaron le voulait. En fait, quand Madson il dit je change le deal, je veux ça, ils disent bah non, ça tu peux pas l'avoir. L'idée c'est pas on le veut ou pas, tu peux pas l'avoir. C'est vraiment les gamins, tu me prends mon jouet, ouais. même si j'ai pas joué avec depuis 6 mois, c'est pas possible quoi. Et bah on voit d'ailleurs que bah du coup cette scène enchaîne avec Roman, Kendall et Shiv qui débriefent dans la forêt parce que guess what, Shiv elle était pas invitée, et qui parle justement de bon, il veut ATN, on va décider entre nous officiellement de ce qu'on fait, et ensuite du coup on en parle avec le board, etc. Et Shiv elle dit bah cool, on lui donne notre chaîne hyper raciste qui va sûrement rendre un peu plus de gauche, ce qui est pas mal pour le monde entier en fait, enfin je m'en fous d'ATN, ouais. tu vois. Et Roman, il est là, bah, papa, il voulait garder Etienne, donc on garde Etienne. Et elle lui dit, est-ce qu'on pourrait pas garder plutôt un de ses vieux pulls ? Il est moins raciste. C'est moins raciste.
C'est moins raciste.
Donc, Shiv, bah, et alors c'est une discussion récurrente avec Fabrice sur ce podcast, sur ce débrief, qu'il pense que Shiv, c'est la plus nulle des gamins. Et je suis là, je pense qu'elle est vraiment pas plus nulle que les autres.
Non, elle
est pas. Et qu'il y a peut-être un peu un truc genré dans la façon dont tu l'aperçois aussi, parce qu'en vrai, on l'a vu faire moins de choses horribles que les autres, et. Elle n'est pas spéciale, elle n'est pas plus incompétente que Kendall ou Roman qui ont raté quand même plein de trucs, quoi. Et là, je trouve que c'est la seule qui est un peu alignée, tu vois.
Oui,
sur,
bah, et.
Non, on n'a pas besoin d'ATN, vas-y, on lui vend pour plus d'argent, on va faire Pierce, c'est top.
Shiv, dans cet épisode, de toute façon, c'est elle qui gagne, concrètement.
Oui.
Désolé pour
le spoil.
C'est elle qui gagne, mais Shiv, elle a des people skills. C'est-à-dire qu'elle arrive quand même à cerner les gens et à leur parler parce que Shiv, elle vient de la politique aussi. Il y a un moment où elle a failli, du coup, rentrer en politique. Et du coup, c'est ça qu'elle sait faire. Le problème de Shiv, c'est qu'elle est parfois trop gourmande. En fait, elle fait des conneries. Enfin, en gros, elle.
Ah bah, elle est greedy. On dit dans le jeu vidéo. Elle
c'est
est
ça. En fait, elle s'auto-sabote. C'est qu'elle. En fait, ils ont ça qui est bien avec les trois clowns là, c'est qu'ils ont chacun des talents différents et ils ont chacun des façons de se saboter différentes. Et pour le coup, Shiv, elle sait comprendre les gens, garder la tête froide, naviguer. Enfin, tu vois, elle va jouer avec Madson, elle va réussir à trouver le truc, à se mettre dans le bon endroit, etc. Mais quand elle se plante, c'est parce qu'elle a cru qu'elle avait gagné, qu'elle relâche son attention. En fait, elle fait des erreurs.
Bah, elle fait des erreurs parce qu'elle saute, elle brûle des étapes, ouais. Et elle prend la confiance trop vite. Ce qui, pour moi, est aussi le symptôme de tous ces gamins, d'être élevés dans l'idée que tout leur est dû. Mais effectivement, les grosses erreurs qu'elle a faites, ça a été quand elle a dit au dîner chez Pierce que « Vas-y, papa, tu peux leur dire que c'est moi que tu vas mettre PDG, qui est top 3 des pires scènes à revoir de la... enfin, à voir et à revoir de cette série. C'est le cringe horrible. » Quand, là, bah, dans l'épisode l'épisode précédent, quand Madson est saoulée parce qu'ils ont pas décroché et qu'ils sont au téléphone avec Oscar, c'est elle qui dit « Ouais, mais du coup, vous allez quand même nous racheter. » Et Roman, il lui fait « Bon, en fait, frère. » Et le mec lui répond « Ouais, ouais, si vous êtes pas trop pressé. » Donc, je suis là « Chut. » Effectivement, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On met pas la charrue avant les bœufs, tout ce que tu veux, mais...
En fait, Shiv,
elle
est dans l'impatience. Ouais, c'est ça, c'est un problème d'impatience.
Oui, et puis je trouve que son adaptabilité vient aussi du fait que c'est une meuf dans un monde patriarcal, ouais. Et que bah on en parlera bientôt, mais quand son rapport avec Madson est quand même loin d'être dénué de, bah c'est aussi la seule meuf quoi, et en plus elle est quand même très belle, je trouve, Shiv. Hein.
Et très honnêtement, la scène avec Madson au début, je me demandais s'ils allaient niquer en fait. Enfin, c'est-à-dire en gros, c'est la manière dont c'est tourné, la petite pénombre et machin et tout. Et je me dis, mais en fait, est-ce que ça va partir en BZ?
Ouais, lui,
en
il a les yeux qui crient braguette un petit peu. Et Sarah Snook qui joue Shiv et Alexander Skarsgård, ils sont jolis. Et t'es là. Visuellement, je détesterais probablement pas ce qui se passe. En termes d'intrigue, je suis contente que ça soit pas arrivé. On fait un petit point Greg, peut-être, parce qu'on a un petit moment Greg qui arrive dans la série, puisqu'on a Tom et Greg qui discutent devant des porcs en train de rôtir, ce que j'ai trouvé quand même plutôt à propos pour Disgusting Brothers. Et on a ensuite Greg qui va amener cette idée de quad squad, puis qui va s'incruster avec Madson pendant que Tom parle de l'avenir de la France. Donc voilà, on a un petit arc Tom-Greg là qui arrive. Pensez. Avis, opinion sur Greg, notamment Greg Hirsch, Gregory Hirsch.
Non mais Greg, en fait, ce qui me fume, c'est que ce mec, il est toujours là parce qu'il est suffisamment médiocre pour. En fait, ça vaut pas le coup de le sortir parce qu'il sert à rien. Et du coup, il continue à être là, à être là, à être là. Et c'est vraiment, c'est une espèce de petite sangsue. Et en plus, moi, ce qui me rend ouf, c'est que Greg, il ment tout le temps. Sur ses liens familiaux, sur son importance, sur son machin, etc. Il est l'insécurité même.
Après, dans le chat, ça dit son talent, c'est le culot.
Ah oui,
bien sûr. Il est trop drôle avec son culot. Donc, l'insécurité, mais mêlée d'une audace.
D'une audace. Et il y a ce truc de, tu sais, c'est, en fait, on se méfie pas de lui parce qu'il a l'air trop nul. Et en fait, c'est ça qui fait qu'il survit jusqu'ici. Ça, plus le fait que Tom a besoin d'avoir quelqu'un à qui parler et quelqu'un à écrabouiller, mais c'est encore un autre problème. Mais du coup, moi, j'en suis au point où vraiment, toutes les séquences avec Greg, elles me cringe. Enfin, moi, ça me tend. C'est vraiment.
Ouais, moi aussi. Il y a Arzel qui dit chaque apparition de Greg est aussi cringe que drôle. Saison 4, non.
Je suis vraiment dans le cringe.
J'en ai déjà parlé, mais parce que pour moi, il représente ce truc de mec, toi, t'as pas d'excuses, t'es l'un de nous, tu vois. Ouais. T'es un mec normal. T'as eu des jobs, t'as fumé des vieux joints éclatés dans des caisses nulles. Tu connais le vrai monde des vrais gens, et du coup, t'as pas le droit. C'est vraiment un traître à sa classe, tu vois, mais en fait, reste des classes du monde qui sont pas les milliardaires, c'est-à-dire environ tout le monde, quoi.
N'oublions pas que Greg a intenté un procès à Greenpeace.
Oui! Qui s'est fait porter sur les épaules de mecs de l'alt-right pour ça au congrès secret des républicains, et que même Tom lui a dit, wow, bravo au procès à Greenpeace. On va aller au paradis.
C'est vraiment, en fait, il a une espèce de naïveté bête qui est assez incroyable. Et en même temps, il est pas bête parce qu'il est toujours en train de skim des trucs et machin. Et je suis assez d'accord avec toi, tu l'as mentionné, je pense que Greg gagne à la fin.
En tout cas, il va pas. Je dis pas qu'il est PDG de Waystar à la fin,
non,
mais en tout cas,
il s'en sort.
Il va être très bien, ouais. Très bien calé, et ce sera une très belle illustration de l'idée que le capitalisme corrompt tout.
Qui
est quand même assez présente dans Succession, quoi.
Mais après, il veut être corrompu, Greg. Hein.
Greg, il a fini la saison précédente en disant qu'est-ce que je foutrais avec une âme dans tous les cas. Il a vraiment vendu son âme au diable à un mariage en Toscane en rigolant. Et bah après, c'est pas fou. Il y a French Fry qui dit il a rien à perdre, donc il est all-in 100% du temps. Alors, il a rien à perdre et il a tout à perdre. Parce que le revers de la médaille.
Un
neuville
de droite, incroyable.
De fou.
Les termes sont dits.
Le revers de la médaille de Greg, c'est un mec qui vient du monde normal. C'est que Greg, il sait ce qu'il perd s'il arrête d'être dans le monde des riches, quoi. Greg, vraiment, pour le coup, les buffets en Scandinavie, les rides en jet privé et tout, il sait
que, ça
que
finito,
c'est pas normal. Et bah, un peu comme on a vu Kerry qui pète un câble, et je pense que Kerry, elle pète en partie un câble parce qu'elle est là. J'étais pas loin.
Ouais.
J'étais pas loin d'avoir vraiment toute la thune, même si elle est probablement pas prolo, hein, Kerry, ça va. Bah, Greg, il sait ce que ça fait d'être pauvre, en fait, de pas être un milliardaire, mais même d'être plutôt précaire, et du coup, il a tout à perdre. Et je pense qu'il est prêt à tout, et que c'est ça qui va faire que il s'en sort bien, quoi, parce qu'il a pas de loyauté. Et par contre, je trouve ça intéressant son rôle qui est développé dans cet épisode de c'est le mec qui sait des trucs. Parce qu'en fait, c'est le mec qui parle aux gens, qui parle aux jeunes. On le voit à un moment danser avec les équipes suédoises de Madsen pendant la soirée d'entreprise. Alors, je sais pas toi, mais moi, mes team building, ils étaient pas aussi cool quand je travaillais dans une entreprise. Donc, un peu déçu, on aurait pu step up le budget. Et en fait, bah, Greg, il sait des trucs, quoi. Les gens lui disent des trucs.
Non, mais c'est ça, c'est sa capacité à écouter, à prendre les infos, aussi à compartimentaliser les infos, parce qu'on se rappelle qu'il avait gardé des copies de tous les trucs compromettants sur Tom, et qu'il s'en est servi à un moment, et donc, il a ce côté fou, il prend les infos,
et que
les gars.
Quand Logan est mort, Tom lui a redemandé de supprimer un dossier de son ordinateur, et je suis là, bah, il a vraiment sur une clé USB, par contre, le mec, le dossier.
Bah oui, c'est certain. Et en même temps, Greg, effectivement, il a plus rien à perdre dans la mesure où, c'était un peu quand même l'animal de compagnie de Logan. Parce que Logan le tolérait.
De Tom plus qu'autre chose, quoi. C'était Tom est venu avec son chien, tu vois.
Oui, mais des fois, il avait quand même Greg un rapport avec Logan. Il arrivait à lui demander des trucs et Logan disait oui, ok, je vais regarder ton truc ou je vais machin. Et là, voilà, il a plus ça et sa légitimité familiale, les frères et sœurs la reconnaissent pas.
Non,
mais pour
le
eux,
quad squad.
Le quad squad.
Le family gang.
Non, mais c'est pas possible. En plus, le quad squad.
La familia.
Il me gêne tellement.
Il me gêne. Il y a Bitsy Bloomy sur le chat qui dit son « My guys, my lovely guys » de l'épisode 4 est gravé dans ma mémoire pour toujours. Et en le lisant, je l'ai entendu dans ma tête. Ah, il y a quand même Mister Melly qui rappelle c'est le seul qui a été capable de bien roast Logan.
C'est vrai.
Est-ce que t'as kiffé quand il dit à Logan « Où sont tes enfants à ton anniversaire, oncle Logan ?» Ouh. Attends. Je pense que Greg sait pour l'accident de Kendall.
C'est possible. En vrai.
Vendro. Pour l'accident avec le, du coup, le serveur au mariage.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Comment il saurait? Ah, et Volovitz dit, je m'en suis pas remise. Que fait-il sur le testament? Vous avez balayé le sujet.
Greg, point d'interrogation.
Mais en vrai, je pense que Logan, il l'a envisagé à un moment parce que il est de la famille.
Mais de lui filer un bout de carotte, ouais.
Oui, peut-être pas de lui filer tout Waystar, mais je pense que Logan, il était tellement désespéré par ses propres enfants inaptes que, bah, il a regardé un peu autour et que, parmi les candidats, bah, ouais, tiens, il y a Greg, c'est quand même mon petit.
On peut lui filer un petit poste, un truc.
Il est déjà chez ITN avec Tom et tout, donc peut-être on lui donnera. Mm-hmm. Et il a cette. Alors, est-ce que tu sais. Donc, Greg, il dit que la rumeur dit que Madsen, quand il couche avec ce que Greg appelle des randos, donc des randoms, donc vraiment des meufs de passage, on va dire, des relations qui ne comptent pas, il écoute des podcasts. Il met ses écouteurs à réduction de bruit, il écoute des podcasts et il regarde juste la meuf aller et venir sur son Norwegian Wood pendant l'acte. Déjà, je me suis sentie personnellement attaquée par cette vanne, car je l'ai jamais fait, ok. Mais il m'est arrivé parfois d'écouter des podcasts dans des situations inattendues, comme par exemple... Alors, c'est pas du tout du cul, mais un jour, j'étais avec un mec, qui était avec mon mec de l'époque, et c'est un mec qui aimait bien aller en club genre où les gens, ils prennent de la MD, ils écoutent de l'électro, tu vois. Et une fois ou deux, j'ai essayé de l'accompagner pour être curieuse, même si c'est vraiment pas mon truc et qu'il faut y arriver à minuit. Moi, à minuit, je suis déjà au lit.
Non, c'est finito.
Et donc, j'étais dans ce club où il y avait, genre, à un moment... Il y a un des potes de mon mec qui m'a dit « Ah, trop bien, le DJ que je veux écouter, c'est le prochain. » J'étais là « Attends, tu veux dire qu'il y a eu plusieurs DJ là qui sont passés pendant 2 heures qu'on est là ? C'est pas le même gars qui passe le même son, parce que je vois pas, j'entends pas la différence. » Voilà. Désolée à Nodus, mon amoureux, qui est plus versé que moi en électro. Et à un moment, je me faisais tellement chier, et la queue pour les toilettes, les toilettes des meufs, c'était genre tellement long, que j'ai mis des écouteurs et j'ai écouté un podcast sur Game of Thrones dans le club qui passait de l'électro de fou, parce que j'étais là « En fait, c'est plus... » Voilà.
Et imagine, t'écoutes un podcast Game of Thrones dans un club où c'est Teki qui mixe.
Non,
et
mais là, je m'en voudrais. Si je vais voir Teki qui mixe, je vais évidemment écouter à pleine oreille tous les sons et tous les mix de Teki Latex. Streamer fort, j'en sais rien. Teki Latex, Jérémy Châtelain, le premier son de rap de Teki Latex depuis plus de 10 ans. On est ravis. Donc déjà, attaqué personnellement par cette anecdote, est-ce que t'as le bail DiCaprio ?
Lequel ?
Le bail DiCaprio, les écouteurs ?
Non.
Ok, alors... Après l'épisode de Succession, je vais sur Reddit et un des top commentaires que je vois, c'est Oh my god, cette histoire de Madsen et des podcasts, c'est vraiment une ref à DiCaprio. Et moi, j'étais là, quoi? Et apparemment, une rumeur tenace dirait que DiCaprio, quand il fait la chose, parfois, il met des écouteurs à réduction de bruit et il écoute de la musique en faisant la chose. Et genre, il est pas du tout
et tu sais quoi,
l'interaction avec la personne.
Et quoi. En même temps, une vibe.
J'y crois. Désolée, j'y crois.
C'est un peu...
Il sort avec des meufs hyper belles, vachement plus jeunes que lui, dont à mon avis, il sort pas avec pour leur conversation. Non pas qu'elles en aient pas.
Non mais, imagine ça de manière un peu consentante, tu vois. Tu dis genre à ta partenaire, en vrai, j'aimerais trop que tu me fasses des bails pendant que j'écoute de l'ASMR ou je sais pas quoi.
Ah non mais ça, y a pas de souci si c'est comme ça, tu vois. Genre, et j'ai déjà parfois prodigué du sexe oral à des hommes que j'aimais et qui étaient en train de faire autre chose et ça faisait partie du délire et c'était pas désagréable et ça m'est arrivé aussi.
En voiture?
Alors, je l'ai fait une fois en voiture. Il faut pas faire ça, ne faites pas ça, ok? Mais j'ai lu, il y a un livre horrible qui s'appelle Le Monde selon Garp. Désolé, spoiler pour Le Monde selon Garp. Où à un moment, il y a un gars. En plus, c'est une meuf. Elle est en train de tromper son mari, donc c'est chaud. Et son mari, c'est le héros du livre. Et sa meuf, elle a un accident de voiture, ok? Elle a un accident de voiture avec son amant. Elle était en train de le peps pendant qu'il conduisait. Elle a sectionné l'engin de son amant au moment de l'impact, du coup. Donc, dur, ne faites pas ça chez vous. Bref.
Et c'est pour ça que j'ai pas le permis, ça règle le problème.
Pas encore.
Pas encore.
Alors non, vous pouvez aussi ne pas avoir de relations sexuelles pendant que vous conduisez. Voilà, vous pouvez faire des choses dans une voiture à l'arrêt, bien sûr. Et pas et en écoutant des podcasts ou pas, par contre, ça c'est légal. Y a pas de souci, c'est votre choix.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
J'essaie de revenir. Donc il y a la scène où Madsen est en train de parler avec son équipe de Suédois et donc ce fameux Oscar qui est joué par un acteur qui apparemment était dans Vikings, si je dis pas de bêtises, qui est ce fameux brun barbu. J'ai pas détesté Oscar physiquement, voilà. On me le demandait au début du live, donc je vous le
Moi,
dis.
Moi, pas d'avis.
J'ai pas détesté, mais c'était pas un coup de cœur non plus. Est-ce que Madsen, ça marche sur toi, genre physiquement, son charisme? Parce qu'Alexander Skarsgård, il y a toujours ce truc de... Il est considéré comme un sexe symbole. Et moi, je suis là, non, j'ai peur de lui. Et pas de la bonne façon, pas genre,
J'ai
un peu peur de lui, genre.
Je vois. En vrai, moi, je le trouve BG. Mais effectivement, il a un visage qui peut faire menaçant. Genre, c'est-à-dire que... Genre, ce mec-là, unhinged, je suis pas bien, tu vois.
Bah là, il y a plein de regards qui lancent.
Ah oui.
Dans la négo, Kendall à Kendall et Roman. Et quand il est tout seul... La nuit avec Shiv, où
oui,
j'étais
oui.
La girl run.
Voilà, genre, il y a des problèmes à l'intérieur, là. Ça...
Ouais. Alors, Volovitz dit Oscar, donc le fameux barbu, trop cute, c'est un Ron Swanson. Non, je pense que si t'es le bras droit de Madsen, t'es pas trop cute. Hein. Je pense que peut-être c'est son Carl, peut-être qu'en fait il est dégueulasse. Il était ravi d'aller au sauna, peut-être qu'il aime trop être tout nu, on ne sait pas. Qu'est-ce que t'as pensé de Tom qui essaye de renouer des liens avec Madsen et les Suédois et de parler de l'avenir de la France?
Eh ben, en vrai, où va la France? Oui. Est-ce que la France va s'en sortir, Myriam?
Posons la question, est-ce que la France va s'en sortir? Est-ce que les Européens sont, comme le dit Jerry, trop biberonnés à leur sécurité sociale et à leur congé payé pour pouvoir faire l'affaire face au capitalisme américain?
C'est vrai qu'on a pris deux balles dans le même épisode, c'était quand même assez
fou. En même temps, on a pris deux balles de gens dépressifs qui n'ont pas de congé payé.
En vrai, donc... moi, ce que j'ai trouvé hilarant, et bon, c'est très Tom compatible, c'est qu'en vrai... est-ce que la France va s'en sortir? C'est vraiment de la géopolitique très haut, enfin, très bas niveau, tu vois. Et je trouve ça ouf que Tom ait pas d'avis là-dessus, ou même pas une anecdote à contribuer, et que même Greg est capable de le one-up. Alors, ok, il le fait de manière ultra cringe et machin, etc.
Peut-être que la baguette est plus puissante que le bagel.
Non, mais il dit, moi, j'ai lu L'Économiste et tout.
Oui.
Non, mais c'est-à-dire que, sans être un gros fan de géopolitique, je peux être à une soirée et on me dit, ah, tu penses quoi du Brexit? Genre, peut-être mon avis, il est éclaté au sol, mais je suis capable de faire une phrase.
Oui,
et là, Tom, il est pas capable, soit parce qu'il sait pas, soit parce qu'il a peur de dire la mauvaise réponse. Peut-être un mélange des deux. Mais il y a vraiment ce truc, et c'est aussi un truc qui revient beaucoup sur Tom, c'est que Tom, la géopolitique, ça intéresse pas. On le voit quand il parle des news et tout. Les nazis, ils s'en foutent. Et c'est vraiment un truc, genre, en fait, ce mec-là, il bosse dans...
Louise dit Tom ne sait pas situer la France sur une carte.
Ça, c'est vrai.
crois. Il est allé y retrouver Shiv, hein. Il l'a dit dans l'épisode précédent, mais je suis pas sûre qu'il sache où c'est.
Et non, puis il y a eu le truc, genre, je sais plus qui dit cette phrase dans l'épisode, ouais, pourquoi est-ce qu'on va en Norvège alors que c'est des Suédois? Et je crois que c'est Tom qui dit, mais c'est le même pays de toute façon.
Ils descendent des mêmes violeurs, ce qui est une référence aux Vikings. C'est They descend from the same rapist.
Et ouais, non, moi j'ai trouvé cette scène, moi je trouvais ça vraiment très drôle parce que je trouve ça ouf que Tom il arrive à bégayer sur un sujet aussi. C'est du chit-chat, tu vois. C'est pas
oui, une... et puis enfin, la France et l'OTAN, c'est une des grandes puissances mondiales. Alors, cocorico un petit peu, je suis peut-être chauvine, mais
en fait,
ils lui demandent pas des nouvelles d'un obscur de Monaco ou
bah oui,
de Luxembourg,
tu vois. Et ils lui disent pas comment tu réglerais le conflit israélo-palestinien en deux phrases, Tom, tu vois. Ils lui disent, ah, du coup, la pluie, le beau temps, la France, et le mec il est là, et du coup, il essaye de torpiller Greg qui a une bonne réponse au truc, genre moi j'ai lu l'économiste, bla, attaqué. Ah ouais, monsieur lit l'économiste.
Oh là là, dis donc les sapios là, c'est les économistes. Mais il y a un moment, pendant cette scène, donc Tom il s'en. Donc il y a Greg qui essaye de faire arriver le quad squad avec Kendall, Roman et Shiv et ça marche pas. Et ensuite on passe à Tom qui s'incruste auprès de Madsen. Et en fait, la caméra elle fait un truc où tu vois derrière Greg qui parle à Shiv et Shiv qui se retourne vers Tom une ou deux fois. Et pour moi, il y a un truc où je suis là. Greg, il a dit un truc à Shiv. En fait, il arrive et juste après, il vient dans la conversation. Genre, c'est Greg qui s'incruse dans la conversation. C'est pas Tom qui dit, ah bah tiens, je me sens un peu bête, donc je vais appeler Greg pour qu'il... Ou alors, à un moment, il lui avait dit, je te fais un regard quand j'ai besoin de toi. Donc peut-être c'est Tom qui l'appelle. Mais c'était bizarre parce que ouais, j'avais vraiment l'impression que Greg, il... Ah oui, c'est Tom qui a demandé à Greg d'être cringe quand il l'appellerait. Ok, Vendro, ok. Merci, Vendro, que tel. Je pense que... Je viens de comprendre moi-même un truc que j'avais pas compris en essayant de refaire la scène. C'est qu'en fait, effectivement,
ça va très
raison.
Vite en même temps.
C'est Tom qui appelle Greg pour lui dire « Viens, j'ai besoin d'un blood sacrifice », comme il lui avait dit, donc je vais te jeter sous le bus, en gros. Et bah, Greg, au final, dit un truc qui est pas très intéressant, mais il bégaye pas plus que Tom, en tout cas. Pas moins, mais pas plus. J'ai vu... Donc, la plupart des critiques de Succession que je lis et que j'écoute, c'est des Américains. Et c'était assez intéressant, le regard sur cette scène, parce que ce que Tom, il dit, c'est pas « je sais pas ». Il dit « les États-Unis, on s'en fout ». Des Européens, en fait. Enfin, il faut que vous compreniez qu'on s'en fout de l'Europe. On a notre propre culture, on a notre propre écosystème, on a notre propre Paris, et quand notre Paris brûlera, on la reconstruira. Et ça, couplé au fait que Madsen, il dit que ATN, en gros, il va tout refaire et qu'il va en faire un truc hyper aseptisé et tout. Il y a du coup beaucoup de critiques de séries américaines que j'ai lues qui le lisent comme c'est vraiment une preuve que, effectivement, Madsen n'est pas si malin et qu'il comprend pas la culture américaine. Et en fait, Tom, il donne la bonne réponse, qui est que oui, aux États-Unis, on s'en fout de savoir ce qui va arriver à la France, en fait. Enfin, c'est les États-Unis. Et que du coup, que ce gars-là qui comprend pas ça, il essaye d'acheter un géant du média américain qui est Waste Heroico. En fait, pour un public américain, ça montre un peu, Madsen, il est pas si bon. Alors que pour nous, en tant qu'Européens, ça montre, Tom, il est vraiment inculte. Il sait pas quoi dire sur la situation de la France, tu vois.
C'est une analyse intéressante.
Après, je suis là, c'est l'analyse des Américains.
Ben, c'est ce que lui dit Madsen. Il lui dit, de toute façon, moi, votre chaîne, je vais la rendre un peu plus woke parce qu'il n'y aura plus assez de vieux pour la mater si on continue à faire des trucs racistes, quoi. Il dit
que les infos pour les vieux racistes en colère, c'est pas très porteur. Et je pense, malheureusement, que l'histoire montre qu'il a tort. Oui. Et d'ailleurs, Kendall lui dit, ah oui, tu vas restructurer notre chaîne d'infos extrêmement rentable qui, si elle est modelée sur Fox News, ça rapporte beaucoup de pognon. Hein. J'ai trouvé... Parce que la France et le monde se demandent qu'est-ce qu'il raconte en suédois quand Greg arrive.
Moi, c'était marqué dans mes sous-titres en anglais.
Ah, moi non. Donc je l'avais pas, mais je me suis dit Internet sera là, donc je suis ravie. Donc Greg arrive et Madsen se demande quand même. Excusez-moi, tu es qui? Finalement, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas pourquoi tu les invités. Et il dit après avoir dit oh et là dedans il y a un conte sur qui je suis. Où j'étais là, Greg ta gueule. Il dit que c'est un cousin et ça fait marrer tout le monde cette idée de attends mais vous êtes combien de Roy en fait, qu'est-ce qui se passe?
Il y a une vanne sur l'inceste.
Et oui, il y a une vanne sur la consanguinité, puisqu'ils disent... donc, ils l'appellent deux maîtres de népotisme, Greg, ce qui marche très bien. C'est une réunion de famille incestueuse, et ils l'appellent le géant de Habsbourg. Donc, les Habsbourg étaient une dynastie connue pour sa consanguinité. Ouais. Une dynastie espagnole. Donc, ils sont vraiment sur des full vannes de... Mais c'est quoi ces gens qui font du business autant en famille, alors que eux, ils ont l'air de pas du tout être de la même famille. Alors que Alexander Skarsgård, sa famille...
Parlons-en. Il y en a beaucoup.
Il y en a pas mal de Skarsgård.
Encore, ça fait beaucoup là, non?
Parce que donc son père, c'est un acteur que pour le public international, on a notamment vu dans les Avengers, dans les Thor notamment, mais aussi dans d'autres bons films comme Millennium de David Fincher. Son frère Bill Skarsgård, vous l'avez peut-être vu en clown maléfique dans ça, Alexander Skarsgård à la carrière qu'on lui connaît. Et il y en a un autre.
Oui, il y en a plein.
Il y en a un petit jeune. Enfin, il y en a pas mal. Il y a pas mal de Skarsgård, tous blonds, aux yeux bleus, sur des échelles de flippants différents, mais pour l'instant, tous capables d'être flippants quand même. Hein.
Même le
daron. Donc c'est rigolo de faire cette vanne à Alexander Skarsgård. Et apparemment, ils ont des bons accents en suédois, sauf le barbu qui a un accent islandais un peu fort quand même.
Ah,
vous l'aviez bien sûr entendu chez vous, hein, mais c'est important.
Moi, ça m'a dérangé.
Je veux dire. Ça t'a dérangé. Ça t'a sorti. J'ai... Ah, ma suspension d'incrédulité en a pris un coup. Et donc Kendall arrive et dit « Ouais, ok, peut-être qu'on peut avoir les sous-titres sur vos vannes. C'est pas très poli de faire des vannes sur nous en suédois alors qu'on est là, ce qui est vrai. » Et bah let's go, c'est le moment de reprendre la négo. Cette fois-ci, Shiv est là, même si elle dit pas grand-chose. Et c'est le moment du coup où Madson dit « Voilà ce que je compte faire d'ATN. Voilà pourquoi je pense que c'est de la merde et que je vais en faire un IKEA de la news. » Et qu'il leur roule bien dessus quand même, globalement. Qu'est-ce que t'as pensé de cette deuxième négo entre deux pintes, en plein barbecue, au bord du torrent et du concours de lancer de hache?
Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que moi, en égo, je suis un peu un Madson, parce qu'en fait, lui, il va en finir. Il y a vraiment ce truc de... en fait, il les engueule quand il les a pris entre casieux, là, dans le resto, en leur disant « Donnez-moi un chiffre », et d'autres disent « Oh, bu, faut qu'on réfléchisse ». Et là, en gros, ils sont, les autres disent « Oh, c'est pas le lieu pour avoir la négo », parce qu'en fait, Madson, il va en finir, il est là genre... Let's go, enfin, dites les termes, on arrête. Et tu sens un peu son espèce d'agacement sur le truc. Et après, le IKEA de la news, ça, c'est un peu, c'est un peu ma pet théorie, c'est que Madson, il rachète la boîte pour la couler, ou pour la vendre en pièces détachées, ou pour, en gros.
Quand Kendall lui dit, tu ne comprends pas ce qu'est ATN, ou ce qu'est Waystar, il lui dit, je comprends très bien, vous êtes littéralement a part shop, donc un magasin de pièces détachées, quoi. Je vais juste prendre ce que je veux et les vendre et les couler et faire ce.
Et
je vais démanteler la boîte.
Plutôt. Et pour moi, une des fins possibles de succession, c'est que l'empire de Logan n'existe plus à la fin.
Littéralement, il n'y a pas de succession parce qu'il n'y a plus d'empire.
Parce qu'il n'y a plus d'empire. Et du coup, moi, je vois bien, parce que Madson a l'air quand même un peu pervers par plein d'aspects, je le vois bien démolir le truc, le revendre en kit, le foutre en l'air, et peut-être une fin de saison où tu vois les gamins impuissants face à ça. Et à la fin, il n'y a plus qu'un champ de ruines, en fait. Il n'y a plus rien à succéder.
Avec une pina colada, ouais. En train d'être sexiste et désagréable. Mais en plus, attends, Galaxy Brain. Souvenons-nous de l'intrigue de Voltaire. Voltaire, saison 1. Kendall pense qu'il va devenir PDG et il fait l'acquisition de Voltaire, qui est un genre de Vulture, du coup, de BuzzFeed, de,
ouais,
en tout cas,
BuzzFeed,
de nouveaux
ouais.
médias cool américains. Un peu contre l'avis de son père. En tout cas, son père pense qu'il a trop payé et Kendall, il est là. Mais non, c'est le futur papa et tout. Son père ne le fait pas PDG en partie parce qu'il pense qu'il a raté ce deal et qu'il a trop payé.
D'ailleurs, Logan avait raison parce que BuzzFeed News a fermé cette semaine.
Oui, mais pas BuzzFeed.
Oui. Mais... Ok, fine.
Pas les deux. Mais rip BuzzFeed News quand même. Rip, moi j'adore BuzzFeed News. Franchement, je suis triste. J'étais triste que BuzzFeed France ferme déjà. Donc, le gros coup de Kendall, c'était faire l'acquisition de Vulture, qui en plus pour lui était une bonne, un bon symbole de la modernisation des médias qu'il voulait amener chez Waystar. Et quand, à la fin de la saison 1, son père lui dit « Bah en fait, tu vas travailler pour moi, petit connard, parce que je sais que t'as tué un gars », un des premiers trucs qu'il lui fait faire, c'est aller démanteler Vulture de l'intérieur. C'est-à-dire, il arrive, il dit « On vous a racheté, bah, vous êtes tous virés, cordialement ». Et quand le PDG le confronte, il lui dit « Bah je le fais parce que mon père m'a dit de le faire ». Et comment il avait acquis Vulture à la base, c'est en leur faisant littéralement une offre qui était trop bonne pour qu'ils puissent la refuser, donc en leur disant « Je vais vous acheter tellement cher que votre conseil d'administration de Voltaire va vous obliger à dire oui parce que votre boulot, c'est de faire gagner de l'argent aux actionnaires.
Ouais. »
Et dans cet épisode, c'est exactement ce que Madson leur fait. Et en plus, il fait une référence à un moment, il appelle Kendall « Ah oui, le Voltaire guy », sous-entendu quand il parle un peu de ses compétences business et médias. Je suis là, il est en train de lui faire exactement ce que Kendall il a fait à Voltaire, sauf que Kendall, à la base, il avait pas
il
acheté
pas fait
Voltaire
exprès,
pour
ouais.
le tuer. Il y croyait vraiment. Ouais. C'est son père qui l'a obligé. Tout est lié. Galaxy Brain. Ah ouais. Juste, mini parenthèse pour revenir à Greg. Il y a un truc que tu sais peut-être pas, qui est que la théorie de Fab, c'est que c'est Greg le père du bébé de Shiv. Voilà.
Qu'on m'appelle Fabien.
Appelons Fabien, on va le prendre en visio. Je lui ai dit, j'ai dit noir sur blanc, je ne suis pas d'accord avec cette théorie, c'est non. Et Shiv ne toucherait pas Greg avec la chatte volée de quelqu'un d'autre posée sur un bâton, je pense. Donc vraiment, non. Quoi ? Mais grosso merdo dans le chat dit, épisode 1, Shiv en voyant Tom lui dit, alors tu fais partie des Disgusting Brothers. Comment elle connaît leur surnom chelou ? Est-ce que c'est Greg qui lui a dit ? Est-ce que Greg c'est le baby daddy du bébé de Shiv ?
Alors, mon esprit n'arrive pas à garder cette idée en tête.
C'est
vraiment
très dérangeant,
c'est très dégueulasse.
Oui, oui.
Et du coup,
Shiv is pregnant, mais respectez-le.
Pregnant.
Je Je vais manger mon micro, je vais ronger la table, arrêtez.
Ah, c'est compliqué.
Tu pensais que tu serais l'élément le plus insup de cette chaîne Twitch, et guess what, c'est le chat, c'est toujours le chat.
C'est toujours le chat wins.
Always. Donc on est d'accord, on est à 2 sur 2 qui pensons que, on est d'accord, c'est Tom, le père de l'enfant qui se porte Shiv.
Je pense qu'il y a eu un petit sexe un peu compliqué. Je pense que il y a un peu de romance entre deux malgré tout.
Entre Tom et Shiv.
Ouais.
J'ai cru entre Greg et Shiv, j'étais là, non, me lâche pas,
mais ça, j'ai nexté, déjà.
Ah oui, voilà, il a fait le deuil de cette idée immédiatement.
Et parce qu'un des trucs intéressants dont il faudra qu'on parle cet épisode, c'est que Tom n'est pas viré.
Et oui, et comment est-ce qu'il n'est pas viré alors qu'il n'est pas une femme ? Et que toutes les femmes restent ?
Et on va en parler. Donc voilà. Mais nous parlerons
nous
de
Kill List. Nous en parlerons très bientôt, puisqu'on on approche tranquillement quand même du dénouement de cet épisode. Madson les traite de tribute band, c'est-à-dire de groupe de reprise de leur père, ce qui est...
Une très bonne vanne.
Ouais, extrêmement dur, mais une très très bonne vanne. Ensuite, on a le petit passage au sauna où Franck et Carl sont ravis de ne pas être des canards laqués en train de cuire... Des canards rôtis, pardon.
En fait, cette scène, elle est trop bien parce que eux deux, là... Eux, ils sont déjà... En fait, c'est les seuls qui n'ont pas d'enjeu. Ils ont check-out mentalement. Mmh. Ils sont là, genre, on s'en fout. On a plus de billes dans cette histoire. Et ce qui est, en vrai, une des vraies questions que moi, je te posais avant qu'on se lance, c'est, en fait, quand tu arrives à un certain âge, à un certain niveau de fric, pourquoi tu continues encore, tu vois ? Jerry, elle a des trucs à prouver. Shiv a des trucs à prouver, etc. Mais en fait, il y a des gens, tu vois, Hugo, il continue à être là. Est-ce que, à quel moment t'as assez d'argent? À quel moment t'as assez bossé?
Quand est-ce que t'es satisfait?
Ouais. Et là, tu vois, t'as deux personnes, et peut-être les deux premières de cette série, à dire, nous, c'est bon.
Moi, c'est OK.
Moi, j'ai
c'est
fini.
C'est OK, tire. Bah, et je pense un peu Connor, en vrai. Je pense que Connor, c'est le seul qui a réussi, mais un peu contre travail forcé aussi, à pas être dans ses délires, quoi. Et
ouais, à être dans ce truc de...
Vivre une meilleure vie.
En Gaulil grec, quoi.
Mais oui, mais Gaulil grec. Mais du coup, nouvelle tristesse dans l'interview de l'actrice qui joue Jerry, qui racontait qu'elle avait aussi normalement un moment au sauna où on la voyait insister pour ajouter de l'eau sur les pierres en disant « bah allez, il fait un peu frais et tout ». Et que dans sa tête, elle est là « moi je pense que Jerry elle a pas été virée parce qu'elle a tenu le sauna ». Et que c'est des Suédois, et le sauna c'est important. Et du coup, elle a dit « mais si vous regardez en arrière-plan, on la voit un peu sourire dans le sauna, et ben en fait c'est tout ça qui vient de se passer, ils ne sont pas pu garder au montage ».
J'ai une anecdote tenir le sauna, je sais pas, c'est vraiment sans aucun rapport.
Mais on prend
Un jour, j'étais dans un sauna à New York avec des amis. Et...
Tu as une vie, dis donc, globe-trotteur, un citoyen du monde.
Un globe-trotteur. Et moi, je gère très mal les fortes températures. C'est-à-dire que vraiment, le réchauffement climatique, il va me niquer. À 40 ans, c'est fini.
Bah, tu as remonté au nord, quoi, petit à petit.
Norvège, Suisse.
T'as pris des petites notes pour se loger.
C'est ça. Et c'est pas cher, un petit pavillon en Norvège et tout. Mais on en reparlera dans 10-15 ans.
Bah, je viendrai pour les champignons.
Avec plaisir. Et du coup, j'étais dans le sauna et concrètement, on m'a dit « oui, il faut que tu restes 8 minutes ou 10 minutes, je sais pas quoi ». Donc j'étais là en train de vraiment de suer comme un bœuf avec mes potes qui étaient hilars. Et il y avait un homme afro-américain, 40-45 ans, super baraqué, super grand, à côté de moi. Et là, vraiment, j'étais en train de suer. Et tu sais, il y a un moment où on était à mi-chemin, je commence à avoir un peu flou. Mm-hmm. Vraiment, mon corps, il m'envoie des signaux de peut-être que c'est une idée de merde.
Mec, très clairement, on a tous les potards au il faut partir maintenant. Pourquoi tu es là ?
Et du coup, j'ai levé mes fesses. Et là, le mec à côté de moi, il a mis sa main sur mon épaule et il m'a rassis de force.
You stay.
Non, et il me regarde, il me fait j'ai tenu l'Irak, tu vas tenir le sauna.
Mais en fait, les mecs, vous allez pas bien. Vous allez mal, les hommes. Pourquoi vous faites ça ? Juste, si tu tournes de l'œil dans le sauna, sors du foutu sauna, c'est pas grave.
Écoute,
quand je suis au hammam au Maroc, non mix, donc que de la go, quand il y a une go qui tourne un peu de l'œil dans la pièce la plus chaude, on lui dit pas « Oh, moi j'ai tenu l'accouchement de 4 enfants, alors tu vas tenir la pièce », on lui dit « Bonjour, tu veux un verre d'eau froide et on te ramène à l'entrée ?»
En même temps, quand t'as un vétéran de 150 kilos qui te dit « Tu restes dans le sauna », tu restes dans le sauna.
Mais oui, t'es resté, bah cool, t'as cuit à la vapeur dans un sauna avec un mec que tu connais pas qui t'a dit « Non, tu restes
bah, ». Bah, voilà, bah, la masculinité c'est un trip, tu vois.
Ton Jerry, c'est ce gars-là. Oui, la masculinité. Je sais que la masculinité, c'est un truc, Mathias. Si jamais, Mathias est passé dans The Boys Club, actuellement Histoire de Mec, pour un très bon épisode. N'hésitez pas à l'écouter. On parle un peu plus de ton bouquin, si jamais le teasing du début vous a tenté. Est-ce que t'as fini à l'hôpital ?
J'ai pas fini à l'hôpital, mais j'ai vraiment, ça tournait pas mal après.
Je comprends. Perso, j'ai pas trop de problème avec les saunas, mais c'est l'étape, parce que je pense, j'ai été au hammam toute ma vie, mais c'est l'étape, aller dans l'eau froide ou sous l'eau froide après où je suis là, parce que au Maroc, quand tu sors du hammam, tu mets tous tes vêtements les plus doux et confortables. Dessus, tu mets,
ça a l'air bien.
Genre, pyjama en coton et tout. Dessus, tu mets djellaba, donc tu t'en fous, personne voit que t'es en pyjama. Tu t'emmitoufles. Tu rentres à pied, tu bois le thé à la menthe. C'est pas « Ah, tu t'es mis bien, va dans une cascade glacée. » Donc ça, je le ferais app, tu vois. Non, mais non. Le petit whisky avec Arles et Franck, en
et peignoir. Surtout leur petit peignoir, là, dehors, au top.
Mais c'est vraiment toi, je te souhaite les que gouttes. Toi, dans 25 ans, ça soit sur un petit promontoire en Norvège, devant un fjord, avec non pas un petit whisky, mais une délicieuse petite tisane, des herbes locales.
Oh là là.
Et moi, par contre, j'aurais un petit whisky tourbé, parce que quand même, on aime vivre, quoi. Pendant ce temps... Shiv et Madson font rapidement connaissance du coup à la soirée, c'est pas encore leur moment à deux, pendant que Kendall et Roman s'isolent et décident de
garder
le deal. Et ils disent, bah s'il veut Etienne, on lui dit non quoi. On n'y va pas, mais attends, subtil frère. On va pas lui dire non, on va lui faire croire que c'est son idée.
C'est ce me lâche. Bah, parce que eux ils peuvent pas dire non, sinon le board les tue concrètement. Et ce qui est vraiment hilarant, c'est que ça montre à quel point c'est des giga girouettes, c'est qu'ils ont quand même passé la moitié de la saison. Penser à tout ce qu'ils vont faire avec cette oseille, leur question préférée.
Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette oseille?
Et maintenant, ils sont en mode, on préfère pas avoir d'oseille si c'est pour niquer le gars. Et ça montre à quel point, fondamentalement, ils ont pas de rêve ou d'ambition précise, tu vois. Est-ce que leur rêve, c'est de racheter Pierce? Est-ce que leur rêve, c'est d'être plein de fric? Est-ce que leur rêve, c'est d'être les boss de Etienne? Leur rêve, il change d'un épisode sur l'autre. Et c'est ça qui est terrible, parce que fondamentalement, le seul truc qui les fait kiffer, c'est de gagner. Gagner contre Logan, gagner contre Madson. Mais gagner quoi? Pourquoi faire? Là où Franck et son pote, eux, ils savent ce qu'ils veulent, en fait. C'est le gros paquet de fric et les îles grecques.
C'est la thune.
Et vraiment, et eux, et moi, c'est vraiment un girouettage que j'ai trouvé vraiment, mais d'une stupidité abyssale, tu vois. Et c'est vraiment, et c'est, ça revient sur le truc de succession, c'est qu'ils se tirent dans les pattes d'eux-mêmes. Enfin, c'est vraiment, tu sais, c'est le même du mec qui m'a bâton dans son vélo.
Et qui
fait oh non, et c'est vraiment cette scène, c'est
un
ça
un peu mélangé au même de l'émission Eric André où il tire sur quelqu'un et après
il fait
qui a fait ça.
C'est vraiment ça, et en plus ils savent qu'ils font une connerie parce que Roman il est là genre ouais, on devrait pas demander à Shiv et tout, tu sais, genre est-ce qu'on devrait demander à l'adulte référence qu'elle en pense, et l'autre genre non on va pas demander à quelqu'un qui réfléchisse qu'il en pense parce que elle va être capable de pas être d'accord, tu vois. En fait ils savent qu'ils font une connerie comme deux gros gamins.
Et ils savent que ça se tient pas, et en plus alors il y a le premier truc que Madson leur dira quand il a dit je préférais traiter avec votre père, c'est lui il savait ce qu'il voulait. C'est vraiment le premier truc quoi. Il savait ce qu'il voulait parce que bah vous êtes des girouettes. Et le deuxième truc c'est Roman fait une vanne dessus à un moment dans la forêt. Il dit si on tue un bon deal dans la forêt, est-ce que c'est une SEC violation? En fait c'est littéralement illégal. Ils ont pas le droit de pas accepter un bon deal parce que dans le capitalisme, la loi, elle dit pas que tu fais ce que tu veux avec la boîte dont t'es le PDG. Elle dit qu'à partir du moment où t'es coté en bourse, tu es obligé de faire ce qui va faire gagner de l'argent aux actionnaires, ce qui va faire grossir la valeur de la boîte. Et t'as pas le droit de dire non, quoi.
Et pour en revenir à Elon Musk et aux 420 de Twitter, c'est que Musk, quand il a fait une offre pour Twitter, la valeur de Twitter a baissé parce qu'il y a eu un crash boursier, toutes les valeurs tech. Et du coup, Twitter valait un quart de moins que ce que Elon était prêt à payer pour l'acheter. Mais le problème, c'est que quand il avait signé le contrat, il était obligé de le payer à ce prix-là. Et
oui.
Et du coup, il a voulu sortir du deal. Il a voulu sortir du deal et ça a fini en procès. Il y a littéralement eu la SEC, la commission des finances, qui a dit à Elon Musk, bah non, t'as signé mon gars, tu peux pas sortir du deal, il faut que tu payes ce que t'as dit que t'allais payer.
Et oui, qui l'a cru? Quand on signe un contrat, on doit payer ce qui a marqué dessus, voilà. C'est fou.
Et du coup, oui, ils en sont là, en fait. Ils peuvent, et c'est aussi pour ça qu'ils ont besoin que ce soit Madson qui kill le deal, parce que comme ça, ce sera pas leur faute. Et...
Oui, ça peut pas être eux. Et ils envoient Greg faire des petites rumeurs. Ils disent à Greg, OK, faut que tu fasses traîner que ce rendez-vous entre Waystar et la boîte de Madson, Gojo, ça se passe pas très bien, que culturellement, il y a des clashs, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, pour semer un petit peu l'idée que, bon, peut-être cette acquisition...
C'est une mauvaise idée.
Voilà, n'est pas pertinente. Si jamais ça revient aux oreilles du board et tout, c'est pas plus mal. On verra.
Vraiment une strat de merde en plus, tu vois. C'est
une
vraiment...
strat d'année 1 d'école de commerce. En plus, à l'épisode dernier, Kendall il a dit à Hugo, tu fais des infos sur papa, mais tu laisses pas de traces de doigts, enfin tu laisses pas d'empreintes et tout machin, download et tout. début de cet épisode, Chim, elle est là. Bon, les gars, il se passe quoi avec les articles papa? Je suis là, bah, ça marche pas. Vraiment, vous êtes nuls, quoi. Et pendant ce temps, Madson décide de s'ouvrir à Shiv d'une petite problématique qu'il a actuellement dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle, et sur laquelle je pense qu'il a besoin de l'avis, certes, d'une communicante, mais avant tout
d'une femme.
What the fuck, Mathias? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme à sa directrice de communication?
Alors cet homme visiblement a entretenu une relation avec cette directrice de communication.
Ce qui est déjà plutôt nono.
Ouais, c'est pas terrible. On est un peu nozo bin job ici.
Je pense qu'à ces niveaux de thunes et de responsabilité, il vaut mieux être dans un pays qui, j'ai l'impression, met en avant l'égalité sexuelle et l'égalité
travail.
Des genres dans le travail. Je serais là, je l'aurais pas tenté perso.
Et visiblement, pendant et après leur relation, Madson lui envoie des 2 000 litres de sang congelé, de son propre sang. Au début, c'était une vanne. Après, c'était plus une vanne, mais c'est redevenu une vanne.
Et maintenant, c'est vraiment plus une vanne. C'est un truc. Il y a eu des allers-retours, quoi.
Voilà. Et du coup, c'est une anecdote qui est... je suis assez d'accord avec le chat, parce qu'à un moment, je me suis demandé si c'était un vrai truc. Genre, est-ce que c'est une vraie anecdote?
Oui, j'allais te demander. J'ai vu un quart de... C'est faux. Il lui raconte du bullshit pour voir si elle va le raconter derrière. Et elle le raconte pas, donc elle passe le test. Et 3/4 de... Vraiment, les milliardaires et les hommes sont fucked up, donc... I guess,
en fait,
ça se tient, en fait.
En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que ça pourrait être vrai. Genre...
c'est que le fait qu'on doute, et s'il y a un doute, il n'y a pas de doute.
Oh! Ça, c'est une phrase Facebook, ça.
Ah,
c'est une phrase en comics sur MS avec un...
Ah, moi, c'est une phrase qu'on m'a apprise en management, en recrutement. En fait, si t'es pas sûr que c'est la bonne personne, après plusieurs entretiens et tout, c'est
ah oui, ça,
genre,
je suis d'accord.
Si t'as un truc qui te chatouille, c'est que c'est probablement pas la bonne personne. Et marche aussi en couple, parfois, enfin pour tout ce qui est relations sentimentales, mais aussi pour est-ce que cet homme a, oui ou non, congelé des briques de son sang pour les envoyer à son amante, qui est aussi sa directrice des communications.
Je fais
un sondage dans le chat, vous nous direz ce que vous en pensez, est-ce que c'est vrai ou pas.
Est-ce que c'est une rêve à troublotte? Très bonne vanne.
Est-ce que c'est une rêve à troublotte ou quand même ça boit du sens? Moi je n'ai pas été dans la troublotte family, mais je sais qu'il jouait un vampire.
Oui,
dedans,
moi j'ai regardé un ou deux épisodes, mais j'ai trouvé ça plastiquement extrêmement laid comme série.
C'est vrai.
Peut-être qu'ils auraient dû shooter
après,
en pellicule.
Après tu regardes Riverdale quand même. Hein.
Attention à toi.
Désolé, Riverdale c'est pas shooté à la pellicule tungsten Kodak à mon avis.
Non, je suis d'accord. Par contre, Euphoria. Non, par contre, un truc qui est intéressant, c'est quand même ce sous-entendu, parce que la directrice de communication, à un moment, elle en parle, elle dit « si jamais je suis virée, soit je fais un livre, soit il faudra me payer pour chaque anecdote. »
Oui.
Pour qu'elle soit pas dans le livre.
Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la phrase qu'elle prononce après que Madson l'ait appelé un « estrogen air freshener », donc en gros, c'est un diffuseur d'ambiance d'ostrogène, quoi. Et il dit, on la garde autour pour pas avoir de procès. Et c'est là où elle répond, oui, le jour où il me vire, soit je fais un livre, soit il me paye très cher. Et t'es là, ah, c'est drôle. Et en même temps, c'est probablement pas que drôle, parce que c'est un monde patriarcal. Mais quand t'apprends, genre, si on avait dû faire, ok, on arrête l'épisode là et tout le monde parie sur ce qu'il a fait pour avoir un procès, enfin, pour qu'elle le mette dans un livre, est-ce que t'avais... Il lui a envoyé des briques de son sang.
Non, alors sur mon bingo, je l'avais pas. Par contre, un truc avec lequel je suis d'accord sur les certains caps que j'ai vus, c'est que c'est un personnage qui va devenir important, cette meuf. Je pense qu'on va la revoir.
Ah. Eh bien, j'aimerais bien parce qu'elle m'intrigue de fou.
Ouais, je pense qu'on va la revoir.
En même temps, je suis là. Bon, d'un côté, il reste 7, 8, 9, 10, 5 épisodes.
Il reste 5 épisodes. Ouais, mais les épisodes, ils font 1 heure, il se passe des bails et tout.
C'est vrai que c'est 5. C'est 2 films finalement.
Moi, je pense que cette meuf, on va la revoir et qu'il va y avoir des bails. Après, le sang passant, je pense que c'est plus l'ambiance, c'est pour montrer que Madson, c'est un zinzin. Parce qu'en fait, soit il a vraiment fait et il est cinglé, soit il invente et il est cinglé. Mais du coup, dans les deux cas, la zinzina est présente.
Mais s'il invente, il est moins cinglé quand même. Parce que
je sais pas,
pour
inventer un truc pareil.
C'est un genre de tactique business pour voir si Shiv, elle va le raconter aux frères ou pas. T'inventes un truc tellement gros.
Écoute.
Et tu joues sur le truc de les mecs qui font des dingues et tout. Mais moi, en fait, je me suis jamais dit il invente. Tu vois.
Tu veux que je te raconte une dingue ce que j'ai fait
Est-ce qu'on peut faire un live qui s'appelle juste les anecdotes de Mathias un jour où c'est toi qui raconte des bails? Mais oui, bien sûr.
Alors moi, j'ai fait un peu une Madson, mais soft. Qui est que je fréquentais une nana et clairement ça se passait pas giga bien et j'avais peur qu'on se revoie pas.
Et jusqu'ici ça va.
Et en fait il y a un de mes t-shirts qu'elle aimait bien, ce qu'elle trouvait stylé.
Ok, ça va. Attends, on va voir.
Et du coup un jour ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chez elle et j'ai mis mon t-shirt dans sa boîte aux lettres.
Ok.
En partant du principe comme ça elle serait obligée de me le rendre. Et on s'est jamais revu.
Attends,
c'est pas ça la chute.
Ah bon?
J'ai racheté le t-shirt parce que je l'aimais trop.
Tu lui as juste donné ton t-shirt et après tu as racheté le t-shirt.
Donc tu vois, il y a une meuf qui a peut-être...
Et tu es un homme fidèle en fringues comme en amour, écoute. Ça, c'est beau.
Ça, c'est beau. Mais du coup, tu vois, Matza, il envoie du sang, moi, j'envoie des t-shirts au final.
Ok, est-ce qu'à un moment, l'idée a traversé ton cerveau de... Imagine, on se croise et on le porte en même temps.
Non.
Okay. Moi, oui, ce qui veut dire que je suis aussi un gros canard. Donc finalement, je peux pas vraiment te juger. Et oui, Mr. Malik rappelle, Angelina Jolie portait une fiole du sang de Billy Bob Thornton.
Oh, c'est vrai,
j'ai eu su ça. C'est vrai, ou en tout cas, c'est ce que c'était l'explication officielle de l'époque. En vrai, je pense que c'est vrai. En tout cas, c'est ce qu'il disait. C'est que quand Angelina Jolie était mariée dans les années 90, je pense, à l'acteur Billy Bob Thornton, où ils étaient tous les deux assez jeunes et assez punk. Je pense que maintenant, on a peut-être l'image d'Angelina Jolie très ambassadrice de l'égalité, des droits humains, mère d'une famille nombreuse et tout. Billy Bob Thornton, il est plus âgé maintenant, mais en vrai, c'était un peu les punks d'Hollywood parmi d'autres. Et effectivement, je crois que c'était mutuel. Hein, ils portaient chacun une petite fiole officiellement rempli du sang de l'autre autour du cou, mais c'était pas un demi-litre. Un demi-litre, ça veut dire que le gars, il s'est posé, il a joué à Fortnite avec des trucs de prise de sang.
Rappelons qu'on
bras.
A 5 litres de sang en
un
moyenne.
Un demi-litre, ça fait un dixième de son sang personnel. Et alors, dans un des podcasts que j'écoute, je crois que c'est David Chen dans Decoding TV qui a dit « Je peux pas m'empêcher de penser que le seul truc qui justifie de le mettre en forme de brique, c'est de le lancer à travers sa fenêtre. » Et du coup, il est là. Je suis partie du principe que non seulement il a fait tout ça,
mais il l'a jeté par la fenêtre.
Il l'a jeté à travers sa fenêtre et qui s'est dit, ça, je vais pas le dire à Chiffre quand même, c'est chaud. Et là encore, je suis en mode.
Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Le head canon est ok.
Ouais, on y croit. Un demi-litre, c'est un don du sang complet. Voilà. Bah, je pense qu'il a très peu donné son sang aux gens qui en ont besoin et plus à sa dire comme.
Mais du coup, est-ce qu'il
besoin.
A pris un brunch après avoir donné son sang?
J'espère qu'il a pris du saumon et tout pour bien se supplanter parce que cette fois-ci, il mérite. Le chat a voté en majorité pour les auditeurs et auditrices du podcast pour oui, c'est vrai, le sang, il est vraiment zinziflex. Écoutez, moi, c'est aussi mon hypothèse. Est-ce que, pendant cette conversation, déjà, qu'est-ce que t'as pensé de Shiv est-ce que tu penses qu'elle prend de la cocaïne et ou qu'elle boit du whisky? Parce que ça a fait débat parce que Madson fait les deux, lui propose les deux. Et ça a fait débat parce que, rappelons-le, elle est officiellement enceinte de plusieurs mois. Donc, on n'est pas censé faire cocaïne et whisky quand on est enceinte de 3 mois.
Alors, pour moi, elle fait semblant de partake pendant l'épisode. Genre, en fait, elle prend le verre d'alcool, mais elle ne le boit pas. Elle s'approche de la coke et lui dit « Ah, t'en as mis beaucoup quand même !» Puis elle n'en prend pas. En gros, Shiv, pour moi, elle passe toute la scène à faire semblant d'être son pote. Et pareil, son histoire de sang, là, elle fait semblant de trouver ça normal. Parce qu'en fait, si dans n'importe quel autre contexte, elle dirait « Mais t'es cinglé, mon gars !»
Et alors, en faisant mon récap rigolo, qui du coup me demande de passer l'épisode et de prendre des captures de tête parlante, elle fait des gueules. Elle est vraiment, quand il lui dit elle fait vraiment une tête genre « Oh, waouh !» Oh waouh, c'est encore plus dingo que ce que je pensais.
Et du coup, pendant cette scène, Madson lui dit « Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce deal se fasse ?» Qui au final revient sur ma théorie de « Madson, ça le casse les couilles, il veut que ce soit fait ce truc. »
Et c'est ce qu'il avait dit à Kendall en visio, avant que Logan meure. C'est en fait « Allez pas contre ce deal, parce que moi je vais juste me barrer au bout d'un moment. Enfin, »
Faisons-le. Et du coup, elle dit « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et oui, le champ, on en parlera. Elle lui dit, donne un chiffre plus haut.
Oui.
Donc en gros, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tout le long, en fait, Ken et Roman, ils pensent que c'est eux qui font le deal avec Madson, et au final, c'est Shiv qui fait le deal avec lui.
En lui disant tout simplement, donne plus d'argent.
Voilà.
Ce qui est, tu vois, genre, bravo les débiles, vous avez dit le plus gros chiffre. Bah ouais, Logan, c'est littéralement comme ça que ça marche le capitalisme au bout d'un moment, quoi. C'est, dis le plus gros chiffre et ils vont dire ok pour te vendre.
Et ouais, c'est la scène qui montre que pour le coup, Shiv, elle a compris Madson, qui est un mec qui veut juste qu'on l'écoute, qu'on lui dise les termes sujet-verbe-complément, tu vois, mets plus de fric, mec, ok. Et c'est ce qu'il fait derrière et roule ma poule, tu vois. Et au final, c'est Shiv qui a fait le deal, alors qu'elle n'était pas dans la conversation.
Je suis d'accord. Je suis aussi d'accord avec toi de, pour moi, elle ne prend pas de la cocaïne du tout. Elle touille le petit truc, le petit flacon, mais c'est tout. Et alors moi, je pense pas qu'elle boit du whisky. Je pense qu'elle trempe ses lèvres, mais qu'elle boit pas de whisky. Après, sur le chat, vous êtes en train de dire « Mais si, c'est sûr, on la voit boire du whisky à la fin. » Donc, vous savez quoi? Je vais faire un truc. C'est que je vais faire ce truc de personne chiante. C'est que je vais vérifier en direct, mais pas vous le montrer parce que je vais pas vous diffuser Succession sur Twitch. Après, je vais me faire bannir. Mais je vais revenir rapidement à la scène Et est-ce qu'elle boit du whisky? On va faire ça, on va faire du fact-checking, ok? Donc on y est.
Je suis juge de touche.
Hop.
Elle a le verre en main.
Le niveau.
Attends. Oui.
Là, elle trempe.
Non, elle fait semblant.
Là, ça trempe
elle
ses
fait
lèvres.
Semblant. En fait,
mais les
un...
gens, ils disent à la fin. Mais en fait, on voit pas la fin de cette scène. On la voit pas partir. Donc on va voir. On avance. Là, il lui dit le sang et tout. Elle est en mode maybe arrête de donner ton sang aux gens. Conseil numéro 1.
Ouais. Là, ouais, il okay. y a un moment où. En fait, à chaque
non,
fois.
On
à
la
chaque...
voit lever le verre.
En fait, elle lève le verre.
Et elle le repose.
Elle le repose et t'as jamais le plan où tu la vois boire. Je pense que c'est filmé exprès.
En doute. Mais en tout cas, on la voit reposer un verre où il y a encore du whisky dedans. Donc,
mais dans l'avion retour, oui, on y arrivera.
Il y a une gorgée de champagne dans l'avion retour, Indeed, on en parlera du coup à la fin. Peut-être qu'elle l'a mérité celle-là. C'est peut-être aussi le moment de rappeler que, quand bien même évidemment, on conseille pas aux personnes enceintes de prendre des substances diverses et variées. C'est pas parce qu'on boit une gorgée de whisky que le gamin il va mourir ou être handicapé à vie. Il y a aussi des formes, alors la cocaïne je sais pas, hein, mais il y a aussi des formes de seuil, etc. De, en fait, parfois une femme enceinte elle peut faire un truc pas bon
une
pour
fois.
La santé, ça va pas, enfin sinon notre espèce peut... serait pas trop
mais elle peut pas faire mille
quoi.
Trucs mille fois.
On peut faire mille fois une gorgée de whisky, mais pas un foetus. Après, okay. C'est trop de gorgées
d'accord.
de whisky. Mais par exemple, une sur mille foetus, c'est dilué ça. Bon, bref. Vous l'avez.
Oh, la fatigue.
Et comme dit French Fry dans le chat, en même temps, la minute où elle refuse un verre d'alcool, elle se fait gueuler sur le fait qu'elle est enceinte. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, dans la scène plus tôt où ils sont en extérieur et il y a la négo avec Madson et les Suédois, elle a une pinte de blanche, de bière blanche
ouais.
à la main et elle la boit jamais, mais elle se balade avec
mais
sa
oui.
pinte parce qu'en fait, tout le monde a une bière, donc elle se coule dans le moule. Et Léa dit, j'ai écouté un podcast, on est ensemble, qui disait que Madson veut que le deal se fasse vite car l'histoire avec Eba, ça pourrait tuer sa réputation, donc il ne pourra plus acheter. Ah oui, c'est possible. Peut-être que
c'est
lui,
possible.
Il a cette épée de Damoclès de... C'est plus marrant maintenant, cette histoire de sang, donc maybe je vais faire ma grosse acquise là tout de suite. Quoi. Alright, le lendemain, bah du coup, Shiv arrive et dit, c'est quoi ces articles bizarres qui disent qu'on passe pas un bon moment ici? Donc Kendall, c'est vraiment... Kendall et Greg sont fait cramer tout de suite.
Mais du coup, Shiv, elle passe l'épisode sur Google News, concrètement.
Oui, et ça lui suffit à gérer le deal. Vraiment, si les autres, ils avaient arrêté de lire leur PDF sur des films nuls et qu'ils avaient juste lu les infos et fait les bonnes déductions, bah peut-être que Roman, il aurait compris aussi que Kendall la lusait à l'envers. Et il y a ce moment... Alors, il y a ce moment chelou entre Tom et Shiv.
J'avoue
Shiv,
que c'est
elle
passé
Tom.
Trop vite.
Tom, il embrouille Shiv. C'est genre... Quoi? Et il lui dit qu'elle a des gros lobes d'oreilles.
Je vais être un truc... c'est des prélimes.
On est d'accord.
Oui.
Non, mais c'est pour pécho de fou.
Oui, c'est des...
Ça les excite.
Et j'avais lu un récap qui disait ça a sauvé leur mariage. Genre les deux insultes, ça a sauvé leur mariage. Et peut-être que ça a sauvé Tom. Tu
ah
vois.
Bah pour le coup ouais, je pense que Tom il, c'est pas un hasard s'il est là à la fin quoi.
Ouais, et il y a un peu ce truc qui est pas mal, c'est que Tom il pour... parce que quand Logan est mort, Tom était dans la terreur d'être viré et machin et tout, et c'est ça que je trouve assez marrant, c'est que même là quand ils sont tous en train de débattre de qui est viré pas viré, il va quand même prendre le temps de roast sa femme, tu vois, en mode
bah c'est sa femme qui vient le roast.
Oui oui, mais il se défend, tu vois, alors qu'il pourrait être genre bu, il est là genre nique toi, tu vois, avec
nique toi avec tes gros lobes d'oreilles,
tes gros lobes.
Des Bernard l'Ermite, et... ouais, des bulots, ouais,
des
de
bulots.
Lobes d'oreilles, là. Maintenant, je pense que je vais complexer des fois sur mes lobes d'oreilles, je serai là. Non, on dirait pas des bulots.
Mais du coup, eux, ils ont vraiment une relation kinky chelou, parce que la semaine dernière, c'était, rappelle-toi, à Paris, quand on s'aimait très fort.
Quand tu allais mal et que je t'ai fait du bien, et elle était là, ça m'intéresse pas. C'est vraiment, vraiment, country light, ça fait longtemps. Et à ton avis... Pourquoi elle a envie de l'embrouiller à ce moment-là? Pourquoi c'est elle qui vient le chercher? Sachant que justement, l'épisode précédent, il a essayé et qu'elle était là.
Bah, peut-être parce que ça lui donne la pêche. Tu sais, il y a des gens comme ça, tu vas les démarrer, t'es content derrière, tu vois. Non, mais.
Tu fais ça des fois.
Non, mais je pense que d'une certaine façon, c'est un truc qui est familier pour elle et qui lui donne bonne mine, tu vois. Genre, je vais pas bien, je vais faire chier l'autre, là, ça va me détendre, tu vois.
Moi, ma théorie Galaxy Brain, c'est que on n'a pas vu la fin de la discussion entre Madson et Shiv. Et on sait pas jusqu'à quand ça a duré. Tom, il est au courant, parce qu'il lui fait une référence au fait qu'elle a passé du temps seule à seule avec Madson tard la nuit. On sait pas le temps que ça a duré. Mais je pense que c'est à ce moment-là que, en fait, pendant cette discussion, Shiv, elle mentionne Carolina et Jerry. Comme quoi, elle pourrait aider Madson à traverser si jamais, c'est-à-dire comme disait le truc de la brique de sang. Donc pour moi, c'est ça qui sauve Carolina et Jerry à la fin. En plus du fait que c'est des meufs et que c'est bien de pas être le mec qui vire des meufs. Et je pense que la scène qu'on voit pas, c'est Shiv qui sauve le job de Tom.
Ouais.
Mais pas comme dans la saison 2 où ils sont sur le bateau et Logan essaye de décider qui va jeter en pâture pour le scandale des croisières et il décide que c'est Logan, que c'est Kendall, pardon. Là, à ce moment-là, Shiv, elle lui demande, vas-y, sacrifie pas Tom, s'il te plaît. Donc elle sacrifie un peu son frère pour son mari. Et pour moi, là, elle fait pareil, mais pas pour les mêmes raisons. C'est qu'elle fait en sorte que Tom soit gardé par Madson parce que elle veut retrouver du pouvoir sur Tom et que du coup c'est pour ça que le lendemain elle est en mode elle vient l'embrouiller et tout parce qu'elle a retrouvé du pouvoir sur lui et qu'elle est là en fait tu vas savoir à qui tu dois et à la fin dans l'avion pour moi elle lui dit à qui tu dois ton job à maman Shiv, okay. Du coup ça y a pas de souci, on peut reprendre une relation, on peut aller dîner, on peut s'embrouiller, tu m'embrouilles et tout c'est cool parce que on resait on sait de nouveau chacun c'est quoi notre place dans le couple et guess what, c'est jamais toi qui seras au-dessus. Moi, c'est comme ça que je le lis.
Alors, moi, je suis un chamallow et je pense juste qu'elle a des sentiments, peut-être pas, mais elle a de l'affection pour ce type.
Mais ça n'empêche pas, ça dépend.
Et que fondamentalement, elle lui veut pas de mal et que ça lui coûte pas plus cher de lui sauver la peau.
Ok. Tu es plus optimiste.
Voilà, c'est mon
succès sur web.
Oui, mais l'amour à la fin.
Oui, l'amour à la fin. D'accord. Eh bien, nous verrons.
Qui triomphe.
Historiquement, tu sauras que dans ces débriefs, j'étais plutôt pas mal sur mes prédictions, mais nous verrons. Tout est possible.
Est-ce que tu viens de me faire un « d'habitude, j'ai raison »
Un peu.
Waouh.
Non, en vrai, j'avais prédit la veille... Enfin, j'avais prédit dans l'épisode d'avant que Logan, il mourrait, épisode 3, ce qui était pas hyper... Moi-même, j'étais là « oh, fuck !» Mais j'étais quand même
quelle
surprise.
Okay.
Je l'ai quand même pas vu venir, ce qui est beau quand même. J'ai le talent de prédiction, mais aussi de me surprendre moi-même. Et alors, par contre, une théorie que j'avais pas du tout, c'est une interprétation que j'avais pas, c'est Madame Volovitz sur le chat qui dit « Shiv cherche surtout des alliés face à ses frères au board et il lui reste pas grand monde à part Luz et Tom. » C'est vrai que j'avais pas pris en compte le fait que Shiv, elle est toute seule et que autant peut-être que c'est plutôt elle qui est désespérée qui essaye de garder Tom.
Oui, oui. Après, elle sait que si elle sauve Tom, Tom lui en doit une de toute façon et qu'en plus, lui, il est toujours in love d'elle, fondamentalement.
Oui, clairement, oui.
Voilà.
Mais en même temps, c'est une série où l'amour est toujours transactionnel, quoi. Donc, il est in love d'elle et en même temps...
Mais est-ce que l'amour n'est pas transactionnel aussi dans la vraie vie
Moins, je dirais.
Ouais.
Moins, quand même. Je sais pas, dans la tienne. Dans la mienne, j'aime à penser que un peu moins, quand même. Et ensuite, Kendall et Roman remontent sur le téléphérique. Roman reçoit une photo de Connor. Je suis personnellement, je pense, dans la team, n'envoyez pas de photo de votre parent décédé à votre petit frère.
Non, c'est pas terrible.
Qui vous a demandé de ne pas envoyer la photo de votre parent décédé?
Non.
Je ne ferai pas ça personnellement.
Ne faites pas le...
Et je pense que ça va être une réaction assez rapide à cette photo. Je pense que moi, je suis dans la team, s'il ne reçoit pas cette photo dans le téléphérique, Roman, je ne suis pas sûre qu'il craque autant.
Ouais.
Et là, il craque très vite. Est-ce que tu as kiffé cette scène sur le sommet de la montagne avec un homme qui urine et un homme
la zinzinade.
Et la vue. J'aime bien parce que t'es un peu randonneur, t'es là, mais la vue, crêtes, attendez, la luminosité.
Les crêtes, non, mais surtout, c'est l'immensité de ce truc. En fait, c'est assez marrant. On dirait une bataille finale d'un Marvel, fondamentalement, tu vois. Tu sais, il y a que eux dans un terrain vague avec des décors de ouf derrière. Et concrètement, c'est l'affrontement final où ils finissent par se gueuler dessus et à s'insulter en frontal. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se disait pas, en faisant semblant d'être sympa à l'américaine et machin, ils finissent quand même par se dire les termes, tu vois, dans les deux sens. Et pour moi, il y a un côté boss de fin, bataille finale. Enfin, c'est filmé comme une fin de film de super-héros, quoi. Avec le drone qui tourne, machin et tout.
Qui ont eu un peu le truc de... Est-ce qu'il y en a un qui va en pousser un de la montagne? Moi, pas du tout.
Non,
mais
c'est pas...
Il y a des gens qui étaient un peu... Mais pas en mode Agatha Christie, haha, le crime était parfait.
Ouais,
juste,
ouais. Non, non,
ils sont pleins d'émotions, ils sont pleins...
Bah, c'est comme quand les gens étaient là, genre, oh, est-ce que Kendall, il s'est suicidé dans la piscine, il sera pas là l'année prochaine? Frère, oui. Il descend. Ah.
Jon Snow, c'est pas spoiler, mais voilà. Dramaturge Lee, it doesn't make sense. Du coup, c'est bien, ça me rassure qu'on ait tous les deux pas pensé qu'il allait avoir un meurtre, un crime, un homicide plus ou moins volontaire.
Moi, j'aime bien, j'attaque le débat parce que en fait, je reste sur ma théorie de Madson, il est no bullshit. Et du coup, premier truc qu'il leur dit, c'est ok, en fait, vous essayez de tanker le deal.
C'est triste à quel point ils se font cramer.
Il fait, je vous vois faire. ça me casse les couilles. Et vraiment, et c'est ça qui est trop drôle, c'est que tout le long de l'épisode, lui, il veut juste que eux, ils donnent un chiffre, et lui, il va dire oui ou non, et on en finit, et en fait, cette négo, elle aurait pu se finir meeting 1. Oui. Et en fait, et là, le mec, il est en train de snap, tu vois, il dit, en fait, vous êtes des tocards, vous me menez en bateau.
Ça aurait pu être un email.
Ouais, c'est littéralement ça. Le voyage en Norvège aurait pu être un email. Et le gars, il est en train de devenir ouf. Et du coup, il finit par leur crier dessus, qui est un truc qui est genre, mais, arrêtez de casser les couilles, quoi.
Et puis aussi, arrêtez de me prendre pour un con. Genre, je suis pas née de la dernière pluie. Vous êtes en train de faire le truc de base de, vous me faites croire que le produit est pourri pour que je veuille plus l'acheter. En me montrant votre film, alors j'ai vu que l'interprétation c'était un Transformer-like un petit peu, parce qu'il y a une histoire
un truc
de
robot
qui dort, ça dure 3 heures, c'est pas fini, c'est un bordel. Et c'était ça la stratégie de Kendall, c'était on va leur montrer en avant-première notre film pas fini, comme ça ils voudraient plus acheter la boîte. Je suis là, mec, enfin...
Avec deux rumeurs dans
Vanity
Fair, tu vois.
Ouais, avec deux articles random de peut-être que culturellement les gens de droite américains ne fitent pas trop avec les Suédois de gauche, bon... On est pas hyper sûr.
Mais voilà, du coup, non, leur plan, il backfire complètement parce que non seulement ça marche pas, mais ça rend l'autre encore plus énervé.
Et qu'est-ce que t'as pensé du fait que c'est du coup Roman qui finalement, c'est le point d'ancrage et l'apothéose et le moment phare de cette négo? C'est pas Kendall, alors que c'est son premier jour en tant que PDG et qu'il a voulu ça depuis tout Succession et que Succession, ça commence avec Kendall et que cet épisode aussi, c'est Roman. C'est son moment, quoi.
Bah, en fait, on revient à ce qu'on disait tout au début, c'est que Roman, c'est celui qui a les émotions qui débordent et qui est vraiment... En fait, Roman est dans cette situation qu'il n'a pas choisie, puisque c'est pas lui qui a voulu pourrir le deal.
Oui.
Lui, il n'a pas de cheval dans la bataille. Son père est en train de canner. Si ça tenait qu'à lui, il ne serait pas là, en fait. Si ça tenait qu'à lui, il serait...
Avec Connor, en train de
s'occuper
des funérailles.
Il serait avec Connor, machin et tout. Et du coup, le fait que... ça se complique, en fait c'est trop, tu sais il y a des moments où t'es dans la vie où t'es dans des situations de merde que tu dois encaisser parce que c'est la chose à faire et à un moment t'es juste, en fait je pourrais faire autre chose que ça.
Ouais.
Et du coup j'aime bien le fait que ça déborde chez lui parce qu'encore une fois c'est lui qui a un minimum d'émotion là où Kendall il est dans toute cette scène il sert à rien, tu vois, enfin il a pas de, il a genre non mais j'essaye pas de t'arnaquer,
il essaye de bullshit mais ça marche pas bien et après il laisse Roman
voilà et
alors est-ce qu'il le laisse ou est-ce qu'il est juste impuissant en mode,
je pense qu'il est impuissant, je pense qu'il est vraiment en mode fou impuissant et en fait Roman il veut que ça s'arrête, il est là genre enfin t'es un connard, je vous déteste, j'ai pas envie d'être là, enfin c'est vraiment full snap.
Et c'est intéressant qu'ils lui disent, parce que donc Madson s'est ouvert à eux sur le fait que lui aussi il a perdu son père et que c'est lui qui l'a trouvé, qui a trouvé son père mort dans leur voiture. On sait pas trop comment, suicide ou pas, mais bon, il l'a trouvé. Et du coup, pour Roman, c'est une raison de plus d'être en colère, c'est qu'il est là. Mais du coup, connard, tu devrais savoir qu'en fait, le lendemain de la mort de ton père, le dernier truc que t'as envie de faire, c'est un fucking business deal en Norvège, tu vois. Genre, t'aurais dû nous donner cette compassion et comme tu dis, ça renvoie au fait que ils avaient un peu un bon rapport. Alors, amitié, je sais pas, mais il y a un truc un peu de... Mec, t'es vraiment pas à la hauteur de ce que je pensais de toi, quoi.
Je trouve que c'est d'autant plus drôle que ce soit Roman qui ressente ça, parce que Roman, c'est lui le plus vicieux et cruel dans les saisons précédentes. Et là, il est face à un mec qui est vicieux et cruel envers lui.
Et qui se comporte comme son père l'aurait fait. Logan, il aurait 100% obligé le mec qui veut racheter à venir le lendemain de la mort de son daron pour l'acheter moins cher, tu vois, c'est sûr de sûr.
Ouais,
qu'il
c'est sûr.
Pris cette
et en même temps, Madson, il a à dire, ouais, vous êtes pas des bons Logan Roy, quoi. Je préférais négocier avec le daron, au moins c'était plus clair. Et en même temps aussi, Logan, il aurait pas tortillé du cul pendant 2 jours à pas leur donner de chiffres.
C'est vrai. Et il aurait probablement eu une option en tête pour si jamais ils disent, on veut aussi ITN, du coup, finalement, parce que vos actions, votre cours en bourse se casse la
c'est
gueule,
ça.
Quoi.
Et on en revient au fait que Kendall n'a pas de conviction dans ce deal autre que gagner pour gagner. Et au final, c'est Madson qui gagne parce qu'il dit, on termine la scène, mais il dit, voilà, le chiffre, c'est ça. Et c'est littéralement, c'est le parrain, c'est une offre que tu ne peux pas refuser.
Oui, parce que du coup, Madson, est-ce que quand Madson a dit, en gros, vous êtes tellement baisé, enfin, genre, c'est bon, je vous ai, tu vois, parce que Roman, il dit quand même, si jamais tu racontes que je t'ai dit ça, je dirais que c'était une tactique de négociation pour cette idée de, il n'a pas le droit, normalement, de trouver un bon deal. Et là, Madson, il leur dit, je vous ai tellement baisé. Est-ce que tu t'es dit, il annule l'achat? Ou est-ce que tu t'es dit, il va passer par le board parce qu'il les menace de dire ça?
Il dit, en fait,
au pire, j'appelle les vieux, vraiment, là, qui traînent avec vous et qui sont là, et le conseil d'administration, et je vais leur faire la vente parce que vous avez pas le choix, quoi.
En fait, il les a baisés dans la mesure où, dans une négo, t'es pas censé dire ce que tu veux vraiment avant que le truc soit signé. En fait, il les a baisés dans la mesure où, en fait, il les a forcés à dévoiler leurs mains et ce qu'ils voulaient vraiment.
Oui. Oui, parce que Roman, il dit, on te vendra jamais la boîte. Et jamais ça barre.
C'est que quand tu, dans une négo, quand tu sais exactement ce que l'autre y pense et ce que l'autre y veut, c'est toi qui as gagné parce qu'après, tu décides ce que tu as envie de faire par rapport à ça.
Oui, au moins, tu sais ce sur quoi tu t'alignes et t'es au courant de tous les enjeux, quoi.
Tu vois, moi, je suis dans une négo pour le taf depuis des mois parce qu'on sait pas jusqu'où on peut descendre ou monter et qu'on est terrifié de savoir... de savoir ça, et inversement, eux, ils aimeraient bien savoir les chiffres, et le jour où, je sais pas, la personne en face, elle snap, elle me dit, moi, de façon, tant que tu mets minimum ça, je vais dire oui, let's fucking go, on sait, en fait. Et donc, du coup, là, concrètement, Roman lui donne les deals, les termes du deal. Les termes du deal, oui. C'est, on veut pas faire le truc avec toi, on est contre toi, le mec dit, bah, en fait, c'est simple, je vais donner un chiffre plus gros au board, vous êtes niqués, allez, bye, c'est, au revoir.
Et c'est exactement ce qui finit par se passer, puisque dans l'avion du retour, du coup, Madsen appelle Frank directement pour lui dire c'est 182 dollars l'action au lieu de 144 qui était le chiffre minimum. Et il a Etienne avec quand même, et ou 192 je crois même, et tout le monde est ravi et applaudit Kendall et Roman d'avoir si bien mené cette négociation. Voilà. Bravo, le board est ravi.
On est super riches, les îles grecques.
Blindés, champagne sur les ins pour tout le monde, ça part.
Même pour les meufs enceintes.
Même pour les meufs enceintes, même pour Carl. Carl a du champagne sur les ins.
Carl est enceinte.
On a vu des choses plus surprenantes dans la vie, mais je plains cet enfant si c'est le cas. Je suis pas sûre de son état. C'est la fête. Mais Kendall et Roman, du coup, ils sont pas très bons en poker face en faisant semblant d'être contents. Hein.
Le seum est présent.
Ouh, ils ont vraiment une gueule, je suis là, mais je sais pas, ben, vous êtes genre même légalement, est-ce que vous n'êtes pas semblé censé faire un petit peu semblant d'être ravi d'être milliardaire, mais.
Mais en fait, c'est ça qui est ouf et ça revient sur un peu sur tous les thèmes de la série, c'est que fondamentalement, ces deux personnes là qui viennent de gagner, parce qu'ils ont gagné le fric. Ils ont gagné la négo qu'ils étaient venus gagner, qui était si on a plus de 144, on est bon. En fait, concrètement, par rapport aux paramètres qui s'étaient mis au début, ils ont gagné. Mais comme ils ont perdu ce qu'ils ont changé d'avis, pour eux, c'est perdu. Il y a vraiment ce truc de, c'est terrible. C'était leur ego qui était en bataille et leur ego, il s'est fait piétiner. Et donc, du coup, ils ont losé. Et ils sont pas capables d'avoir le recul qu'ont les autres, de se dire, c'est un bon deal.
Oui, c'est un bon deal. Et aussi, genre, on est libre potentiellement de cette boîte et on peut faire tout ce qu'on veut avec notre argent. Mais ils savent pas quoi faire et ils savent pas quoi faire d'eux-mêmes si c'est pas faire ce que leur père avait décidé pour eux tout en leur privant d'y accéder comme ça. Ils les gardaient bien sur une laisse courte.
Quand ils voulaient faire une nouvelle start-up, c'était aussi pour faire chier leur père. Mais comme il n'y a plus le daron à faire chier, qu'est-ce que tu fais ?
Oui, c'est genre, déjà le chien, quand il court après la voiture, il sait pas quoi faire s'il l'attrape, mais quand il n'y a plus de voiture, c'est vraiment... Oh non !
Bah ouais.
Oh non ! Et aussi, bah, je pense que c'est compliqué pour des mecs à qui on a toujours tout donné de se rendre compte que bah, même quand ils sont PDG de Waystar Royco, c'est pas eux qui décident. Leur père, il décidait pas juste parce qu'il était PDG. Il décidait parce qu'il avait le charisme, l'expérience en égo, la brutalité aussi d'arriver à ce qu'il voulait et de toute évidence, eux, ils l'ont pas.
Et des convictions sur ce qu'il voulait aussi, son père.
Oui, aussi, il avait quand même des idées, quoi, une vision, finalement. Mm-hmm. Merci beaucoup, Elysia, pour le sub. Merci infiniment. Et je trouve que un des aspects intéressants, quand tu dis ils ont gagné, ils s'en rendent pas compte. Alors, on va parler de à quel point c'est Shiv qui gagne cet épisode, comme on l'a dit, puisque l'épisode se finit avec elle. Mais un truc que j'ai percuté au deuxième visionnage, c'est que au karaoké, Logan, il dit, écoutez, si on pousse Madsen pour lui vendre plus cher, il va sortir du deal, je le connais, je le sais. Et on a vu que Madsen a appelé Kendall pour lui dire exactement ça. Il lui dit, si vous renégociez, je me casse. Et Shiv, elle dit à Logan, en fait, tu sais pas. Tu crois des trucs et toute ta vie tu dis je le crois donc c'est vrai, et comme les gens ils font ce que tu dis, t'as jamais trop l'occasion de vérifier, mais peut-être c'est pas vrai, peut-être on va challenger le prix et le mec il va pas genre dire non au deal. Tu peux pas juste dire j'ai décidé que c'est vrai donc c'est vrai, et en fait elle avait raison. Et tout le monde était là, mais je sais pas, il connaît rien au business, naninana et tout, et en fait elle avait raison littéralement. Alors certes, entre temps il y a eu la mort de Logan et une chute de l'action, mais en fait on sait pas. Ils ont été renégo le deal et ils sont partis en ayant vendu plus cher que prévu, et du coup Logan il avait tort, tu vois, genre à la fin. Au niveau business, là-dessus, she was right. Maybe. On va voir. On va voir si elle s'est fait avoir ou pas dans l'épisode. On est épisode 5, donc je pense pas que Shiv, elle va rester au top.
Mais personne peut rester au top dans cette série. Voilà. Il y aura personne au top à la fin.
Faut prendre les wins quand ils arrivent, parce qu'on sait qu'ils sont un peu éphémères. Qu'est-ce que t'en penses de cette scène de Madsen qui appelle Shiv et qui lui demande de lui envoyer une photo de ses frères et elle qui le fait? C'est les deux, quand même. Il a l'audace de l'appeler et lui demander. Et la go, elle le fait, quoi.
Bah, moi, je trouve ça drôle parce que... Moi, à sa place, je l'aurais fait. D'une, parce que ça lui permet de continuer à construire sa connivence avec Madson. Madson qui va avoir besoin de gens pour staffer sa boîte. Oui. Potentiellement, elle a envie d'un job là-dedans. Ensuite, elle est quand même contente d'avoir niqué ses frères.
Oui.
Elle le sait.
Parce qu'ils l'ont bien, Ken.
Voilà.
Et la veille, ils ont dit on va pas de Ken.
Ben ouais.
Sur la tombe de papa, on va pas de Ken.
Et vraiment, vraiment, moi, je l'aurais fait. Moi, moi, je l'aurais fait. Et en vrai, c'est drôle.
La photo, j'espère qu'ils vont sortir cette photo. J'espère qu'elle sera sur le compte Twitter de Succession, genre la semaine pro. Parce que je pense qu'elle est extrêmement quali. Je suis assez curieuse de cette relation Shiv-Madson. Ça parle dans le chat. Est-ce qu'ils vont coucher ensemble? Moi, je pense pas, j'espère pas.
Je pense pas. Après, le truc,
je pense qu'elle est trop maligne pour ça aussi.
Et je pense que Madson, c'est quelqu'un qui a pas d'amis et pas de loyauté, encore moins auprès d'Américains. Et donc, en fait, full Shiv, il faut qu'elle se casse assez vite une fois qu'elle a.
Oui, c'est genre, t'as eu un win.
Ouais, c'est ça.
Maintenant, compte tes jetons et sors voilà, de
après, on a quand même statué que c'est pas son point fort.
Non, ni la patience, ni savoir à quel moment...
On va s'arrêter.
Bah là, on a gagné. Ouais. Bah, donc, arrêtez de jouer. Je pense qu'il faut pas aller au casino avec les enfants Roy, tu risques de claquer. Beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a le monstre du balcon dans le chat qui dit c'est parce qu'elle avait les lunettes de soleil en rapport avec la théorie selon laquelle la personne qui a les plus grosses lunettes de soleil dans l'épisode, c'est celle qui gagne. Et dans l'épisode précédent, c'était Kendall. Et là, c'est Shiv qui a les grosses lunettes de soleil.
Et ben peut-être que c'est un vrai truc. Peut-être que
peut-être.
Tu sais pas. Et
mais
qu'elle a fait un
choc. C'est comme mon truc de ils sont habillés en marron, tu vois, je suis là.
Bah ouais, ouais, ok. J'accepte cette théorie. Semaine prochaine, je vais regarder les lunettes.
Surveiller les lunettes de soleil dans tous les épisodes de Succession. Et il y a ce moment Shiv Tom. Où, dans l'avion, elle lui dit à la fois « T'as encore ton job, tu vas pouvoir virer ta... » Genre, ta boss, elle va être virée, et si tu veux, tu peux le faire. Ce qui est, en termes de préliminaire,
ah ouais,
tu peux
là,
virer
c'est
ta
vraiment...
boss toxique, je suis là. Alors, moi, j'appelle ça une demande de mariage.
Le hard-on est réel, là, il y a vraiment...
Ouais, ouais. Et qui lui propose innocemment d'aller dîner. Et il a pas le temps de à Tom, il a pas le temps de répondre parce que Madson appelle Shiv. Déjà... Qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que tu penses qu'elle va dire oui? Enfin, qui va dire oui et qui va aller dîner avec elle?
Ah oui, bah lui, il est en mode reconquête depuis plusieurs épisodes. Moi, je sens quand même son react.
Reconquête au... Eric Zemmour ou reconquête?
Non, reconquête amoureuse. Ouais, ici, il y a que du love, et pas de nazisme.
Alors, pas dans.
C'est ma bio Tinder.
La barre est si basse, il n'y a pas de nazisme. C'est bizarre de le préciser. La plupart des gens.
En 2023, tu sais. Non, moi, je. En vrai, si je suis un peu lucide, ils peuvent pas être heureux tous les deux, c'est pas possible.
Tom et Shiv, ouais.
Tom et Shiv, au mieux, ils peuvent avoir une alliance finale. Le truc, c'est que fondamentalement, Tom, il veut une famille, et donc quand il va savoir pour le bébé, il va vriller, parce qu'en fait, c'est ça qu'il veut. C'était la conversation de l'année dernière, le truc qui est un peu précipité. Les trucs moi je pense qu'ils vont en tout cas essayer de se rabibocher. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je sais pas. Est-ce qu'ils vont être dans un espèce d'accord comme Connor et Willa où ils se disent bah en fait c'est pas ce qu'on aurait voulu l'un l'autre mais c'est pas si pire, je sais pas. Après j'ai quand même, je pense que on est à 5 épisodes de la fin, je pense qu'il y aura pas de grand gagnant mais je pense que tout le monde va pas perdre non plus. Et quelque part, est-ce que là...
Pas Greg, par exemple.
Putain. Et peut-être que là, ce qui se passe entre Shiv et Tom, c'est ce dont ils avaient besoin pour continuer leur mariage. Peut-être que ça fait partie du process.
Ok. Je vais te dire un truc, et je pense qu'une fois qu'on l'a en tête, c'est compliqué de pas l'avoir, surtout quand on est toi, Mathias, ou moi, Mimi. Shiv et Tom, c'est Gone Girl. Et ça va finir pareil que Gone Girl. Et en vrai, c'est ça.
Non.
Et je pense que si, et je pense que cette scène, regardez Gone Girl si vous l'avez pas vu, ou lisez Gone Girl, c'est très bien. Je pense que cette scène, c'est vraiment Gone Girl, parce que je pense qu'elle va lui annoncer quand même, au bout d'un moment, assez vite. Je pense qu'on va voir dans la série que le moment où Shiv annonce à Tom qu'elle est enceinte. Et je pense qu'à la fin, Shiv et Tom sont ensemble, ils vont avoir un enfant, et c'est la pire chose qui puisse arriver à Tom. Et elle, en fait, tout succession, Shiv a un ascendant sur Tom parce qu'elle est plus riche, elle est plus machin et tout, il le sait et elle lui dit.
Je ne veux pas de cette théorie, mais j'accepte cette théorie.
Très bien. Vous l'avez chez vous. On en parlera à la fin du coup de Succession.
Puisque pour moi, Succession, tout le thème de Succession, c'est be careful what you wish for. Mm-hmm. Et du coup, Tom, il veut une famille avec cette meuf et peut-être que c'est peut-être pas ça qu'il aurait dû souhaiter.
Parce qu'il va l'avoir. Et qu'il va être coincé dans cette famille de Maboule. Il va être coincé avec fucking Greg en plus, rappelons-le. S'il divorce de Shiv, il a plus jamais avoir Greg de sa vie. Ce qui devrait être une bonne quand même nouvelle.
Des Greglets.
Oui. Et donc quand même, avant de finir sur le petit sourire de Shiv, qui fait écho au petit sourire de Kendall de l'épisode précédent, et de parler peut-être de tes prédictions pour la suite, on a donc cette scène de qui est viré parmi les gens de Waystar, qui est peut-être moins impactante que ce qu'elle aurait été si on avait vu les diverses compétitions auxquelles ils ont participé pour sauver leur poste. Mais donc, Carl, Frank, Hugo, Ravenhead et l'autre gars qui était à bord on the floor, press F dans le chat, Jerry Carolina, ça va, et Tom, ça va, il reste. Et alors, dans le chat, ça s'interroge, pourquoi est-ce que Franck et Carl ont l'air d'avoir le seum d'être virés, ils allaient prendre leur retraite de toute façon? Et Madame Volovitz répond, je pense que peut-être ils touchent pas le parachute doré et l'argent de la vente.
Non, moi je crois qu'ils sont contents qu'ils soient virés. Ils avaient...
Ouais, alors Carl, il dit, let the good time rolls avec une coupe de champagne. Ouais. Lui, il pense à la Grèce.
Ouais,
il
pense
à son île en grec sans problème. Franck, j'ai pas...
Non, j'ai pas eu l'impression que ça le secouait. De toute façon, il savait, c'était un peu le...
C'est pas la première fois qu'il se fait virer, lol.
Oui.
Ouais, je pense qu'il savait, et je pense pas qu'ils ont pas la thune. Je pense que peut-être, c'est un petit... Bah non, mais pas, c'est négocié à la haute. En fait, ils ont des parts.
Ils ont des parts dans la boîte, donc...
Et les parts, elles valent plus cher.
Oui, en fait, elles sont rachetées de force quand tu fais une OPA.
Donc c'est mathématiquement, ils l'ont, leur parachute.
En fait, ils ont le fric, quoi.
Après... Tu perds le pouvoir. Et c'est là que pour un Hugo, qui est quand même plus jeune que Carl et Franck, pour moi, Hugo, il a la cinquantaine. Et en fait, la cinquantaine dans ce milieu-là, t'as 15 ans de boulot encore devant toi.
Et
donc
Hugo.
Nous, on peut se dire, bah, ça va, il est vieux, il est à la fin de sa carrière. Bah, il a en fait 15 ans devant lui, c'est long, 15
et,
ans.
Et Hugo, qui faisait de l'insider trading la veille.
Le délit d'initié, tout à fait. Hugo, qui aussi a intérêt, effectivement, à ne pas se mettre Kendall à dos et qu'il aille virer, a priori, va sortir, donc c'est compliqué pour lui. Je sais pas si Kendall va le protéger alors qu'il peut plus s'en servir.
Ouais, il s'en fout.
Et bah, Ravenhead et l'autre gars de Born on the Floor, ils sont plus jeunes, ils sont plutôt cadras, trentenaires cadras, donc on peut comprendre qu'ils aient le seum, quoi. Mais ouais, c'est surtout Hugo qui a le seum. Carolina est très contente de lui dire qu'elle reste, parce que c'est lui qui demande. Et au fait, Carolina, et elle le regarde et elle lui fait vraiment « Ok ». Genre « Ok, okay, je te vois demander, tu vois, elle est là, sois pas deg. Moi, je reste. On verra la suite de ces... » J'espère qu'on aura quand même un dernier Carl et Franck moment avant. Bah, il y a les funérailles.
Ouais, il y a les funérailles, ouais.
Carl au funérailles, il va être unhinged, il va bouffer.
Alors, j'avais lu en interview que pour l'épisode des funérailles, ils avaient tourné des scènes avec Brian Cox pour faire croire que c'était pas lui qui était mort.
Ah,
sur le
smart.
Tournage.
Et donc... ça dans Game of Thrones aussi, où ils avaient tourné des fins avec différents acteurs et tout.
Bah, là, il y a des plans où il y a Logan qui a son propre enterrement pour pas qu'il y ait de fuite sur sa mort.
Waouh, imagine, on le voit dans le fond. Reddit, ils vont être là. Il est pas mort, il a fait croire. Mais parce qu'il y a des gens qui étaient là. On n'a pas vu le corps. Non, mais c'est pas.
Oui, c'est le principe qu'on voit pas le corps. C'est parce
c'est
que
pas la bonne série pour
c'est
ça.
Parce que c'est le principe de la mort. Quand les gens ils sont morts, ils sont plus là.
Oui, dans Game of Thrones, ça marche. On n'a pas vu le corps. Dans
Succession,
il n'y a pas de.
Ça marche pas parce qu'il y a, y a des contrats et des.
Et personne ne ressuscite par magie, quoi.
Est-ce que c'est l'heure des pronos ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ?
C'est l'heure des pronos. Qu'est-ce qui se passe, Mathias ? Sachant que moi, je sais même pas c'est quoi. Alors, ce qu'on sait qui va arriver, parce que les persos le disent, c'est les funérailles de Logan et l'élection présidentielle.
Oui.
À part ça, on sait pas. Donc, on a 5 épisodes, 5 jours à passer. On ne sait pas ce qui va se passer dans ces 5 jours, à part ces deux éléments assez importants. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu espères ? Qu'est-ce que tu prédis ?
Alors, moi, ce que j'aime dans cette série, c'est que j'en ai aucune idée.
Yes.
Et c'est que je suis vraiment genre, tout est également possible. Everything is equally possible. On est vraiment, c'est...
Everything, everywhere, all at once.
Ouais, c'est la série de Schrödinger, quoi. Vraiment, je vais découvrir et me délecter de ça. Je pense que l'élection présidentielle va quand même décider de la fin de la storyline de Connor.
Mm-hmm.
Ce qui serait hilarant, c'est que Connor, on lui propose un poste au nouveau gouvernement. Moi, je pense
que ça va être ça.
Je pense que ça va être ça, genre ministre de je sais pas quoi ou un truc, et qui va être genre trop content et qui va avoir
Les gens, ils disent peut-être même vice-président, hein. Mais après, on a quelques jours de l'élection. Je pense que le vice-président est déjà sur le bulletin.
Il est sur le ticket, ouais. Donc, du coup, ouais, pour Connor, je m'inquiète pas trop. Je pense qu'il aura une fin un peu ironique, tu vois.
La happy end peut-être la plus. À peu près happy qu'on peut imaginer pour un enfant Roy, quoi.
Ouais, Greg, il s'en sort d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Là, ce qui va être intéressant, en fait, c'est que deviennent Kendall et Roman, parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils voulaient monter une start-up, mais ils ne le font pas. Ils ont vendu leur boîte dont ils vont se faire virer, concrètement.
Entre-temps, ils ont aussi acheté une boîte de 10 milliards qui vont. Bah, ils vont avoir les sous. Est-ce qu'ils vont acheter Pierce ?
Est-ce qu'ils vont acheter Pierce et essayer de monter Pierce ?
Mais il y a Naomi, peut-être, qui.
Ouais.
Peut-être que ce sera l'occasion de la revoir.
Et Shiv, elle va forcément se prendre les pieds dans un truc à un moment. Parce qu'elle peut pas win 5 épisodes de suite.
Que Tom, ça va être lui qui... Souviens-toi à Nero Esporus. Est-ce que Tom va à nouveau être l'architecte de la fin de Shiv, ou est-ce qu'elle va s'en mêler les pieds dans les marches elle-même comme elle l'a super
fait
dans l'épisode
précédent. Moi, un truc que je serais curieux, c'est est-ce que Greg va planter Tom à la fin?
Parce que c'est sûr.
Parce que c'est un truc qui est quand même, ça couve, tu vois.
Ah ouais, ouais, ouais.
C'est, est-ce que Greg, il va se venger de Tom une fois pour toutes, ou est-ce que à l'inverse, Greg va sauver Tom?
Moi, je pense qu'il va le tuer. Enfin, il va le tuer métaphoriquement, bien sûr. Parce que je pense que c'est le plus intéressant. Parce que je pense que Greg, c'est un connard.
Oui, je pense que Greg, c'est un connard.
Qu'il y a aussi un truc de limite de victoire, parce que Tom l'a beaucoup maltraité. Et tu vois, genre dans cet épisode, ouais, ouais. Tom, il lui dit encore « Je te fais signe si j'ai besoin de quelqu'un à jeter sous le bus et tout. » Et je pense que Greg, il commençait à dire « Hé,
oui, oui, attention. Et puis potentiellement, l'histoire des cruises, ça va retomber sur... L'histoire des croisières, ça va retomber tout sur fait. Tom à la toute fin. Enfin, c'est les croisières de Tchekhov, quoi. Elles sont sur le mur depuis 4 saisons.
Normalement, c'est réglé parce que la boîte a payé une grosse amende au départ.
Ouais, mais Tom a quand même demandé à Greg de supprimer des trucs, tu vois.
Voilà, personne n'a été en prison parce qu'on n'a pas pu prouver qui était au courant de quoi. Donc, si jamais on peut prouver, c'est autre chose.
Et 5 épisodes, il peut encore se passer vraiment beaucoup de trucs.
Tu penses que Marshall va faire des... Est-ce que tu penses que la mort du serveur au mariage de Chauvin va revenir?
Je pense pas. En fait, je pense que c'est plus très intéressant maintenant. C'est un peu ma tech sur ça. C'est que c'était intéressant dans sa relation avec Logan et le fait qu'il le tenait par les couilles par rapport à ça et qu'il disait en même temps « t'es une merde parce que j'ai nettoyé ton bordel ». Si t'avais été un vrai bonhomme, t'aurais tué quelqu'un et t'aurais réglé le problème tout seul, tu vois.
Oui, et d'un autre côté, t'arrêtes pas de dire que t'es un mec bien. Souviens-toi que c'est toi qui as tué un petit... Il arrête pas de l'appeler le kid et tout, tu vois, le gamin et tout. C'est... il appuie bien,
mais,
quoi.
Mais pour moi, sa storyline, elle est un peu finie.
Elle s'est finie quand Kendall il l'a dit en fait à son frère et sa
sœur. Ouais, c'est ça. Et puis
c'est ça qui comptait, c'est ils comprennent pas ce qui se passe dans ta vie. Et maintenant tu leur as dit et leur réaction ça a été c'est pas très grave. C'est ce fameux truc de c'est pas une vraie personne, tu vois. Et tu l'as pas vraiment tué donc ça va quoi. Pour moi, s'ils la font revenir, ce serait vraiment du coup. En fait, ce serait un truc très méta de. On vous a tellement dit que c'était pas un vrai crime avec pas une vraie personne que vous l'avez oublié, vous, le public, et que vous avez décidé que ça aurait pas d'impact. Mais en fait, Marsha, elle sait, le fils de Marsha, il sait, Colin, le garde du corps, il sait, donc, bah, ça pourrait. Imagine, à la fin, c'est, voilà, Kendall qui sent, qui est peut-être paumé, etc., dans ses bails de business, de trucs, et la police qui arrive et qui dit, en fait, monsieur, vous avez tué quelqu'un, donc c'est la prio dans votre vie maintenant. Mais j'y crois pas du tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça va pas revenir.
Mais
parce que dans la ville, les milliardaires qui sont mêlés à un genre de vague homicide involontaire, ils vont pas, enfin.
Ouais.
Ça ruine pas leur
Mais vie. Moi, ce qui me fascine, ce que je trouve trop bien avec cette série, c'est que Logan, il est dead épisode 3, la boîte, elle est vendue épisode 5, il reste 5 épisodes. C'est vraiment, en vrai, tu vois, on m'aurait dit tous ces épisodes-là, il en reste plus qu'un pour faire un épilogue, j'aurais cru. Mais là, il en reste 5.
Je pense que c'est pour ça qu'il parle régulièrement de l'élection. Je pense qu'il y a un peu ce truc de faut vous rappeler qu'il y a un truc qui arrive. Là, on a les funérailles qui se préparent. Alors, dans le chat, Madame Volovitz demande, est-ce que vous pensez pas que Connor a organisé un enterrement plein de fautes de goût pour se pimper la campagne? Penses-tu qu'il y aura des bagarres de personnes sans abri ainsi qu'une fanfare de cuivre au funérailles de Logan? Moi, je pense qu'Honor, il va faire un truc bien.
Je pense qu'il va faire un truc bien. Moi, j'aime bien qu'Honor, il a un peu...
Mais moi aussi.
J'allais dire, il est inoffensif, mais personne n'est inoffensif dans cette famille. Mais...
Non, il veut quand même supprimer les impôts parce qu'il en a marre d'en payer, donc c'est quand même...
Oui.
Mais il est moins méchant. Il n'est pas méchant.
Oui.
Par rapport à d'autres, dans cette famille. Tu penses Shiv et Tom, ils finissent ensemble, du coup
Je pense qu'ils finissent ensemble.
Une main sur le bide, en mode bientôt la petite famille.
Je suis d'accord avec toi qu'ils finissent ensemble, mais que c'est pas une bonne idée.
Ok.
Dans la mesure où, en vrai, tu sais quoi, parce que Shiv, c'est une gigantesque connasse par rapport à lui dans leur couple, je pense que sur les deux. Et que lui, tu sais, c'est un peu tes potes dans la vraie vie quand ils rompent avec leur moitié toxique, et t'es là genre, yes, ils sont enfin débarrassés. Et puis, il y a un mois après, ils disent, ouais, je me suis remis avec machin parce que je pense que cette fois, ce sera différent.
Et puis, elle est enceinte de moi. Parce que du coup, généralement, en tant que pote, c'était là... Bon, vraiment, F dans le chat, on va boire des shots à ta santé, c'est fini, quoi.
En fait, moi, c'est ce qui me fascine dans cette série, et c'est un des thèmes que je préfère, c'est que quasiment tous les persos, plusieurs fois par saison, ils ont la possibilité de partir. Et de partir bien, tu vois. Kendall...
De partir blindé.
4 ou 5 fois, il aurait pu partir blindé. Tom, il aurait pu s'auto-sauver 1, 2, 3 fois. Greg, il aurait pu prendre le fric et s'arrêter. Enfin, en fait, c'est vraiment un truc de casino de... quand est-ce que tu te lèves de la table avant de tout perdre? Et ils savent pas tous. Et c'est
parce
ça qui est
savent pas ce qu'il y a en dehors du casino, quoi.
Ils savent pas ce qu'il y a en dehors du casino. Ils ont pas d'autre valeur que le casino. Tu vois, il y a juste Shiv qui à un moment, tu vois, elle parle de partir. Tu vois, sa porte de sortie à Shiv, saison 1 et 2, c'est partir en politique. Ouais. Tu vois, tu sais, elle dit en fait, je vais faire de la politique et Étienne, bah tant pis, et, la succession, tant pis. Mais en même temps, c'est... et là, son père lui dit, oh, mais tu sais, c'est toi.
Et oui, et elle a, oh non, c'est moi, d'accord.
Just when I was out, they get me back in.
What did cost everything?
Non, mais c'est vraiment ça.
On regarde trop de films de merde quand même. Est-ce qu'on sait de quoi on parle? On dit juste des répliques de films en anglais parce qu'on les a trop vus sur Internet.
On est flingués.
Mais j'aime bien Internet. Je t'aime bien, Mathias. J'aime bien parler de pop culture avec toi. C'est cool d'être flingué de pop culture.
Mais moi, je suis très très content d'avoir fait un récap discussion parce que c'est vraiment une série qui est tellement riche de trucs à analyser, à découper. Je peux pas en dire autant de Riverdale, par exemple. Tu vois, où j'ai vu l'épisode, je l'ai oublié quand il est fini. Mais là, il y a vraiment.
C'est fou, il me l'a raconté avant.
Et en plus, je trouve que la série est super riche parce qu'il y a au moins 4-5 moments où j'étais en poker face total où tu me rappelais de séquences que j'avais pas vues.
Mais à chaque fois, quand je fais mon récap rigolo, c'est genre 3 heures après avoir vu l'épisode et je suis là. C'est tellement dense en fait, il se passe tellement de trucs, j'avais oublié ça.
Et c'est pour ça que je trouve que c'est une série qui se prête à ce format que tu fais, auquel tu m'invites et toutes les lectures que je fais. Et maintenant, je trouve que c'est super enrichissant de le vivre au jour le jour et de pas la binger et d'être vraiment dans l'analyse des gens qui ont vu des trucs que t'as pas vu, des analyses, des machins. Enfin, tu vois, je suis allé lire les interviews, par exemple, aller lire l'interview de Kieran Culkin qui dit, ouais, à un moment, j'ai sorti ma bite avec Madson avant d'oublier que mon personnage, il pouvait pas faire ça et machin. Enfin, ils sont tous à un niveau de matrixage de leur propre série que je trouve extrêmement, extrêmement passionnant.
Oui, parce que je pense qu'on est passionné par les gens passionnés et aussi ça reste quand même une des séries les plus quali du moment. On va pas se mentir, c'est très cool. Mais je trouve, tu vois, là on est à 5 épisodes de la fin et je suis pas deg. Je suis juste en mode c'est cool, ils vont sûrement
bien
finir.
Ah non, c'est trop
finir.
Bien. Et moi j'adore, tu vois, que ça finisse genre clac, tu vois, que ce soit vraiment.
Genre j'aimerais que tous les ans on puisse se retrouver et dire il y a Succession qui revient, mais ça peut pas rester aussi cool tous les ans pendant trop longtemps.
Non, mais tu vois, il y a un moment où c'est perf, tu vois, tu finis ton truc et tout.
Tout à fait.
Yes.
Et tout comme Succession, on va finir là. Du coup. En attendant, Mathias, déjà les gens peuvent te. Oui, j'ai raté. Peuvent te suivre sur Instagram.
Oui.
I am Lorelli.
Pour voir des
Est-ce
photos
que,
de Norvège.
Il y a d'autres choses qui feraient plaisir de la part des gens.
Non, j'espère pouvoir revenir dans un moment parler des projets sur lesquels je travaille depuis 6 mois et pouvoir dire de mater ça.
Bah, hâte qu'on fasse des live animations, mais tu sais que je suis pas très calé, hein, donc m'autoriser le statut de noob là-dessus.
En vrai, la réalité du terrain fait que je n'ai pas le droit de parler de mon travail sans validation de ma manager, donc ça serait très compliqué. Mais je pense que quand j'aurai des projets qui seront lancés, je pourrai au moins dire aux gens d'aller les regarder.
Ce qui sera bien. Oui, bien sûr. Pour l'instant, regarder des séries d'animation en général. Et peut-être que ça sera celle sur lesquelles Mathias travaille et ce sera super.
Merci le chat parce que plein de super punchlines et de vraies bonnes remarques.
Grave.
Voilà, ça m'a fait très plaisir.
Vous êtes au top. Des gros bisous. À demain. Merci d'avoir été là. Bye bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.